Salut, c'est Mimi Hegel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même at, à savoir MYMYHGL. Vous allez écouter un débrief de série, d'abord diffusé en live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. On a commencé avec House of the Dragon saison 1 en compagnie de Tequila Tex, mais il y a tellement de bonnes séries dans le monde que ce flux continue à vivre, avec toujours des invités de qualité. Bonne écoute!
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonsoir Internet, ah. C'est Mimi Hegel de la chaîne Mimi Hegel et on va parler du final de Shogun, incroyable, avec presque pas du tout de retard. Je suis, comme chaque semaine depuis pas mal de semaines, accompagnée de mon cher et tendre, talentueux podcasteur de son état, c'est Nodus, moi. Alias Valentin. Comment vas-tu Nodus?
Ben, très bien, un peu triste parce que mardi prochain il y aura malheureusement, alors spoiler alert, mais on sera pas là mardi prochain, il y aura plus d'épisode de Shogun parce que c'est terminé, c'est le dernier épisode, donc je suis un peu triste. Mais sinon ça va très bien.
Top. Je suis vachement triste mais sinon ça va très bien. Et pour ce final, on vous l'avait annoncé, on vous l'avait promis, We Delivered, elle est là, la seule, l'unique, Marie qui gagne.
Vous avez vu, j'ai même pas mis de Aori.
Moi, en vrai j'aurais trop voulu que tu le mettes. Vraiment, meuf, tu nous as dit, je mets le Aori noir, j'étais là en mode,
ah oui,
let's
ça,
fucking
ouais.
go.
J'ai aussi un kimono venu tout droit du Japon. Je ne l'ai pas porté pour plein de raisons, de type, et si je ne mettais pas mon kimono venu du Japon en tant que bonne babtou pour parler de Shogun sur Twitch?
Moi, le seul kimono que j'avais, c'est mon kimono de quand je faisais du judo. Et j'étais ceinture jaune, mais j'avais 8 ans, donc il ne me va plus là maintenant. C'est pour ça que je n'ai pas mis. C'est la seule raison pour laquelle j'ai pas mis le kimono de judo que j'avais quand j'avais 8 ans, c'est parce qu'il est trop petit.
T'as aussi une belle chemise dragon, mais il y a d'autres raisons pour lesquelles
non, c'est une chemise flamme.
Mise, quoi. Ah oui, pardon, chemise flamme, mais esprit chemise dragon, vous l'avez. On va vous parler du final de Shogun, du coup, en bonne compagnie. Marie, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour peut-être les gens qui ne savent pas encore
oui,
qu'on traîne ensemble
bien
tout le temps.
Bien sûr.
On vous lit sur le chat, mais comme on peut, parce qu'on est trois. On se parle, alors, on vous parle, on lit le chat comme on peut, c'est compliqué.
Moi, je vous lis, effectivement, lors d'entrecuit, le fauteuil est très confortable. et en plus, j'ai mangé 8 kefta, donc imagine un peu le confort.
Apparemment, mon son est plus faible que Val. Tu m'as silencié, Marie, c'est ça qui se passe?
Absolument, je t'ai silencié.
Tu viens sur ma chaîne et tu es misogyne. Ok.
Donc ton son est plus faible que Val, bah, je peux t'augmenter un petit peu hein, si tu veux, il n'y a pas de souci. Écoutez, n'hésitez pas effectivement à nous dire si vous pensez qu'on peut faire des...
Oui, voilà. Merci à Justin pour ce retour technique. Du coup Marie
Oui, bonsoir.
Oui,
bonsoir.
Qui es-tu à part une technicienne de génie visiblement?
Marie, dans la vraie vie, productrice de vidéastes sur Internet, sur YouTube et sur Twitch. Oup, je les aide parce qu'ils ne savent pas gérer leur entreprise.
C'est vrai. Un jour, Marie, elle m'a montré son Excel de compta en me disant « Si tu veux, je te le copie-colle, c'est facile. » Et j'étais là « Non, il est trop compliqué. Déjà, il y a des colonnes, je ne comprends même pas ce que tu as à me dire. » Donc oui, on a besoin d'une Marie dans nos vies.
Donc je fais ça, ce qui est une immense source de joie et d'argent pour moi. Voilà. J'adore, c'est parfait pour
de joie
payer
et d'argent,
le loyer.
J'aime bien.
Mais tu n'es pas que productrice. On te voit aussi quand même deux à trois fois par semaine sur Twitch, quoi.
Ouais, plus deux que trois en ce moment, pour des raisons, plein de raisons perso. Mais je suis sur la chaîne Marie Kigai, telle une immense Weibo que je suis.
Wiba, voilà. Au féminin, non? Wibet.
Ouais, Wibet. Non, mais en plus, c'est marrant parce que par rapport à Shogun et à tous les trucs japonais, je n'ai absolument aucune connaissance historique. Donc, du coup.
Alors
mais
que.
Moi
non,
mais moi non plus. Mais c'est
bah
ça,
maintenant,
le...
si.
Ça fait 10 épisodes que je m'en suis forgé, je m'en suis créé, tu vois. Genre, on peut apprendre, mais j'avais pas de connaissances à la base.
Mmh. Ouais. Mmh. Je vous ai préparé des petites choses, justement, moi, de mon côté. Ouais. Et avant de commencer, j'avais un cadeau.
Mais non.
Oh my god. Et c'est pas des chips pas bonnes.
Incroyable. Bah non, okay. Vous m'avez non, offert
attends,
des
attends,
chips.
Attends, c'est très grave.
Vous m'invitez sur ta chaîne, je crois. Meuf, attends, c'est la première fois, non?
Non.
Non, non.
Non. Non.
Imagine.
Si, si.
Frère.
Oh non, si, t'es si. Trop nul.
Parce que maintenant, alors déjà, chut. Et aussi, je suis pas venue beaucoup de fois sur ta chaîne non plus. Et aussi, il se trouve qu'avec Marie, on a une émission quand même qu'on co-anime
oui,
tous les mois depuis un petit moment, hein, depuis au moins 2 ans, sur sa chaîne Twitch à elle, Marie Kigai. Ça s'appelle BFF. On se retrouve dans son lit, on parle de notre amitié, on se confie des secrets, on parle de cul, c'est super. Mais c'est vrai que comme moi, je fais que des lives de séries de nerds que tu regardes pas ou de jeux vidéo de nerds auxquels tu joues pas. Et ben en fait, je crois que ouais, t'es pas venue
non,
sur
mais
ma
je pense
chaîne.
Que c'est la première
oh là
fois.
Là.
Attends, mais incroyable.
Je suis désolée que ça ait pris aussi longtemps et tellement contente que tu viennes pour boire du Umeshu devant
ça ne pouvait
en parlant de Shogun.
Que dans ce contexte-là, donc mon magnifique cadeau, c'est une carte postale de l'ère Edo, pas du tout.
Avec un Momocon.
Mais attends, mais
elle est trop bien.
Mais attends, mais elle est incroyable.
On la montrera à la caméra, mais il y a un chat qui ressemble beaucoup à Momo.
Alors, vraiment,
qui est con.
On dirait Momo, mais tu sais quand elle a les zoomies après avoir fait caca.
Yes, Momo en
c'est
mode Toranaga, mais qui
quand
revient
elle
des
de la litière
des...
et ouais.
Elle est trop bien. Merci beaucoup bien. Marie. Je vais l'encadrer. Attendez, je vous la montre à la cam quand même. Sinon, vous vous sentez un petit peu left out. Comment ça se passe là? Ah,
ouais,
c'est
la
pas hyper éclairé.
Pas... Oui, voilà.
Ok, là vous voyez un peu la Zumba. Ouais, vite fait. Vous savez quoi? Je vous la mettrai en story sur Instagram, abonnez-vous. Ok. Valentin, on t'a présenté rapidement, mais qui... Enfin, on t'a dit bonjour.
Bah,
mais
toujours,
qui es-tu?
Pareil que la semaine dernière, ça n'a pas changé. Toujours journaliste, Twitcher également à mes heures perdues. Expert du Japon depuis une dizaine de semaines, figure-toi. Mm-hmm. Non, expert du Japon féodal, expert du Japon historique, expert du Japon passionné. J'ai envie de dire
passionné et passionnant, si je puis me permettre.
J'ai prévu moi aussi pour cet épisode parce que moi on m'a dit que Marie avait prévu de m'imiter. Je pense alors non, moi,
alors d'imiter nos dus et non
perso,
pas d'imiter mimi, c'est-à-dire m'imiter comme un verbe.
Moi
voilà.
À titre perso, je pense être inimitable, mais on va
souvent
voir.
Souvent imité, okay. Jamais égalé.
Seul Dieu peut me juger. On va voir.
Merci Escargoog pour le raid.
Oui, j'allais le dire. Merci beaucoup Escargoog pour le raid et bienvenue aux escargoss finalement,
ouais,
qui nous rejoignent pour débriefer Shogun saison 1 en entier. On vous fera un petit spoiler alerte quand ça deviendra sérieux, mais vaut mieux avoir vu la saison avant de nous écouter en parler, quoi.
Et donc voilà, on m'a dit que Marie allait m'imiter, donc je suis très curieux. Moi j'ai préparé un truc qui n'est pas un jingle, parce qu'en vrai ça aurait été un peu chiant de le diffuser en live et tout machin, enfin j'ai pas eu le temps de préparer, donc j'ai plutôt un truc visuel cette semaine. Donc on va d'ailleurs devoir à un moment mettre une source navigateur,
ouais.
Mais TKT.
Okay. Donc et c'est pas un costume que t'as sous tes vêtements comme un magicien.
Alors ça tu sais pas, parce que peut-être qu'on...
Non mais je demande, tu vois, genre...
On sait pas, okay. Peut-être que comme Mariko, Sama, je porte moi aussi 7 kimonos, les uns sur les autres. Et qu'en
derrière
fait...
ta clôture à 8 kimonos.
Non bref, non, il y a malheureusement pas de costume, j'ai cherché, mais il y a pas de costume, il y a pas de costume.
C'est tant mieux, probablement, mais on aura des surprises du coup, quid des imitations, ou même un résumé à la patte de Marie Kigai, quid des surprises visuelles,
non.
Des sources au navigateur, voilà, il va se
pas
passer
les,
beaucoup
pas
de choses. Moi j'ai pas prévu autant que de Zumba, parce que je me suis dit, je vais déjà essayer de cadrer les deux, ça va être compliqué, et en plus je vais devoir me cadrer moi-même, avec tout l'enthousiasme que je ressens envers Shogun, donc ça va être très compliqué, et on va essayer de suivre le chat en même temps. Ce live est disponible en podcast sur Mimi Hegel débrief les séries. On va se lancer tranquillement, hein. Je pense qu'on va pas faire une intro de 45 minutes quand on a déjà une demi-heure de retard sur l'heure de lancement. On va donc essayer, sans spoiler, de vous donner un avis sur cet épisode final de Shogun saison 1 et a priori cet épisode final de Shogun tout court, puisque rappelons que jusqu'ici, il n'y a eu aucune confirmation d'une saison 2 de la série, même si il faut avouer qu'elle a bien performé et que, personnellement, je cracherai pas sur de nouvelles aventures au Japon féodal. Pas forcément avec les mêmes personnages. On en causera sûrement à la fin. Marie, pour commencer, sans trop dire c'est quoi qui se passe pour les gens qui écoutent et regardent ce stream sans avoir vu la série, ce qui est toujours quelque chose qui m'intrigue mais qui me passionne. Shogun! déjà à quel point tu kiffais, parce que moi je sais que tu regardais mais tu n'étais pas dans nos podcasts pour en parler, et à quel point t'as kiffé la fin.
Non attends, faut savoir que moi du coup le dernier épisode je l'ai regardé en pleine conscience.
J'étais en méditation.
La première fois que je regarde un épisode en pleine conscience. Moi,
sachant que tu vas en parler,
oui,
c'est ça.
Oui, parce que d'habitude quand je regarde une série... Oui.
Oui, c'est pas un truc où genre elle médite.
Oui, parce que vous êtes là, vous allez réfléchir à, ok, ouais, il y a tel truc stratégique et tout, vous allez faire des recherches à côté. Moi, je suis là. Ah, c'est une bonne fin de journée quand même, on est pas mal. Là, j'ai rien capté de la scène pression, c'est pas grave, je comprendrai okay. À la fin au pire.
Oui, non, mais on recollera les bouts à la fin.
Donc, c'est la première fois que je vis un épisode en pleine conscience.
Donc, c'est la première fois que t'es concentrée ?
Que je suis concentrée sur une série. Attends, je me suis concentrée, mais au début je me suis dit, attends, mais les noms des gens, il va falloir que ouais. Je me fasse mais un petit portfolio.
C'est quoi
là,
je pense qu'on a deux ou trois preuves ici qu'il n'y a pas besoin de les savoir.
T'as compris qu'il y a, donc il y a des fois ils parlent pas anglais, bah du coup c'est du japonais.
Mais des fois ils parlent anglais, c'est du portugais. En fait, ils parlent
ouais,
jamais anglais.
Attends, mais il faut pas la brusquer non plus. Il faut pas la brusquer.
Non, c'est pour vous dire que je pars de loin. Donc j'ai fait des efforts effectivement pour bien me préparer à cette émission, et c'est la première fois que je viens commenter en plus. Une série comme ça ou un film, sachant que j'écoute beaucoup les podcasts type 2 heures de perdu, mais là, les Mimi débriefent les séries, Shogun, c'est la première fois que j'écoute parce que
je regarde
une série que tu
bah
regardes,
oui,
incroyable.
Parce que tu regardes pas les séries avec des dragons dedans, bon, mais tu regardes les séries sur le Japon féodal.
Oui,
suffisait d'attendre un peu.
J'ai appris beaucoup de choses. En vrai, c'est un truc que j'ai apprécié dans cette série, c'est qu'il y a tellement de travail. Comme vous en avez parlé dans les différents épisodes, mais il y a tellement de taf sur certaines vérités historiques ou traditions du Japon d'antan. J'ai trouvé ça trop intéressant parce qu'en plus, il y a des choses qui résonnent avec la société actuelle, que ce soit d'ailleurs dans notre société à nous ou dans la société japonaise. Et donc, ce dernier épisode, je me suis fort concentrée avec cette question tout du long.
J'imagine vraiment un peu constipée devant ta télé en mode...
Je suis pleine conscientisée, genre...
Focus. Un peu cerveau en éruption, Jimmy Neutron, tu vois.
J'avais qu'une seule question, c'était est-ce qu'il va y avoir les boum boum la guerre pour Valentin
pour c'est une question qu'on va... Alors, on va se reposer la question à plein de reprises durant cet épisode, parce que moi, c'est une question qui reste en suspens.
Moi, j'ai une take par rapport à ça également, mais on y reviendra. Je pense qu'on y reviendra sur la guerre les boum boum, d'accord.
Mais t'étais quand même en réflexion méta, quoi. Devant l'épisode, tu te disais qu'est-ce que Valentin va en penser?
Ah, j'ai pensé.
Qu'est-ce que
ça.
Je vais en dire dans le débrief et tout. Mais t'es positive, on va dire. Genre, tu conseillerais Shogun saison 1 à quelqu'un?
Oui, je.
T'en sors quand même en positif.
Oui, c'est ma foi, une série fort agréable.
Oui.
Non, en vrai, oui. Je pense que pour en capter toutes les subtilités, c'est cool de pouvoir aller lire des trucs à côté ou écouter un podcast qui le débrief. Parce que je vous avoue qu'il y a plein de fois où moi j'ai écouté le podcast où j'étais là. Oh, j'avais pas compris cette scène en fait.
Après, des fois, on interprète.
Mais
quoi.
Alors, en vrai,
c'est
un sujet que je pose là et dont j'aimerais bien qu'on reparle un peu durant tout cet épisode de podcast qu'on s'apprête à faire. Mais c'est intéressant parce que je trouve vraiment que pour moi, Shogun, c'est une série d'esthète. Genre, il y a un truc de branlette un peu de.
Ah bah oui.
Il y a un truc de. On va pas prendre les spectateurs pour des connards. On va parler deux langues. On va supposer qu'ils comprennent ces trucs qui ont été exposés il y a quatre épisodes et en reparler maintenant à travers un poème et tout.
Oui.
Et genre, en vrai, moi, j'aurais pas eu Mimi. Il y a des trucs que j'aurais pas compris, tu
oui,
vois.
De fou.
Et du coup, je comprends les gens qui parfois nous envoient des messages en mode heureusement que vous en avez parlé dans le podcast parce que je comprenais pas. Et en vrai, moi, j'aurais pas compris si j'avais pas fait les recherches. Et c'est un point important, je trouve, de Shogun. Bref.
Mais après, moi, je trouve que le jeu d'acteur est trop cool.
De fou.
La réal est très belle. Enfin, la direction de la photographie, l'ambiance qu'il y a dans la série, j'ai vraiment adoré. Je trouve que tu peux vite t'immerger dedans. Donc en vrai, je pense que c'est une série que je pourrais recommander. C'est pas le top 5 de mes séries préférées, je sais pas lequel c'est le top 5, me demandez pas.
Ouais, j'allais dire, est-ce que tu peux citer, en tout cas dans les grandes séries qui sont parmi tes préfs, parce qu'au final on parle pas tant de séries télé ensemble, j'ai découvert très tard dans ma vie que t'étais fan des Beatles, j'étais là, ah bon, tu m'as dit vraiment
c'est
girl,
alors
oui.
Incroyable sur Marie, sachez qu'on a fait du Time Guesser en vacances, donc Time Guesser, il faut deviner où a été prise une photo et quand elle a été prise, et il y a un moment où l'une des photos c'était un concert des Beatles dans une random cave d'un bar à Londres.
Ouais.
Et moi j'étais là, c'est qui les gars avec des cheveux longs qui font de la musique?
C'était un peu les early Beatles, quoi. Avant que ce soit les Beatles avec un grand B, donc on les a pas reconnus.
Et Marie, direct, elle était là en mode « Je le sais, c'est les Beatles, directement !»
Je crois qu'il y avait hésitation, genre « Alors non, mais... ça dépend, soit c'est tel bar, soit c'est tel bar. Faudrait que je vois s'il a une boucle d'oreille ou
non,
pas. »
Non, mais elle a trouvé, en vrai, en moins de 2 minutes, je pense qu'elle a trouvé littéralement le bar où c'était, parce que c'était le bar où ils faisaient souvent les concerts ou les répètes et machin. Et l'année, parce que c'était 84. 64 ou 64 ou
62.
Je... Ouais, non, c'était
bah,
pas
un truc comme ouais. ça, ouais, bref. Mais
du coup, voilà, j'apprends parfois des choses oui, sur toi. Oui. Donc culturellement, c'est quoi les séries télé qui te font kiffer ?
Franchement, moi, une qui dans a été mon plus gros coup de cœur de ces dernières années, ça a été Fleabag.
Ok. Je pense... Fleabag, Shogun, un peu la même.
Ah, c'est la même vibe, hein,
même énergie. Hein.
Non,
même
mais tu vois, pour tout ça pour dire justement, moi, les séries historiques à la base, je suis pas forcément hyper saucée par rapport à ça, mais là, la mise en contexte avec le podcast, parce que je vous ai trouvé très con tous les deux, ça m'a fait vraiment
vrai,
hein. ultra rire.
Nous ouais, c'est vrai qu'on est un peu con.
Toi et moi.
Un peu... Ouais. Bah surtout toi, je pense. Surtout lui, hein. Non, on est d'accord.
Ouais.
Ouais. Ah oh, bah, ouais, on est d'accord. Deux contre un. Hop là.
Ça, c'est non mais tu sais pas à qui j'ai dit oui hein.
Ça c'est de la misandrie ordinaire.
Non oui c'est vrai qu'on est très cons et en même temps on avait tous et toutes envie d'en savoir plus sur cette période du Japon et de comprendre toutes ces nuances qu'on sentait grave. Qu'il y avait un truc important qui se passait mais on comprenait pas pourquoi tel mouvement d'éventail était lourd de sens. Donc écoute, très contente si ça t'a donné envie de plonger dans Shogun, de nous écouter en dire des bêtises, mais aussi ouais. deux trois infos sur ces vite fait des fois quand même. Un peu.
Bah on essaye quand même. Mais c'est marrant parce que moi ça m'a pas comment dire, j'avais pas besoin d'en savoir plus ou je voulais pas en savoir plus particulièrement sur le Japon féodal avant de voir Shogun.
Ah bah
mais
non.
C'est en matant Shogun que ça m'a donné envie de le faire et ça m'a donné envie de
oui,
faire.
Oui voilà, mais je pense que c'est pareil pour nous trois en soi. C'est peut-être cool, la plus à même d'avoir plongé dans, par exemple si j'avais découvert le livre avant la série, je pense que entre nous trois c'est moi qui avais le plus de risque de tomber dedans parce que j'aime bien lire des livres historiques de 1000 pages et vous dire ah vous savez qu'au Japon féodal en fait c'est comme ça qu'ils se déplaçaient, qu'ils fabriquaient des chaussures. Mais vous êtes maintenant dans ma team grâce à Shogun et ça c'est beau. Valentin, verdict sans spoiler, finale de Shogun.
Attends mais sans spoiler c'est compliqué de fou.
Je sais, mais est-ce qu'on est positif, négatif?
Non, on est positif. Alors sur les, moi j'ai en vrai j'ai des takes un peu sur l'épisode final, mais c'est pas des takes en mode le Japon c'est nul, tu vois. C'est pas ce niveau de take.
Alors goûte les chips et on en reparle après. Peut-être quand t'auras goûté les chips, tu diras ouais non le pays globalement c'est
bon. Sur le fait que c'était bien comme série quoi.
C'était bien.
Je suis un poilito déçu par l'épisode final, mais on va en reparler plus précisément dans
je
la.
Je me demande pourquoi.
Mais non,
est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu la bagarre?
Alors non,
pendant
parce que non,
10 épisodes, figurez, il a été voilà, la bagarre.
Ça se moque de moi déjà. Là, vous ne le voyez pas en podcast parce que vous nous écoutez dans vos oreilles.
Quand est-ce qu'il se bagarre?
Si vous pouviez actuellement voir la scène.
C'est que les gens entendent le rire dans leurs oreilles.
C'est de la misandrie, encore une fois. C'est de la misandrie ordinaire.
J'avoue, tu es une personne minorisée dans ce live. Donc désolé de te mettre en porte-à-faux. Parce qu'il n'y a pas eu les boum-boum.
Non, en vrai, même sans parler des boum-boum, je suis effectivement un poil. Enfin, au début, en vrai, j'étais un poil déçu qu'il n'y ait pas la guerre, qu'il n'y ait pas le conflit, qu'il n'y ait pas le.
Alors, on est dans la vie sans spoiler, hein, donc on va pas en dire trop sur qu'est-ce qu'il y a ou pas dans l'épisode.
Bon, que l'épisode
au
soit...
cas où, après, franchement, vous
que
écoutez débrief final du show.
Soit plutôt calme. Voilà. Et finalement, après, j'ai compris que c'était une bonne chose, en fait. Et on va en reparler un peu dans la partie avec spoiler. Mais... Donc, ça, c'est même pas trop le point qui m'a déçu, mais c'est juste que. Je sais pas, je trouve que en fait je trouve que une heure pour un dernier épisode de Shogun avec ce qui restait à traiter, c'est peut-être pas assez.
Ouais, c'est okay. Clair, moi j'ai trouvé le dernier épisode en fait, je l'ai trouvé trop court. Je me suis dit comment est-ce qu'ils vont terminer tout l'arc en un épisode.
Je m'attendais vraiment à une heure
avec
et demie,
des
vois,
ellipses.
Et...
Ouais, ouais. Les ellipses.
Avec des gens qui ratent des événements importants parce que oh non, tu étais dans les pommes. Mais on va en parler.
Après voilà, verdict encore une fois de la genre de la série, de la saison. Moi je trouve vraiment
l'aventure.
Pour l'instant c'est la meilleure série que j'ai vue cette année, tu vois. C'est sincèrement une série que je m'attendais pas à aimer, mais c'est un mélange de House of Cards et de Game of Thrones.
Ouais.
Et de,
ah, j'ai beaucoup aimé House of Cards aussi.
Ouais, il y a vraiment un côté House of Cards au Japon féodal et je trouve vraiment ça trop bien. Donc vraiment, toute la série matez-la et prenez la peine de faire des recherches, de mater, d'essayer de comprendre et tout. Lisez le bouquin si ça vous chauffe et si vous êtes une nerd comme Mimi. Ouais.
Il y a vraiment Clem sur le chat qui dit je suis en retard, j'en suis qu'à l'épisode 2, mais je vous aime, mais qu'est-ce que vous faites là? On va vraiment tout vous spoiler, c'est dommage quoi!
Ça va spoilito là.
Ah, désolé, ouais, désolé.
Sorry, je t'ai coupé, mais j'ai envie de protéger les gens quoi.
Je veux protéger les gens.
Non, mais c'est... Ça, c'est ton côté Tony Stark, tu vois.
Je pense que c'est plutôt mon côté Toranaga.
Ouais, ok.
Finalement, tu vois, je vois dans le futur et je me dis
donc, non, en vrai, voilà, indépendamment de là, l'épisode qui m'a en vrai, dans tous les cas, plus que déçu. C'est une super série et je suis très content qu'on ait eu cette conclusion là et je suis très content du voyage. Enfin, le voyage était fou et j'ai plein de trucs dont j'aimerais qu'on reparle de la place de cette série et tout, genre c'est trop bien qu'on ait eu ça, c'est trop
oui.
bien. C'est
on est
bien.
Quand même sur une opinion positive globalement
ouais.
de Shogun
ouais.
Saison 1 ou de Shogun tout court si jamais ça ne revient jamais. Pareil que vous, je suis très contente d'avoir vécu cette aventure et de l'avoir partagée avec vous mes co-animateurs, mais aussi avec, bien sûr, le chat et les auditeurs et auditrices du podcast. Je suis très contente qu'on ait une telle qualité pour une série qui se passe à une époque et dans un pays qui est pas toujours bien traité par les séries à gros budget occidental, comme on l'a dit. Et perso, je suis peut-être moins surprise ou un peu déçue de certains aspects du final, tout simplement parce que j'ai lu le livre et du coup j'avais quand même une certaine idée de à quoi m'attendre. Excuse-moi, là part. Quand on veut, on peut, Valentin. Ça fait 10 semaines qu'on aurait pu lire le livre. Voilà.
Mais toi, tu l'avais déjà lu. Genre, je vais pas le relire. Désolé,
mais moi, je l'ai lu, mais toi non. Donc moi, je savais.
Mais moi,
pas
je vais
toi.
Pas lire un livre de 1000 livres, de 1000 pages avant de regarder.
Bah ok, bah moi oui, du coup, je savais. Hein. Et en même temps, j'étais très curieuse de voir comment on boucle cette intrigue et cette intensité en une heure. Encore une fois, j'avais entendu un peu des rumeurs de le final. Il fera 1h30. Il sera une version un peu plus longue que ce que je trouvais. Entendable vu le nombre de trucs qu'il y avait à fermer. Bon, quand j'ai vu 1h02, j'ai fait ah ok, ça va aller un peu vite si on prend 3 minutes de générique final, une minute de générique d'intro, j'étais là ok, previously et tout, mais je suis pas restée sur ma faim, j'ai été vraiment émue, j'ai ressenti beaucoup plus de trucs à la lecture du livre où je pense que heureusement que j'avais la série pour me créer un imaginaire visuel que j'aurais eu du mal à me représenter parce que je connaissais pas du tout la période ni à quoi ça ressemblait. Donc au final, je suis très contente d'avoir commencé la série, lu le bouquin et fini la série et de pouvoir en parler avec
vous. C'est un truc que j'allais te demander et je vais le faire dans la partie sans spoiler parce qu'à chaque fois on se plaint que la partie sans spoiler elle dure 2 secondes et les gens qui... Voilà, bref.
Qui se plaint ?
Mais personne. Mais du coup, j'ai une question. Est-ce que du coup, t'es contente d'avoir lu le livre ? Est-ce que ça t'a déçu ou plutôt genre satisfaite ? Enfin, est-ce que t'es déçu d'avoir du coup vu la série après avoir lu le bouquin ? Parce que moi, je sais que j'ai des bouquins où je les ai lus et après, du coup, je mate la série et ça me nique mon imaginaire, ça me nique ce que j'imaginais quand je lisais le livre. Est-ce que ça, enfin, qu'est-ce que ça t'a fait de lire le bouquin et de percevoir la série en même temps ?
Bah déjà, en général, quand je sais que je regarde ou que je vais regarder une adaptation, j'aime toujours lire le livre d'abord pour justement me créer mon propre imaginaire avant d'être pollué entre guillemets par à quoi ça ressemble dans la vision de, au final, une seule équipe, voire d'une seule personne. Mais pour Shogun, bah tout simplement, je savais pas que le livre existait avant de commencer la série, donc voilà. Et je pense que dans cet exemple-là et comme quelques autres exemples genre Dune, je sais qu'en lisant le livre, il y avait des trucs où j'étais là. En fait, je me représente pas le truc. Je n'arrive pas à me représenter, j'ai l'impression qu'il me manque des éléments. Et alors, bon, là, on est dans un vrai pays qui, dans une vraie période historique et pas sur une planète lointaine, dans un monde de science-fiction. Mais je pense que si j'avais juste lu le livre, il m'aurait manqué une vraie clarté visuelle de à quoi Toranaga il peut ressembler.
Je pense qu'il t'aurait manqué Hiroyuki Sanada.
Non, mais même, tu vois, on a parlé quand même beaucoup de temps à parler de. On a passé beaucoup de temps à parler des décors, des costumes,
grave.
Du placement, de la façon dont les gens y marchent. Je sais pas si c'est décrit dans le livre, c'est peut-être mentionné que genre. Les femmes marchent à petits pas, mais ça m'aurait pas mis en tête cette image de femmes qui ont une démarche totalement étrangère à ce que moi je connais et qui ont l'air de glisser sur des petites lattes de tatami, tu vois. Donc dans cet exemple un peu précis, c'est un imaginaire que j'aurais pas réussi à me construire précisément visuellement. Je trouve que commencer la série et lire le livre et du coup avoir, bah quand même le livre c'est 1000 pages, donc forcément on s'attarde beaucoup plus sur certains trucs et tout, on en parlera. Bah c'est quand même pour moi la version plus en profondeur de l'histoire, et en même temps la série remet aussi le livre au goût du jour en orientant beaucoup plus l'histoire à égalité entre l'aspect japonais et l'aspect l'occidental
entre tradition et, voilà,
tradition et modernité. donc c'est aussi pas une adaptation directe et je pense qu'avoir une vraie sensibilité japonaise à la prod et dans des rôles clés, ça m'a apporté une adaptation qui enrichit, enfin je trouve que c'est un très rare combo de le livre enrichit la série qui enrichit le livre qui enrichit la série, quoi.
Mais notamment, moi, je trouve, sur un des aspects qui est important, à mon avis, autant dans le livre que dans la série, c'est le côté contemplatif. La façon dont le temps passe, dont les choses, les éléments et les événements sont observés. Mm-hmm. Je trouve que c'est un truc très difficile à retranscrire dans les films ou dans les séries et qui est justement vraiment très japonais. Si t'arrives pas à retranscrire ce côté...
Mais... Si vous n'arrivez pas à retranscrire ce côté contemplatif, vous n'avez rien compris à la culture japonaise.
Personne ici, évidemment, n'est japonais. Hein, au cas où vous en doutez.
Mais non, mais en vrai, je trouve
nous
ça se voit même.
Nous avons divers niveaux de connaissances sur le Japon. Nous ne prétendons pas remplacer l'avis des spécialistes ou des personnes japonaises.
Par exemple. Hein. Bon. Non, mais en vrai, je trouve c'est marrant, mais ça se voit même dans le générique. Le générique au début, épisode 1, j'étais là en mode c'est chiant. Et après, tu comprends que, en fait, c'est pas chiant, c'est contemplatif.
Oui, c'est contemplatif.
Et ouais.
C'est pas grave s'il y a pas des grands moments d'action. L'important, c'est de contempler.
C'est bon, c'est pas la peine. C'est bon, mais tu me touches pas. Ne me touche pas. Il y a pas de, on est en live, tu crois. Non, c'est bon.
On passe à la partie avec spoiler, c'est parti.
Ouais,
ok.
Ouais.
Pas de dernier mot. On va, à partir de maintenant, vous spoiler tout ce qui s'est passé dans Shogun saison 1 en entier. Et peut-être même dans toute la série Shogun, si ça ne revient
pas. Mariko, putain, Mariko, elle est morte!
Mariko, elle est morte! Et après,
Mariko!
Il se passe plein de bails. On va essayer de vous dérouler l'épisode dans l'ordre, mais je sais pas pourquoi. Je sens que ça peut digresser et partir en couille très vite. Peut-être qu'on sautera à un endroit, on reviendra après. Essayez de suivre, on va essayer nous-mêmes de nous suivre.
On va essayer d'être construit quand même. Enfin, alors perso, moi j'ai pris
tout
mes
notes,
notes de manière construite. Mes notes, elles se suivent par rapport à l'épisode.
J'aimerais laisser l'honneur d'introduire ce déroulé à Marie.
Ah ouais, ouais.
Qui est la première invitée et qui m'a dit j'ai préparé un déroulé assez con. Donc, moi j'aime quand Marie est con.
Je me redresse sur le siège pour être prêt. Je vais goûter une chips.
Alors,
avant, vous savez quoi?
Oh non,
avant,
il va goûter une chips.
Je vais goûter
let's
une
go.
Chips avant le début. Ouais.
Est-ce que déjà on peut parler du titre de cet épisode?
A dream.
A dream of a dream.
Yes.
Un rêve d'un rêve.
Oui. Bah, Inception, tu l'as ou pas?
Mais bien sûr. En fait, je me suis dit, en voyant l'épisode en entier, je me suis dit. J'ai pas compris.
Ah bah on va en parler. Pas T'as compris. Pas compris qu'est-ce qui était le rêve d'un rêve.
Non, j'ai pas compris le rêve du rêve, non.
Ok. Mm. Ok.
À part,
on va
j'ai juste noté c'est Inception, voilà.
Très bien. Donc t'avais la ref. Ah attendez, on a une cruncherie de chips côté Nodus. Alors peux-tu faire l'audio description de ton visage pour peut-être les auditeurs et auditrices du podcast.
Mais je vais pas vous couper, allez-y.
D'accord.
C'est pas bon. C'est comme des chips au vinaigre.
Oh non.
Mais sans la prune.
Bah non, avec de la prune du
non,
coup.
Non, il n'y a pas de prune.
C'est juste des chips au vinaigre.
Je connais les prunes, Myriam. Ce n'est pas une prune.
Il m'a myriamé. Mais les chips au vinaigre, t'aimes bien?
Non, j'aime pas.
Ah, je croyais que t'aimais bien. Ok. Eh bien, écoutez.
Pardon.
Contre toute attente, les chips à la prune vinaigrée saumurée, c'est pas très bon. Mmh. Voilà, vous le saurez.
Dommage pour le
Donc, t'étais embêtée de pas que le titre ne se reflète pas dans
franchement,
l'épisode.
En fait, quand j'ai vu le titre de l'épisode, je me suis dit ok. Et je, après l'avoir terminé, j'étais là, pas compris.
Bah, tu t'es dit ok. Toujours pas.
Non. Ok, donc on en parle plus tard de la signification, c'est ça?
Oui, ça viendra.
Ouais, okay. Je pense que.
Ça viendra.
Le film s'ouvre.
J'allais dire, si tu veux, tu peux faire une de HDP.
Non, mais stop, mais vous m'énervez.
Le film s'ouvre. Sur un sale gosse, en plus. Sur un sale gosse, pas loin d'être au Koumout, si je peux me permettre de rendre hommage.
Ouais, l'épisode s'ouvre sur deux gamins en train d'observer un des katanas. De Blackthorn.
Tout à fait. Une épée de Hatamoto.
On devine que c'est sa descendance. Bravo, il a Ken. Franchement, forcément.
Ouais, non, mais alors déjà, alors, il a Ken se fout, il a Ken au moins trois fois parce qu'il
Avait vraiment déjà des enfants avant.
Oui, mais enfin, désolé, mais ça, il était 6 ans, le gars, chez Toranaga.
Oui, mais ses enfants, ils sont
là,
toujours là.
Mais là, ses enfants, ils ont le permis B. Enfin,
mais non, mais ses enfants, du coup, et qu'il a laissé à Londres, ils ont grandi.
Mais pour moi, c'est ses petits-enfants.
Bah oui. Mais lui, qu'il aille au Japon ou pas, ses enfants, ils restent à Londres, ils peuvent faire des petits-enfants, tu vois.
Oui, non, mais bon, c'est pas ça la question. Mais bref.
Donc,
on observe
des petits-enfants qui observent des katanas
à côté d'un vieux monsieur, très très vieux. Oh là là, qui tiennent dans sa main un chapelet qu'on aurait presque vu il y a pas longtemps dans une scène impactante. En vrai, est-ce que t'as compris tout de suite que c'était vieux Blackthorn?
Ah oui, j'ai compris tout de suite que c'était lui. Je me suis dit, je sens que là, comme il y a les gosses dans le coin, il y a un monde dans lequel il va être en mode « Papy Castor, raconte-nous une histoire », tu vois.
Ah bah là, oui. Ou alors, il a pris un coup de vieux très très vite à la mort de Mariko, mais là, il est vraiment, il est aveugle, il est en mode quand même perforasse, quoi.
Après, tu sais, à force de s'exposer au soleil et de pas mettre de crème solaire, on a la peau qui vieillit beaucoup plus vite.
Bah, puis c'est vrai que sur
au Japon,
Japon
il fait plus humide aussi, donc pour les pores de la peau, c'est pas super bon.
Ouais, c'est vrai.
Y a un truc,
mais il mange beaucoup moins de lactose.
Et voilà, il y a ça aussi, ouais.
Il est un régime sans gluten depuis le début.
Non, moi je pense qu'il est retourné sur l'ancien continent. Hein. Par contre.
Non, mais le mec, en fait, il a découvert c'est quoi prendre une douche tous les deux jours. Et il est revenu en Angleterre, il a vu qu'il avait pas assez d'eau pour faire une douche par mois.
Mais alors, parlons-en. Est-ce qu'il est revenu? Du coup, à ce moment-là, toi, tu te dis c'est un flash forward de l'avenir de Blackthorn. Genre, ok, à la fin, il est revenu en Angleterre. il a eu une descendance et il se rappelle de ses années au Japon.
Bah oui, sauf que à la fin, donc, il tient ce chapelet qui, on le découvre pendant l'épisode, n'est plus en sa possession.
Tombe dans l'eau, à un moment, parce qu'il amazing. Le met dans la mer.
Was that a dream?
Et moi, on pourra en parler parce que là.
Quoi, attends, du coup, quoi?
Mais pour moi, le nom de l'épisode A Dream of a Dream, tu vois, genre, ça a du sens là parce que je. Bref, mais bon, après, je veux pas être zèbre.
Mais on peut en parler maintenant, vas-y. Hein.
Et ben, au début,
de toute façon,
moi.
On va faire des points que signifie le titre de l'épisode régulièrement. Et la première chose à laquelle ça fait référence, c'est cette scène que moi j'ai prise pour un flash forward, c'est-à-dire une vraie vision du futur, comme on pouvait l'avoir dans Lost, par exemple, et qui en fait était plutôt une vision, un rêve de Black Sorn, en plus complètement choc bar, explosion. Enfin, c'est plutôt une hallucination.
Tu vois, là, moi, ça me
rappelle qu'un segment futur.
Je me dis, dans votre podcast, je vais rassurer les gens parce que je vais dire des trucs. Ils vont se dire, mais moi aussi, j'ai compris ça. Après, ils vont se dire, putain, mais qu'est-ce que je suis con d'avoir compris ça. Mais ça va, elle avait compris ça, elle
mais
aussi.
Mais non.
Mais moi aussi, j'ai cru que c'était un flash forward au début.
Alors.
Bah, jusqu'à le chapelet.
S'il fallait être exact, j'ai vu une interview des deux créateurs de la série.
Il a taffé.
Il y a une ambiguïté qui est volontaire de la part des deux showrunners de la série, qui sont donc un couple dont là, j'ai oublié les noms, mais il y a Kondo quelque chose.
Justin, alors il y a Marie, pas Marie Kondo.
Bref, mais c'est pas Marie Kondo, mais
Rachel.
C'est... Ah, je l'ai.
Pardon. C'est Rachel Kondo et Justin Marks qui sont du coup un couple dans la vie. Et Justin Marks, il est showrunner et scénariste. Et elle est plutôt autrice de fiction. Donc ils se sont bien assemblés. Elle avait le côté vraiment autrice, raconter des histoires.
Et lui plutôt réel.
Adapter des histoires au rythme télé et pas. Okay. C'est un roman et par exemple, tu peux entendre dans la tête des personnages, ce qui est compliqué à faire dans une série.
C'est intéressant en vrai que ce soit genre un couple. Enfin, c'est, je trouve ça.
Ah,
marrant.
Grave!
Et donc bref, ils ont été.
Tu veux dire un couple qui fait des projets ensemble?
Non mais.
Alors franchement, si un jour on fait un projet aussi cool que Shogun
alors,
saison 1,
on fera Shogun x 10. Désolé, mais.
Okay.
Fera... Déjà, ça va s'appeler Maubeuge.
Il hiberne.
Et ce sera un truc sur les shinobi de Maubeuge. C'est les gars, ils sortent vendre du. Non, bref, donc.
Sur le dojo où t'as fait tes cours d'arts martiaux quand t'avais 9 ans.
Ça va s'appeler Valenciennes. Il y aura tous les gars. Bref, bon. bref, blague à part. Donc les deux showrunners qui donc effectivement sont un couple ont été interviewés par Slate et donc Slate leur ont posé des questions sur la signification de la fin de l'épisode et cette ambiguïté notamment qu'on voit. Est-ce que c'est un flash forward ou est-ce que c'est un rêve?
What does it mean?
Et donc il y a
qui était mort depuis le début.
Il y a l'un des deux showrunners justement qui dit à ce moment-là, je crois que c'est la dame dont j'ai
Rachel.
Qui justement répond directement au journaliste de Slate et lui dit en fait il y a cette ambiguïté qu'on veut garder et elle est volontaire
sans deck
de on sait pas si c'est un flash forward ou si c'est un rêve tu vois et en vrai moi je suis partagé entre au début jusqu'à la fin de l'épisode enfin jusqu'à l'avoir fini je pensais que c'était un flash forward de en fait le seppuku enfin on verra mais cette scène du seppuku plus tard dans l'épisode ne sert à rien parce que on sait qu'il va survivre parce que voilà on sait qu'il va rentrer dans tous les cas donc pour moi c'est un flash forward qui sert à justifier ce qui se passe dans l'épisode et après en fait je me suis dit mais c'est vrai que ce chapelet dont Marie elle parlait tout à l'heure qu'on a vu jeté dans l'eau il est toujours là dans sa main et je suis là frérot c'est pas compatible genre c'est Hunger Games c'est pas possible et donc bref et pour moi du coup maintenant j'en suis assez un rêve là je suis resté à Inception la fin et c'est un rêve pour moi c'est ouais
je pense aussi que mais entre un rêve et un enfin la différence entre un rêve et un flash forward c'est juste est-ce que ça se réalise ou pas tu vois c'est un peu est-ce que c'est le chemin que tu prends ou pas et pour moi j'ai cru aussi que c'était un flash forward parce qu'en plus le truc de ce n'était qu'un rêve c'est assez connoté dans la fiction de bah non on fait pas ça mais j'étais intriguée parce que le vrai et c'est peut-être là aussi où du coup j'ai moins douté c'est que je sais que le vrai navigateur anglais qui a servi de modèle à Black Thorn n'est jamais parti du Japon et de son propre choix il a fini par choisir de rester et tout
c'est ce qui est sous-entendu en plus dans l'épisode
même dans toute la saison Toranaga il dit enfin plusieurs personnes disent de Black Thorn il ne partira jamais des Japans et du coup j'étais là c'est bizarre et en plus enfin genre il a tu vois il y a même pas un côté genre il a des enfants métis donc on se dit ok peut-être qu'il a servi de lien de culture donc je me dis
moi aussi,
à la
fin,
ça,
mais
le gars
blancs,
il va
quoi,
juste rentrer chez lui et manger des saucisses et chier dans le caniveau et avoir des enfants babtou et peut-être être le John Smith qui a ramené un barbare ou deux, tu vois. Je me disais non, ça colle pas trop. Mais du coup, j'étais intriguée. J'étais là, ok, c'est peut-être une façon de nous rassurer sur l'enjeu de cet épisode, c'est pas de savoir qui va mourir ou qui va vivre. Vous êtes pas en train de vous dire, ah, est-ce que Black Sorn il va se faire tuer? Parce que vous savez quoi, on a évacué ça. Juste savourer le moment. On n'est pas là pour du suspense un peu basique de et est-ce qu'il s'en sort ou pas à la fin. Donc je me suis dit ok, et au final, comme on se rend compte que le chapelet ne reste pas en sa possession, je me suis dit c'est un rêve.
Et ben justement, par rapport à ce truc de on s'en fout de s'il vit ou s'il meurt, je trouve qu'il y a aussi une importance dans à quel moment les flashbacks sont placés. Ils sont placés au début de l'épisode pour te faire croire que c'est un flash forward, donc du coup pendant tout l'épisode tu penses que c'est un flash forward, et il y a un moment où on voit à nouveau les flash forward slash rêve de quand il est vieux. D'ailleurs il est moche de fou le maquillage, je suis désolé. La vie de moi,
ils ont fait leur mieux, ils ont fait leur mieux avec les sous qu'ils avaient.
C'est Père Fouras quand on était encore au franc, il avait ce déguisement là, je suis désolé, et là c'est la même chose. Bref.
Franchement, moi je me dis juste, je comprends pas pourquoi pas prendre un acteur vieux.
Ouais, c'est ce que, ouais.
Et pourquoi prendre Cosmo Jarvis avec du latex et pas juste pour, en plus pour ce qu'il fait quoi. Il a pas de dialogue, il a pas, c'est juste des gros plans. Prenez un vieux gars avec les yeux bleus, on sera là. D'accord, on a compris.
Et pardon, du coup je me suis perdu avec le déguisement du Père Fouras.
Parce que j'étais en train d'imaginer mais... juste quand ils ont filmé Cosmo Jarvis pendant juste ils ont fait que filmer tout le temps le même plan du gars apeuré pendant 10 minutes.
Ça doit être genre au moins je sais pas 5 heures de make-up, mais tu vois cette merde.
Oui, et c'est beaucoup de latex parce que ouais c'est comme ouais bref. Et donc tout ça pour dire que il y a aussi selon moi une importance dans le moment où sont placées ces séquences là dans l'épisode. Il y en a donc une au début où effectivement on pense que c'est un flash forward, il y en a une autre qui est juste avant qu'il se fasse seppuku.
Ouais. Mm-hmm.
Et c'est le moment où il y a du coup cette sorte de flash forward machin, et pour moi il y a toujours la nuance de pourquoi il mettrait là si c'est un flash forward de sa vie d'après, c'est pas possible. Pour moi, c'est un moment où lui-même s'interroge sur c'est la vie que je pourrais avoir, c'est la vie que je pourrais avoir plus tard si je reviens. Mm-hmm. Et pour moi, ce moment où il y a le flash forward, mais là je parle deep alors que ça fait 10 minutes qu'on a commencé, mais pour moi,
alors,
ce...
ça fait un peu plus.
Bah non, mais ça fait 50 minutes 15, mais ça fait 10 minutes qu'on a vraiment commencé à parler de l'épisode, même bref. Pour moi, ce moment où il se prépare à seppuku et là, l'épisode te met un flash forward de machin, c'est le moment où Black Thorn lui-même, il comprend qu'en fait, ce que les Japonais lui disent depuis le début de la série, on vit, on meurt, c'est tout. Et ben en fait c'est vrai.
Et il se rend compte que sa vision de lui qui rentre forcément, pour moi, c'est un rêve et que il peut choisir et que ça peut n'être qu'un rêve et il peut rester quoi.
C'est exactement comme moi quand tu sais moi genre quand
j'étais. Je pense que t'as vécu la même.
Mais
chose.
À Valenciennes quand j'étais en études. Et il y a des fois où je devais.
Tu sais, je le sens venir.
Au
non, mais...
J'étais au bige.
Mais non mais grave, mais j'étais dans ma chambre du Crous. Il y a des fois où je devais rentrer chez mon daron le week-end faire des lessives, mais je voulais pas rentrer chez mon daron, non. Il me saoulait de fou. Et je me disais. Comme Black Thorn dit, en fait, je peux rester. Tu vois.
Ça va?
What if?
En fait, je peux rester. Je suis pas obligé de rentrer. Et
non,
voilà.
Ouais, tu vois. Mais c'était bien de faire ta lessive quand même. De l'autre côté.
C'est vrai.
Donc, fin de ce.
Mais voilà, enfin, pour moi, il y a ce truc de. Lui, il comprend aussi au fil des épisodes un peu sa place dans tout ça. Et le fait qu'il vive ou qu'il meure, c'est pas important, quoi.
Oui, et que sa vie d'avant n'existe plus, il peut pas y retourner, comme on l'avait dit avec la séquence où il retrouve un de ses anciens compatriotes, un des marins, et qu'il le potentiellement tabasse à mort. Hein, on a toujours pas de confirmation parce qu'il est un peu ni d'ici ni d'ailleurs. Il est métis mélange de couleurs et du coup il est trop babtou pour les Japonais et trop nippon pour les babtous.
Par contre, qui sont ces deux enfants? Parce que donc si ce alors
il a deux enfants, Black Sand.
Admettons que non, mais d'accord, il a deux enfants, mais donc là on imagine que ses enfants ont eux-mêmes fait l'amour et donc on donnait naissance à
pas idéalement
deux
pas ensemble
enfants.
Mais ouais
non mais pas non mais ça va ça directement.
House of the Dragon le 17 juin saison 2.
T'es la pire meuf. Non mais qui sont ses enfants du coup?
C'est
genre
ses petits enfants à lui.
Oui, mais enfin comment tu rêves ta vie d'après avec des enfants si t'as pas d'enfants? Tu rêves
mais
des
tu,
enfants de
si
qui
si tu te dis
mais si il a un enfant
déjà il a deux enfants au pays et il a une femme et deux enfants. Donc il se dit ah je me projette vieux et ben j'imagine que vieux sur mon lit de mort je serai entouré de mes petits enfants qu'il a peut-être pas encore mais l'imagination mon
j'ai
gars.
Aussi une deuxième
à l'époque
take.
Il y a pas la contraception tout le monde
j'ai
a
aussi
des enfants
une deuxième take sur cette toute début séquence enfin pardon ce début d'épisode où on voit ces deux enfants enfin ces deux petits enfants du coup qui disent pendant que Black Thorn il est apparemment décédant sur son lit de mort il est au bout de sa vie ces deux enfants disent ah, tu penses que c'est le katana que Papy avait? Mm-hmm. Oui, il a rencontré plein de sauvages. Et pour moi, ça n'existe pas parce que Black Thorn vivant, la vie de moi, Jamais il dirait à ses petits-enfants de dire les Japonais c'est des sauvages.
Oui, oui, bien parce sûr. Qu'il lui... Moi, c'est ce que je me suis dit ouais. aussi, ça m'a fait bugger en fait, ce vocable de... Ouais. De, des sauvages, alors que lui-même a été qualifié de barbare pendant toute la série.
Et les a qualifiés de barbare lui-même, ouais. mais clairement, on imagine que Blackthorn ne serait pas rentré en Angleterre en disant oh là là, j'étais des chez sauvages. Les barbares, ouais. etc. On sait qu'il a gagné. Ouais. un respect et une appréciation humaine pour ce peuple qu'il a découvert. Du coup, oui, c'est un premier indice de... C'est pas vraiment un flash-forward. On n'imagine pas Blackthorn élever des enfants ou des petits-enfants qui traitent les Japonais de sauvages. Donc cette vision qu'il a de lui, en fait, c'est juste une version possible de lui. C'est moi qui rentre au pays et qui devient le mec qui a conquis les Japans et qui a ramené des armes de samouraï, etc. Ça veut pas dire que c'est la réalité.
Mais comment t'arrives à en être convaincu, genre, enfin...
Bah parce que c'est pas arrivé. Parce que Blackthorn n'y rentre pas au pays.
Oui, parce enfin, que toi, t'as lu le bouquin, mais...
Non, non, c'est le langage de la série. La série nous dit à la fin, Blackthorn n'y rentrera pas, Toranaga, il dit, il va refaire un bateau et je vais rebrûler son bateau. Mais tant qu'il croit qu'un jour, il va... Et en fait, Blackthorn, au final, il veut pas rentrer.
Mais moi,
Blackthorn, tu le fous sur un bateau pour Londres.
Attendez, parce que là, on
est Sayonara, il est là... Ah, oh, ce pied, c'est vrai qu'il se lave pas là-bas, oui, putain, oui, ça oui. sent. Enfin, tu vois, je pense plus il se rapproche, plus il est là. Comme Frodon quand il revient dans la comté. C'est pas la comté qui a changé, c'est lui. Blackthorn, il a trop
Tu viens
changé.
Vraiment de faire une métaphore Hobbit.
Toutes les bonnes histoires sont des bonnes histoires, écoutez.
Oui, enfin, ils ont pas de poils aux pieds, eux. Hein. Enfin, désolé.
Alors, Blackthorn, il a plus de poils que d'autres personnages, je pense.
Alors, il y a... Donc, parce que, donc, effectivement, ce dernier épisode est également en live sur Twitch. Et on a Justin oui. Dans le chat qui nous dit... Après, barbare est un terme qui, effectivement, désigne ceux qui ne parlent pas latin, à la base.
Ah bon ?
Donc, peut-être que, comme les Japonais ne parlent pas la langue latine... Mais après, en vrai, j'y crois.
Mais dans les... Alors, en tout cas, dans les sous-titres, les Japonais traitent l'anjin de barbare. Aussi, alors que je pense que non, c'est un autre mot en fait, mais il y a cette idée de tu es moins civilisé, c'est ça, de tu n'es pas un peuple civilisé. Du côté de Blackthorn, au début, ils les trouvent pas civilisés parce qu'ils mangent des trucs bizarres, ils ont aucun respect pour la vie humaine, ils font bouillir son pote, rappelons-le, Yabushi qui est quand même premier
ça,
contact.
Bof,
en, voilà, en journée team building, t'es là, ah bon, peut-être je romps ma période d'essai.
Pas sympa.
Et de leur côté, ils voient un gars qui. Fait pourrir un oiseau, qui se lave pas, qui parle une langue bizarre et qui a une barbe pleine de poux. Donc oui, il y a cette idée de et qui est incapable de traverser un jardin sans foutre le bordel. Donc les deux peuples pensent que l'autre est pas vraiment civilisé et plus animal qu'humain et les deux se rendent compte que on est tous des humains dans le vivre ensemble finalement.
Bah on fait tous caca pareil. Hein.
Ah oui et on saute tous à poil d'un bateau. Pareil, back to le présent de Blackthorn, là où on l'a laissé en tout cas à la fin de l'épisode précédent. Est-ce que toi, Marie, t'avais un doute sur est-ce que Mariko est morte ou pas ? Parce qu'il y avait ce côté, genre l'épisode précédent s'achève avec l'explosion. Bon,
non,
t'étais
parce
pas
que
en
j'ai...
mode « Ouh, cliffhanger !»
Non, non, moi j'avais un petit espoir qu'elle survive, bien entendu, parce que c'est ce qu'on a quand même voulu nous faire croire avec ce cliffhanger. Par contre, moi j'étais un petit peu déçue parce que je me suis dit « Bon, la meuf, elle s'est fait... » Explosax.
Alors, je sais et... où tu vas, je suis d'accord avec toi.
Ouais. Oui.
Blackthorn la prend dans ses bras, il est là, Mariko ! Et tu fais, bah, elle est pas. Franchement, après la charge de TNT qu'elle s'est prise là, à mon avis, elle devrait être genre.
La poudre à canon bon. De l'air Edo,
Explosax.
À mon avis.
Voilà, voilà, elle a juste un.
À mon avis, elle n'est
quoi.
Pas prenable dans les bras.
Non.
Tu ne peux pas. Elle est prenable, mais dans différents épisodes.
Ouais.
Mais
dans les carrioles à bout.
Ouais.
On
elle,
a vu.
Elle,
quoi.
N'est, elle est prenable. Ouais. Non, c'est pas possible. C'est...
Elle a un kimono en lin blanc, son kimono de.
Il y a un trou sur le bras gauche.
Post-baise. Et le kimono, non, mais... on voit même hop un bout de peau. Bon, je
petite,
comprends.
Petite
c'est
brûlure,
une série,
mais second degré.
Oh, bah ouais. Même, ouais, ouais. C'est une brûlure de briquet, c'est une
boulette. À des endroits. un truc de boulette. Et à des endroits pas défigurants, tu vois, où Blackthorn il peut. Mais bon, c'est une série, je peux comprendre. Est-ce qu'on avait envie de voir Mariko avec la moitié du crâne arraché et des os qui, sont,
non,
qui sortent ?
Ça va
pas.
Pas. Non, mais exactement. Tout comme quand Fujisama, elle a été blessée, on ouais. était là. Bon, ça, on voit pas vraiment de blessure. Est-ce que c'est grave ce qu'elle a ou pas ? Elle est allongée, elle a pas l'air bien. Mais en fait, comme c'est des femmes de la haute et qu'il faut, je pense, un petit peu préserver leur image et leur esthétique. À mon avis, la volonté aussi, là, en les montrant dans cette position-là, sans trop les abîmer, contrairement à... Franchement, on en voit des gens qui sont abîmés
ah bah on
dans
en...
la série.
On en voit, mais c'est... en vrai, c'est tout le temps des hommes.
Et c'est tout le temps
ouais.
des hommes,
ouais.
c'est jamais des
femmes. Des soldats qui mais sont, oui. du coup, dépersonnifiés, tu vois.
Ouais. Et je
tu
trouve
veux qu'on
que
parle c'est... de la misandrie ambiante dans les séries télé ?
Non, ça va, non.
Non, parce que visiblement, les hommes, on peut les défigurer, on peut les mutiler. Non, les femmes, écoute, elles sont juste allongées dans leur kimono de soie blanche.
Elles défaillent un petit peu. Oh,
bah écoute, voilà, nous, on est en charpie, on est en jambes, on est en torse.
Ouais. Ouais, c'est vraiment quoi.
Non, c'est hyper graphique pour les mecs. Et par contre, quand.
Non, mais ouais, c'est graphique pour les soldats. Ouais.
Fujisama ou pour Mariko, effectivement, c'est plutôt propre. Mais je crois que ça. Moi, je trouve que ça va avec l'image un peu fantasmée de leur beauté féminine, tu vois.
Grave.
La façon dont on représente les femmes dans cette histoire-là. Et comme si elles avaient une sorte d'aura qui les protégeait de ces. Blessures qui les défigurerait ou quoi.
Ouais, un truc très immaculé, très genre.
Oui, très immaculé.
Même dans la mort, elles doivent être toujours présentables et genre. Ouais. Enfin, ouais, je vois un peu le truc.
Enfin, en tout cas, moi, ça m'a donné cette impression-là en voyant Mariko et après, j'ai fait bon, il a écouté son cœur, il a écouté son souffle, elle est dead la meuf, mais.
Ouais, elle est dead. Est-ce que. Juste rappelons sur ce point que Mariko, elle est aussi chrétienne catholique et que c'est littéralement une martyre. Donc il y a aussi la Madone, elle est pas vierge, on a passé une bonne nuit. Mais il y a cette idée de la pureté sanctifiée aussi et d'une féminité virginale en tout cas qui n'est pas bafouée. Donc tout ça, ça marche bien quoi.
Ouais.
Tu disais pardon.
Attends, parce que là en fait tu viens de niquer ma vanne. Je voulais remettre la corne de brume de Antibes.
Tu voulais mettre point par point.
Tu viens de me niquer ma vanne. Je voulais
parce
remettre
que
la
j'ai
corne
dit pureté
de brume.
Virginale et du coup
non
tu
parce
peux
que
pas
tu
être
dis elle est pas vierge et moi j'étais là genre ok il faut que je remette la corne de brume.
Mais non mais avant t'allais dire un truc.
Oui j'allais dire un truc. Oui j'allais dire par rapport donc on a une remarque effectivement dans le chat de Monsieur l'ours qui nous dit et c'est un truc je profite qu'on soit à ce moment-là de l'épisode pour le soulever parce que je me suis fait la remarque pendant l'épisode où sont les assassins.
Les shinobi pendant ce
temps. En fait,
temps.
On a tout le début de l'épisode en mode oui, Mariko, elle est morte. Ok, bah on le savait, frérot, elle a eu 12 tonnes de TNT dans le HUC. À un moment donné, la go est décédée. Où sont les assassins qui faisaient péter la porte? Le but c'était quand même de rentrer pour tuer les gens. Et voilà, où sont-ils? Et en fait, il y a pour moi une facilité scénaristique de début d'épisode de, en fait, on voit beaucoup Blackthorn. On voit Yabushige qui est sonné, voilà. On voit Blackthorn qui est en train de prendre Mariko dans ses bras et qui est ému, etc.
Et qui est bien sonné aussi. Hein.
Et où sont les shinobi? Pour moi, c'est tout l'intérêt du. Enfin, ça m'a un peu marqué. Où sont-ils, genre?
Oui, tu me l'as dit pendant l'épisode, genre. Et du coup, les shinobi, enfin, ils attendent là devant la porte que Blackthorn y fasse son moment de
parce
deuil.
Ils pouvaient pas. Enfin, est-ce que genre ils ont vu Mariko mourir et ils étaient là en mode, oh, pardon, on arrête d'avancer parce que elle est morte. Non, pas du tout. Enfin,
non.
Ils ont fait sauter la cabane quand même. Hein.
Bah ouais, non mais désolé. Mais...
Quoi, derrière cette porte qu'on a fait exploser, il y avait des humains qui ont mal vécu l'explosion. Quelle surprise.
Et donc c'est toute la question de, ils étaient là pour qui, pourquoi, tu vois. Ils étaient là. Est-ce qu'ils ont vu que Mariko était dead et du coup en mode bim bam boum on se casse.
Ouais, mais après il y a Meridian qui dit, en fait ils sont enfuis vu qu'il y avait plus personne à kidnapper. Parce qu'au départ, le but c'était pas de la tuer, c'était de la kidnapper. Donc, comme ils ont pas réussi. Bah, après, je sais pas, les gars, vous avez fait sauter la. Bon, encore une fois, vous avez fait sauter la cabane, quoi.
Bah oui, non, mais bon.
On peut se dire à quel point ils reconnaissent, parce qu'il y a. Bon, déjà, c'est enfumé, il y a d'autres femmes présentes, notamment l'épouse de Toranaga et d'autres femmes nobles. Donc, ils auraient pu se dire, bon, on en prend une ou deux, tu vois, est-ce que tu reconnais vraiment laquelle est Lady Mariko? Pour moi, il y a un côté, ils étaient censés faire une attaque éclair, et en fait, comme Ishido fait semblant que, bien sûr, c'est pas lui qui les a amenés. Y a que Yabushige qui est au courant et la garde du château, elle va attaquer les shinobi. Donc en fait, c'est une attaque infiltration. Si on fait péter si ça prend trop longtemps, on se casse, tu vois. Genre il vaut mieux se casser. Donc pour moi, il y a un vrai truc de oui, on était à 3 minutes près. C'est-à-dire que les 3 minutes de la porte, elle était lourde, ils ont dû la faire péter. On suffit à OK, les gardes sont trop alertés, ceux qui peuvent, on s'enfuit et puis les autres
Oui, bon.
Mais c'est pas forcément quelque chose qui est censé être limpide dans la série, parce que l'astuce de la série pour moi, et on en revient à, on a qu'une heure pour tout finir, c'est, on passe cette intro littéralement dans les yeux de Blackthorn depuis ce flash forward qui n'en est pas un. Et du coup, comme il est sonné, il est complètement en trauma physique, mais aussi mental, bah en fait, lui-même il a des trous, lui-même il rate des trucs, et du coup, lui, à ce moment-là, il sait pas, ou il a des flashs de, je me suis vu peut-être vieux, est-ce que c'était vraiment moi, rentrer en Angleterre, j'ai pris Mariko dans mes bras, elle était morte, j'ai crié, il y avait de la fumée, il y a Yabushige qui dit, je suis désolé, et même Blackthorn, je pense qu'il y a un côté genre, est-ce que je l'ai rêvé, est-ce qu'il l'a vraiment dit, est-ce que du coup il était responsable, et probablement qu'il y a un bout de son cerveau qui dit, ah du coup les shinobi ils sont où, mais il sait même pas si ça fait 2 minutes ou 15 minutes qu'il est là avec Mariko dans les bras. C'est un peu une facilité aussi de je pense, de budget, hein, on va pas se mentir, et de temps. C'est moins cher de rester du côté du mec assommé que de montrer soit l'évasion des shinobi, soit la garde qui les embroche, soit quoi. Mais on est, enfin, en fait, l'important c'est pas tant comment les shinobi sont partis et pourquoi, c'est Mariko elle est morte. Et c'est ça qui va avoir des conséquences.
Évidemment, évidemment.
Oui, parce qu'il y a eu une autre meuf qui est en PLS là. On sait pas si elle est dead ou pas.
Oui,
mais
il y a
personne n'a rien à foutre. Ils sont tous là. Mariko,
Mariko.
Non, mais oui, oui, oui.
Mais je suis pas morte. Toi, Mariko.
Il y a Bushige et tout, Black Sun. Ils sont tous là. Mariko.
Écoute, tous les animaux sont à égalité, mais il y a des animaux plus égaux que d'autres, comme disait l'autre. Et oui, c'est là où on voit pour la première fois que Yabushige a l'air extrêmement commotionné, mais à ce moment-là, on ne sait pas si c'est durable ou si c'est que littéralement il s'est fait exploser une porte sur la gueule et il fait un peu semblant aussi.
En vrai, cette scène-là, enfin, il y aura d'autres scènes dont on va reparler, mais cette scène-là précisément, il vient effectivement de se prendre une porte explosée dans la gueule. Il y a un moment où l'audition, il l'a perdu pendant au moins une heure, je pense.
Clairement, on est plutôt plutôt sourd. On passe à la scène d'après. Conseil des régents, enfin. Bon,
changement de salle, de ambiance. Hein.
Maintenant,
vraiment.
On va régler tous ces problèmes, cher Saeki, cher monsieur acteur de théâtre No, cher Kiyama, cher Ochiba, tout le monde.
Bon, on vote la guerre ou on vote pas la. C'est comment
Mais
là
moi, ça me fait toujours marrer parce qu'ils ont toujours dans leur le gars là, Jérémy Ferrari, qu'ils ont recruté. Ils ont recruté.
Il est toujours là.
Il est toujours là, le mec.
Le gars, il a été recruté le lendemain. Il y a un des régents, il a dit je pars, il est mort. Et il s'est pas dit ah, j'ai pris une mauvaise chose.
Il est toujours là en mode oui.
Il est là avec un lépreux.
Ouais.
Le frère du gars contre qui vont faire la guerre, un chrétien et Ishido. Oui. Et Oshiba qui est bizarre, tu vois. Il est là, il a pas d'instinct de survie.
Sale mardi.
Mais donc les régents sont là pour voter enfin officiellement à 5 tous ensemble. On déclare la guerre à Toranaga sous la bannière de l'héritier du Taiko. Genre c'est bon, c'est légal, c'est réglementé. Kiyama, qui est le régent chrétien, il commence à faire oui, et du... enfin le catholique, il commence à faire oui, et du coup, par rapport aux protestants, là, machin, Ichido, il dit franchement, je m'en bats les couilles. Tu signes pour la guerre, le gars, j'ai jamais voulu traîner avec moi, je m'en fous. Et là, il va pour signer pour la guerre et. Mercure en rétrograde, un signe des planètes qui s'alignent, tremblement de terre. Chaud ou pas? Qu'est-ce que t'as pensé de cette scène, Marie?
Mais moi, alors, il y a une autre occurrence d'un tremblement de terre dans l'épisode, et enfin, si je crois, si je me trompe pas. Enfin, il y a deux fois la scène du.
Dans cet épisode-là, c'est la seule occurrence du tremblement de terre.
Mais il raconte quelque chose par rapport au tremblement.
Alors, il y a un moment où il y a la scène plus tard de la carpe où Yabushige fait semblant ou pas semblant d'être fou en attrapant la carpe, où il dit un séisme machin.
Il parle du taiko.
Ouais.
Il dit que le taiko.
Il y a une scène
voulait...
similaire.
Donc le Taiko, le prédécesseur, hein, celui qui est mort, il voulait à la base sonner les tambours de guerre, en gros, et qu'il y a eu un tremblement de terre qu'il a pris pour un signe divin, et que du coup, il s'est senti obligé d'unir le Japon plutôt que d'aller à la guerre.
Et il a accusé la carpe avec sa queue qui a fait bouger les terres et le tremblement de terre.
Sachant que là, la réunion dans laquelle on est, donc déjà, c'est vrai qu'il y a une bonne vibe de réunion du lundi matin.
Ah non, mais grave.
C'est le
vous avez fait quoi ce week-end moi, j'ai fait de l'escalade.
Ah, vous avez pensé quoi de la tentative de C'est beaucoup de Mariko? C'était quand même une belle animation qu'on a eue la dimanche avec la MJC.
Non, mais c'est effectivement précis. Le Ishido, il les regarde tous en mode « Non, mais il faut qu'on reste unis ». Ils les regardent tous les yeux dans le blanc des yeux, et ils sont tous là à baisser les yeux. Ouais, on va rester unis.
Ouais on va être bien unis avec toi.
Ah, ils sont fébriles de fou en vrai.
Ça cligne bien des yeux, franchement, dans la séquence. C'est le truc du tremblement de terre et de cette union-là. Enfin, c'est vrai que moi, je l'ai un peu plus capté par l'anecdote de Yabushige après avec.
Yes, du fait que le tremblement de terre est un présage de la guerre n'est pas la solution.
Ouais.
Et pour le coup, un écho du taiko, ce que moi j'avais pas.
Oui, quand tu fais le roleplay Tuffer en redescente, là, j'étais là, qu'est-ce qu'il.
On va en parler, c'est la scène qui suit, tout à fait. Mais quand même avant, déjà, est-ce que toi t'as des choses à dire sur ce vote des régents?
Pardon, excuse-moi, je toussais. Non, en vrai, pas spécialement de take sur ce vote des régents. Juste. Pour moi, Ishido, en vrai, ça fait deux épisodes, il est niqué. Enfin, désolé, mais on voit, enfin, il est nul. On voit qu'il a, il a perdu. Il sait qu'il a perdu. Il sait que Mariko l'a fait perdre dans l'épisode d'avant à tout niveau. Tu vois, il y avait.
Tu penses qu'il le sait là ?
Ouais, je pense qu'il le sait et je pense que plus que lui, je pense que Ochiba. Donc sa femme
Ochiba,
Ochiba
sa,
c'est...
Promu, sa fiancée sa...
Bah,
ça,
ah, mais ça. Le regard, les regards
mais
qu'elle
non, mais
a
désolé, mais
dans toute cette séquence
Ochiba elle est, en elle est en dissociation oui. Elle a divorcé il y a 8 ans déjà enfin, oui.
Elle est pas, Ochi... ils sont pas ensemble hein, pas,
oui enfin ils sont fiancés
il lui a
promis,
proposé il y a 3 jours de se marier quoi.
Et, mais là enfin ça se voit il y a un moment il est là en mode ouais non moi je m'en bats les couilles on fait la guerre et elle est là en mode Mariko sera enterrée chrétien
oui
et il fait d'accord.
Oui, d'accord.
Comme elle a dit, Mariko
comme,
sera enterrée.
Comme la dame a dit. Oui, et en fait, enfin, pour moi, Ishido, il est en, enfin, il est présenté en position de faiblesse depuis au moins un épisode et demi, voire deux épisodes, avant même qu'ils arrivent à Osaka, tu vois. Ouais, Osaka. Et pour moi, il le sait. Et ce personnage, il est malheureusement finito. Et pour moi, le véritable enjeu de pouvoir, il est pas dans Ishido, il est dans Ochiba à côté. Parce qu'Ochiba, ouais. C'est elle qui connaît Mariko, ouais. C'est elle qui, en vrai, tire les ficelles. Parce que là, elle a juste à claquer des doigts.
Que... C'est une décision oui. d'Ochiba qui fait basculer aussi.
Ah bah, de fou.
Le destin des Japans.
Et non, pour moi, enfin ouais, le conseil des régents, il a de régents plus rien, quoi. Tu vois, c'est Ochiba, comme on l'avait vu à 3 épisodes à la fin. Toi, t'étais là en mode, oui, elle va tirer les ficelles. Moi, j'étais là en mode,
c'est juste une meuf bizarre qui
et en fait, bah ouais, elle tire les ficelles, mais sans forcément le vouloir, par la force des choses, parce que ben, sa BFF, elle est morte aussi. Mm. Et je pense qu'elle aurait pas autant de pouvoir si Mariko n'était pas décédée, peut-être. Parce que le mariage, c'était, on en a parlé dans l'épisode d'avant, mais peut-être une façon de l'étouffer, une façon qu'elle ait moins de. Il y avait peut-être ce truc-là de par le mariage.
Elle
du
a
coup...
plus de pouvoir en tant que mère de l'héritier du Taiko qu'en tant que femme de Ishido.
Ouais.
Parce que mère de l'héritier du Taiko, il n'y en a qu'une. Et ça lui donne un statut unique par rapport à femme d'un régent, tu vois. Quid, mais... même si c'est le chef des régents, c'est pas aussi unique comme position.
Mais je sais pas si vous, ça vous a fait cette sensation-là, mais moi je trouve qu'effectivement, on voit qu'elle prend le dessus et que c'est elle le centre de cette scène-là du Grave. Conseil des régents. Mmh. Parce que malgré le fait qu'elle ne fasse absolument rien, à part prendre la parole à un moment pour dire si, en fait, elle va avoir une cérémonie chrétienne, elle a une présence, la comédienne à ce moment-là, et donc son personnage qui rend en plus Ishido complètement ridicule à côté.
Grave,
oui. Je trouve que ça l'infantilise limite Ishido parce qu'elle prend toute la place en termes d'aura dans la scène. Quoi.
Elle l'écrase.
C'est hyper marquant. Quoi.
Ouais.
Et c'est aussi une scène où, en plus de capituler, donc effectivement, il y a aussi une petite négo des funérailles catholiques et en grande pompe de Mariko-sama qui sont demandées par Kiyama et Ono. Donc c'est celui qui a la lèpre, ouais. C'est les deux régents chrétiens. Plus par Ochiba qui était aussi très proche de Mariko et en gros ça appuie en effet la mort de Mariko c'est la défaite de Ishido parce que c'est un symbole qui rassemblait un peu tout le monde en fait Ochiba avait un lien avec Mariko, les catholiques ont un lien avec Mariko, ouais. Les femmes avaient un lien avec Mariko, les femmes nobles tout le monde respectait sa lignée, tout le monde connaissait sa vie compliquée. Donc oui, la mort de Mariko est le clou dans le cercueil de Ishido.
Et on le voit parce qu'il y a donc au tout début de ce conseil des régents, quand tout le monde est là en mode Zubi, oh là, bon, on va en parler et tout.
Oh, d'où vient cette attaque de Shinobi? On n'est plus en sécurité nulle part.
Il y a
ça cache Paris.
Je crois que c'est celui du coup qui a la lèpre.
Ono.
Ono qui le dit. Ou je sais plus si c'est celui ou celui à côté qui dit en fait, frérot, t'aurais dû laisser Mariko partir, quoi.
Oui.
T'aurais vraiment dû laisser Mariko partir. Et ouais, en fait, c'est parti
oui,
en couille
que...
parce que.
Il mais a... du coup, ça montre aussi que son bluff à lui de ah, c'était une attaque du château, tout le monde sait que c'est lui
non,
qui l'a ordonné. Tu vois.
Désolé, mais bon.
Genre, enfin, bah oui, bah, il est pas très bon oui. Stratège.
On sait qu'il y a Poucave, hein. Désolé, on sait qu'il y a Poucave dans cette
clairement.
Histoire.
Clairement.
On sait qu'il y a Poucave.
Par contre, pas grand monde sait que Yabushiga a eu un rôle à jouer, mais on va y arriver. Juste, je trouve que c'est intéressant parce que au moment où il y a le tremblement de terre, quand Ishido part pour signer l'ordre de guerre et que tout le monde dit ah, mais Ubi, tremblement de terre, on écoute un petit peu le présage et tout, Ishido, il se dévalorise lui-même puisqu'il dit on va pas croire à ces présages comme des paysans. On n'est pas des paysans. Mmh. Alors
ouais.
Que Ishido,
oui.
C'est un
ouais.
Paysan et on le sait et ça lui a été rappelé régulièrement
par Mariko,
différentes personnes, dont par Mariko très récemment. Et du coup, pour moi, ça appuie sur... il utilise des arguments... Enfin, il est désespéré, quoi. Il utilise tout pour se faire passer pour ce qu'il n'est pas, parce qu'effectivement, il n'est pas en position de force, malgré tout son prestige de pacotille. Et donc, Ishido va aller voir Yabushige, parce que quand même, Yabushige a rempli sa mission.
J'ai un fun fact. sur.
Eh ben attends, moi j'allais. Vas-y. Bah,
fun fact, réunion là. RH avec Ishido.
Mais c'est non, c'est par rapport. C'est par rapport à Lady Ochiba qui est une, okay. une prestance dans le. Dans cette série, il faut savoir qu'actuellement, elle est sur une autre, elle est dans une autre série sur Netflix qui s'appelle I Love You, I comme l'œil en anglais.
Ok, ok, ok.
Où elle joue un personnage complètement différent. Et donc moi, ça m'a ultra perturbée parce que j'ai regardé les deux séries.
Oh non, bizarre. Ça doit être trop bizarre.
Sauf que donc là, elle a une prestance, elle parle comme ça dans la série. On se dit c'est quelqu'un d'extrêmement posé, d'important, qui calcule ses mots. Dans la série I Love You, c'est juste une meuf qui se fait livrer par un serveur coréen et qui découvre plein de bouffe. Et à chaque fois qu'elle a de la bouffe, qui arrive chez elle, elle est là, mais tel truc c'est trop bon. Et en fait, j'ai trop envie de regarder cette série.
Alors
c'est Lady Ochiba qui mange des trucs.
Mais oui. En vrai, on pourra regarder.
Mais avec beaucoup d'enthousiasme. Genre.
Alors que dans Shogun, elle est vraiment en mode.
Oui. Elle est un peu.
She will be buried.
With great.
With oh great. Ok.
When non, the on leaf. On va faire un poème de mort.
When the leaf falls.
From the branch.
On fera un point poème et personne ici ne va être disrespectful.
Oh non, le point poème.
Est-ce que Marie, est-ce que tu pourrais nous mettre une petite source navigateur pour...
Non, c'est pas maintenant le point poème.
Non, mais
c'est le point Yabushige.
Il y aura plusieurs interludes.
Ok. Alors on a un interlude, c'est okay. Nienodus qui va arriver. Est-ce que nous on aura le son, on aura tout. Vous aurez tout ce qu'il faut normalement.
Il
hein.
n'y aura pas de son.
Mais Marie va vous charger, voilà un élément visuel.
Je t'envoie le lien, Marie. Mariko.
Ah. Est-ce que le chat vous avez hâte? Moi j'ai hâte, mais aussi peur. C'est Fumi Nikaido, l'actrice qui joue Ochiba, excellente et elle a reçu beaucoup de prix, nous dit Goro Mari. Merci beaucoup. Hop.
Sorry, il faut que je mette l'empreinte digitale.
Mais on est où là, l'empreinte digitale
désolé,
de faire des conneries
désolé,
sur internet
mais non, mais désolé, mais...
On va y arriver, on arrive la mif. Ouais, OBS.
C'est pour
OBS,
un interview intéressant.
OBS.
J'ai très peur de
non, mais
ce qui va se passer.
Pas, ça va bien se passer. Mm-hmm.
J'ai pas peur que ça se passe mal, j'ai peur de ce qui va se
si
passer.
Tu veux, tu peux meubler pendant 2 secondes le temps que je retrouve mon truc, y a pas de souci.
Yes, je vais meubler pendant 2 secondes en vous encourageant à vous abonner à la chaîne Twitch de Marie Kigai ici présente. Marie Kigai, c'est 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi. Sur la pause déj, Marie qui graille, un commentaire souvent de documentaire, de reportage, en tout cas un moment de react à un contenu d'actualité, de société qui permet idéalement d'insulter à la fois la bourgeoisie et le patriarcat. Voilà, ça c'est la base c'est qu'on aime bien.
Incroyable comme description.
Idéalement, okay. Si on peut aussi dire du mal des gens qui respectent pas les Beatles, c'est pas mal. Et puis ça c'est les 2 rendez-vous hebdo de Marie. Et puis sinon il y a souvent des lives exceptionnels, que ça soit avec la Ligue de l'enseignement, wow. Avec Justin, avec Mimi pour BFF. Plein de choses avec des documentaristes et des journalistes de talent qui font des contenus sur des populations qu'on voit pas beaucoup dans les médias. Voilà, c'est la chaîne de Marie. C'est engagé, c'est insupportable, c'est cultivé
c'est insupportable.
Et c'est très bien produit. Donc abonnez-vous. SO Marie qui gagne. C'est maintenant le truc ou pas?
Ça marche pas. Est-ce que t'as l'image, Marie?
Alors, oui. Alors attendez, j'arrive. Hop.
Merci Justin pour le russe. Merci beaucoup. Et je suis désolée si j'ai raté des subs ou des follow. Comme je vous dis, c'est compliqué de parler à 3 et de lire tout le chat. Mais merci d'être là. Déjà, ça nous fait très plaisir.
Attends.
Je crois que tu m'as pas envoyé le bon lien.
Mais ok. Attendez. Laissez-moi 2 minutes et au pire.
J'ai un petit aperçu.
Ils ok. Mais tu vas être contente. Quand ça va arriver, tu vas être contente de fou.
T'inquiète même, ça va streamer ça fort l'équipe. Allez, ça arrive. Hop là.
On tente de mettre à profit la technologie
la
finalement. La technologie, voilà. Donc là par exemple.
Non, c'était Fort Boyard. Faut suivre.
Ah voilà, if you are one, no audio source, on s'en fout. Et donc là maintenant, Yabushige dans le presse-papier.
Justin, il dit Nod, il a pas envoyé les assets en avance avec des smileys fâchés.
Eh oh, Nod, il mangeait des keftas là. Donc,
C'était des bonnes keftas, Justin, mais pas mes meilleures.
Donc là, voilà, là tu vois mon écran.
Oh waouh.
Ok.
Attends, stream pas tout de suite.
Non, je stream pas.
Il faut que je finisse de mettre juste les 4 trucs, j'arrive.
Frère. Non, mais on est où là?
Mais attends, je l'avais fait, mais quand j'ai dû redémarrer là.
Oui,
bref.
Ah, j'en profite pour vous dire que si on finit pas trop tard, ce qui est mal parti, j'ai deux trois trucs à vous raconter sur que sont devenus les équivalents historiques de Shogun dans la vraie vie. Qu'est-il arrivé à l'équivalent, à l'inspiration de Toranaga après sa victoire potentielle sur Ishido et son accession au rôle de Shogun? Qu'est-il arrivé au marin William, qui est l'inspiration bien sûr de Black Sorn? Bref, plein de choses à vous raconter si jamais on finit pas à 23h45.
Mais t'inquiète, t'inquiète, ça arrive très vite là. Ça arrive très très vite. Ça arrive. Eh, c'est bon, je rajoute dans mon truc la peine de mort.
Top. Top.
Voilà, merde.
Lardon Trocu nous dit que 10 bébés ont été conçus depuis que tu lances de tenter ton animation.
Non, mais ça va de m'humilier là.
Fabrice Florent, c'est l'heure du jingle. Je pense que c'est un jingle aussi bien que les nôtres dans le Fab et Mimi Show.
Non, mais il n'y a pas de jingle, mais c'est. Bon, bref. C'est bon, Marie, tu peux streamer, vas-y. J'enlève mon historique.
Ouais.
Tu veux, je mets en plein écran.
Cache ta fenêtre là sur le techo, regarde, on voit.
Ah oui, c'est vrai
techo.
Qu'on voit Discord avec tout ouais. le monde.
On voit
non,
tes
mais
conversations
c'est bon, après. C'est bon, mais ça va.
Mets-moi
oh
ça,
là.
Il a ses
dick pics ouverts sur le
téléphone. Attends, attends, regarde. C'est quoi, je me mets en plein écran.
Voilà,
oh là là, c'est incroyable.
Voilà, je t'en supplie. Comme ça.
Mesdames et messieurs, un live exceptionnel, dispositif exceptionnel, puisque ce soir, pour vos yeux, et malheureusement pas vos oreilles, puisqu'il n'y aura pas de jingle ce soir, mais pour vos yeux uniquement, mais vos yeux néanmoins ébahis, vos yeux émoustillés, vos yeux époustouflés. Voici la roue du Japon féodal.
Que nous disent
alors,
les roues du Japon féodal.
Alors, cette semaine, pas de jingle, mais plusieurs interruptions durant ce podcast. Alors, vous ne les voyez pas, si vous nous écoutez en audio, vous ne les voyez pas en podcast, vous ne les voyez pas, mais j'ai créé, grâce à un site internet, une roue de la fortune, sur laquelle il y a quatre catégories qui peuvent tomber aléatoirement. Les catégories sont les suivantes. Nous avons la peine de mort.
Oui.
Au Japon féodal.
Oui.
Toutes sortes d'informations sur la peine de mort
les
au Japon.
Les peines de mort, peut-être.
Les peines de mort au Japon féodal. voilà. Nous
regarde
avons
pas
également.
Comme ça, Marie, il a fait ça dans son coin. Hein.
Nous avons les poèmes. Parce que j'en ai ras le cul d'entendre Mariko et Ochiba et tout le monde faire des poèmes qui veulent rien
c'est
dire.
C'est quoi qu'on tombe dessus ou pas?
Ça ne veut rien dire.
Pas avec cette attitude. Excuse-les d'avoir de la délicatesse
nous
et de la subtilité, Valentin.
Un point cheval. Il est important. Il est important. Nous avons le point chevaux. Et nous avons en dernier l'anecdote triste. Si on tombe dessus, je vous promets que c'est une anecdote triste.
Oh non.
Sur l'épisode, pas sur ma vie, mais sur l'épisode.
On peut faire les deux.
Sur l'épisode de Shogun. Voilà. J'en avais prévu plus à la base, mais j'ai pas eu le temps de faire plus de recherches. À la base, j'avais prévu les poches dans les kimonos, parce que vous savez, dans l'épisode, ils mettent plein de papiers et je me
ouais,
dis, mais
et Black Sword,
elles sont
tout
les
le temps le chapelet.
Et comment il sait, genre Yabushiga, à un moment, il donne deux papiers différents. Comment tu sais lequel c'est le bon quand t'as bah, pas
après.
De... Bref,
je pensais.
Je voulais faire les poches, mais j'ai pas eu le temps de chercher, donc.
Je voulais faire les poches.
Et alors, Fabrice Florent nous rappelle qu'il y avait un point menstru, mais il me semble Marie. Que du coup tu
ah, je vous ai préparé quelque chose.
Ah celui-là il est canonique, voilà. Il est prévu, il y a pas besoin de
Marie s'est proposé pour le point menstru. Donc écoutez, j'ai rien eu à préparer. Je suis entourée de chercheurs et chercheuses finalement.
Nous avons maintenant la roue à lancer, mesdames et messieurs.
Allez.
Je m'apprête à cliquer. Donc pour les gens qui nous écoutent en podcast, je vais faire un jingle. Les chevaux, on tombe sur les chevaux. Marie, tu peux couper mon stream parce que sinon les gens vont voir mes sources.
Attends.
Et moi, je suis comme The Great Review, je ne cite pas mes sources.
Oh. Et oh, et oh, on est là pour clasher
pardon,
des vidéastes
pardon,
ça dénonce,
ou pas.
Hein.
Pardon.
On est là pour le positif et pour parler de choses qu'on aime.
Je vais vous raconter très brièvement parce que j'ai pas non plus eu le temps de faire trop de recherches.
Attends, il y a Justin qui réclame. Ah, on n'aura pas les quatre sujets. Je veux les quatre sujets. On aura les quatre sujets, mais petit à petit, tranquille.
Peut-être, peut-être.
Si on a le temps, on a vraiment beaucoup de choses à dire.
Ouais, on aura quand même.
On en est à. On n'a pas parlé de Yabushige et Shido là. C'est.
Alors,
on est à scène 3.
Vous l'avez remarqué. Je sais pas si vous avez remarqué. Dans Shogun, il y a des chevaux. Les gens parfois ils montent sur des chevaux, ils descendent de chevaux.
Bah,
les chevaux ils sont
Toranaga,
là et tout.
Hein.
En 1600, on n'avait pas les Tesla, donc on avait des chevaux à la place. Mm. Et donc. Toutes sortes de chevaux, sauf que les chevaux dans tous les pays, ils étaient ferrés. Ils avaient la plupart du temps des fers jusqu'au 19e siècle, enfin même jusqu'encore aujourd'hui. Sauf que jusqu'au
maintenant ils ont des pneus.
Maintenant ils ont des chenilles comme les chars d'assaut. Non, pardon. Et donc au Japon jusqu'au 19e siècle, les chevaux n'étaient pas ferrés. Les fers à cheval au Japon sont arrivés plus tard. Et l'histoire intéressante que je voulais vous raconter dans la roue de la fortune du Japon féodal ce soir, c'est que les chevaux, jusqu'au 19e siècle au Japon féodal, enfin du coup moins féodal parce que 19e siècle c'est plus trop...
L'époque féodale au Japon a duré jusqu'au 19e siècle.
Je le savais. Et c'est pour ça que je voulais voir si tu suivais, mais tu suivais, donc c'est très bien. Ils avaient des sandales. Ils avaient des sandales de chevaux. Genre vraiment, ils avaient
des barres.
Ils
attends,
avaient des...
Pas.
Oui, je peux remettre le stream.
Non, mais remets le stream. Remets l'écran.
C'est incroyable, le visuel.
Ils avaient... Regarde Théma, je suis désolé.
Sandales, genre spartiate en
corde. Ne me dites pas que ma demi-heure de préparation,
mais
elle valait pas le coup. Ils ont des sandales de chevaux. Eh, hey, oh. Hey.
Le flow, néanmoins.
Et donc, en fait...
Les chevaux, ils sont mieux chaussés que moi.
Et donc, il faut savoir que ces sandales...
Les gens, ils arrivent sur ce live-là comme
mais
ça.
Mais non, mais là, les gens sont super contents. Là, vous le voyez pas en podcast, mais les gens qui sont en live sont ravis.
Il y a Lou
donc
qui nous dit c'est du macramé sur le sabot. Et c'est très vrai, on dirait les trucs pour suspendre des cache-pots, là, comme ça, en macramé.
Et donc, il faut savoir que c'est pas juste des sandales en corde. C'est également un écho à ce que portait. On le voit d'ailleurs souvent dans Shogun. Et là, je vais m'inspirer du site mariellebrie.com pour retrouver le nom précis
Marico,
de cette chaussure, mais que j'avais trouvé sur d'autres sites. Voilà, les sandales de paille en riz tressé, les waraji. Et donc les waraji, c'est ce qu'on voit porter dans Shogun, c'est ce que les gens ont au pied la plupart du temps. Et ils ont fait des waraji pour chevaux. Donc ça s'appelle les ume waraji, parce que les ume cheval, waraji, sandales de paille tressées pour pied.
Waouh, t'es vraiment bilingue.
Ume waraji, sandales de paille tressées pour pied, pour cheval.
Eh, mais voilà. Attends, du coup, valait mieux être un cheval au Japon à l'époque parce qu'au moins t'avais des petites sandales, quoi.
Ah bah valait mieux être beaucoup de choses qu'un pauvre paysan, par exemple. Bah, je pense que on le revoit dans cet épisode, mais l'espérance de vie est quand même assez aléatoire par rapport à croises-tu le chemin d'une personne de mauvaise humeur ou pas.
Voilà, c'était la première entrée de la roue de la fortune du Japon féodal. Il y aura trois autres entrées durant la soirée.
Plus le point menstru qui n'est pas dans la roue, mais on n'oubliera pas.
Bah, en fait, je voulais pas le mettre dans la roue parce que je me dis s'il tombe pas, Marie, elle le fera pas, mais je sais qu'elle le fera quoi qu'il, donc on le fera.
Pardon, il y a Justin qui nous précise que le cheval c'est Uma, pas Ume.
Alors au pluriel.
Mais c'est la prune, comme dans le Ume chou.
Mais attends, mais Marie Machin là, elle dit que. Bon, bref.
Et oh.
Mais non, mais moi je respecte beaucoup, c'est ma source principale. Marielle.
Histoire des sandales japonaises pour chevaux.
Les Uma, pardon, tu as raison, Justin, c'est les Uma. Pardon, les Uma Waraji.
Et Justin nous rappelle que ça coûte moins cher en fer, et c'est vrai qu'au Japon, il y a moins de ressources de minerais que dans beaucoup d'autres
parce
pays.
Parce que c'est une île, ouais.
Parce que c'est une île, et du coup, ça a évidemment décidé de leur utilisation et de leur façon de travailler le fer, l'acier, etc. Ce qui a donné, par exemple, le fait qu'ils aient des épées assez uniques, qui sont les katanas, c'est aussi parce que c'est les épées les plus efficaces que tu peux faire avec les ressources limitées en fer, en acier, etc. qu'ils avaient. Donc ça explique qu'on va pas, on a déjà pas assez d'épées pour les, de fer pour les épées, on va pas le mettre au pied des chevaux, quoi. Tranquille. Au pire, on leur met des sandales.
Ou comme dans Ume Agency nous dit Ezok.
Oui, tu l'avais pas.
Bah, ils ont les bonnes
réponses. C'est marrant, Ume c'est cheval et Marie elle a une boîte qui s'appelle cheval.
Mais non, mais j'ai remarqué que maintenant du coup. Mais...
Point contexte, Ume Agency c'est le nom de ma boîte du coup. Et Ume, oui,
mais parce que en fait j'apparais avec Ume chou.
Oui, et pas cheval.
Mais t'aurais pu me corriger. Hein.
C'est ça, c'est des chips de Ume là.
Oui, non, mais c'est des chips. Tu peux en prendre si tu veux.
Calmons-nous.
Ah, il faut que je goûte à un moment.
Ouais. Mais vraiment.
Moi je vais me moucher donc je vais. Voilà.
Okay. On va revenir gentiment au déroulé de cet épisode de Shogun. Promis, on est encore là. Du coup, c'est la scène où Ichido, va voir Yabushige pour lui dire bon bah merci d'avoir fait l'infiltration comme prévu. Du coup, bah comme décidé, tu es maintenant officiellement régent à plein temps. Dès que la situation s'est calmée, on t'intronise. Sauf qu'il se rend compte que Yabushige, ça va pas mieux, hein. Clairement, il lui raconte l'histoire de, oui, le Taiko aussi, il avait voulu faire la guerre, il y a eu un tremblement de terre et du coup il a fait la paix. Ichido est là, cool, ok vu, je vais pas faire ça. Et il y a cette histoire de, alors c'est, désolé, c'est pas une carpe, c'est un poisson-chat, voilà, que Yabushige essaye de pêcher à main nue dans cet étang de jardin qui ne contient aucun poisson-chat et aucun poisson tout court, je pense.
Mais alors, point, Marie est vraiment teubée, mais moi, je suis désolée, j'avais pas du tout capté qu'il faisait semblant d'être
Moi
zinzin.
Non plus.
Enfin,
je croyais qu'il était... Sonné,
qui te dit qu'il fait semblant?
Bah, je sais pas, c'est ce que vous sous-entendiez.
Non, moi, j'ai cru, moi, je me suis dit, il fait semblant, il surjoue le choc pour gagner du temps. Mais comme on le voit quand même beaucoup, et notamment plus avec Ishido, même quand il est sur le navire avec Blackthorn et tout, il est toujours zinzin, j'étais là, ah non, il est juste zinzin. En fait, le fait de savoir que non seulement il a trahi Toranaga, il a perdu la foi, on en reparlera, il a causé la mort de Mariko alors qu'à la base elle devait juste entre guillemets être capturée et du coup temporiser le temps que Toranaga soit défait, et en fait il sait qu'il a misé sur le mauvais cheval, hein, avec ou sans sabot ferré. Du coup pour moi il y a plus le fait d'avoir avec cette fascination bizarre qu'il a pour la mort, le fait d'avoir littéralement une pièce qui lui a à moitié explosé dessus.
Oui,
je pense
il a
qu'en
eu
vrai, une... il est vraiment choc-barre. Hein.
Il a eu une petite commotion cérébrale quand même, le frère, je pense, dans le...
Mais
dans le il est un peu à moitié sourd et tout. Enfin,
Mais la question se pose de à quel point il est lucide ou pas. Il y a d'autres scènes dans l'épisode où, alors que Momo décide qu'apparemment, elle doit juste mettre sa patte sur la vitre. Bref, il y a un autre moment dans l'épisode où effectivement, on voit qu'il a cette perte d'audition et où il y a Ichido qui vient le voir et qui lui dit « Tu n'as toujours pas retrouvé l'audition ?» Il fait
« C'est cette scène-là.
C'est juste avant qu'il fasse le poisson. Et en vrai, moi je me suis aussi posé la question durant l'épisode de est-ce qu'il fait semblant ou pas, et à quel point il est lucide jusqu'à la fin de cet épisode. Et il y a une autre scène dans l'épisode où moi je le trouve lucide, on pourra en reparler, mais en vrai c'est la scène où il canne.
Je pense qu'en termes de... On en reparlera.
Mais je pense qu'à ce moment-là, à titre perso, moi je pense qu'il fait pas semblant. Il est genuine, vraiment sonné, et ouais, il a perdu la boule.
Et puis il culpabilise énormément. Je pense que au fond, il pensait quand même pas que même Mariko elle allait mourir. Enfin, c'était à peu près normalement. Je pense que des shinobi, tu les fais s'infiltrer, ils savent où elle est. Hop, hop, ils l'attrapent, ils la kidnappent, et c'est bon. Dans 3 jours, Toranaga il est dead et Mariko elle est libre, et c'est bon quoi. Il s'attendait pas à ce que. Parfois, les plans dérapent, ou en tout cas, pas à ce point-là.
Le frérot, à la base, il avait quand même une fascination chelou pour la mort. Il aimait bien
torturer
des gens.
Et je pense qu'il l'a.
Il avait quelques connexions qui se faisaient pas déjà.
Oui.
Il est un peu obsessed.
On veut toujours le spin-off, la backstory de Yabushige, Yabushige The Early Years. Comment on devient Yabushige, tu vois.
Woodwatch. Franchement, Woodwatch.
Et on ferait des podcasts dessus, clairement.
Mais en vrai, on pourra en reparler de justement son rapport à la mort, parce que il y a justement cette scène où plus tard dans l'épisode il meurt. Je trouve qu'il y a un gros lien à faire avec sa fascination pour la mort et à quel point il est content d'être là à ce moment-là. Et pour moi, il est lucide parce qu'il a, il veut être là, tu vois. À ce moment-là, il veut être là.
Il va pas rater ça quand même. Une fois dans la vidéo. Il y a Jimmy sur le chat qui dit « J'ai pas compris pourquoi dans l'épisode précédent, Yabushige a refusé d'aider Black Sand pour sortir de la pièce. Pour moi, il a refusé de l'aider à barricader la porte parce que Yabushige, son but c'était que les shinobi kidnappent Mariko, et il l'a pas aidé à barricader la porte parce qu'il voulait pas se rapprocher de la porte où il y avait des explosifs. Il y a vraiment personne qui s'est rapproché de la porte à part Black Sorn en essayant de la barricader et Mariko en se sacrifiant. Donc pour moi c'était un mix de en fait la porte elle va péter donc je me colle pas, et Black Sorn je vais pas t'aider à empêcher ce qui va arriver, genre ils vont kidnapper Mariko, peut-être que j'avais l'info depuis le début, on les laisse faire et après on avance. Mais écoute, la vie en aura décidé autrement. Petit point Toranaga qu'on a quand même pas vu du tout de l'épisode précédent et qui décide de libérer son faucon, son fameux faucon qu'on le...
Qu'on peut parler de la coiffure du faucon?
Merci.
Tu veux dire
la
houppette là.
Le frérot, il est coiffé comme lui.
Il a fait un brushing.
Il a fait, mais grave, il a fait une perme.
Il a fait la petite frange.
Il a fait un balayage, le faucon.
Son cache-œil là.
Mais moi je peux avoir un cache-œil qui n'est pas aussi la coupe
tu
à Titeuf, tu vois, genre.
Mais c'est comme le casque de Saiki. Tu peux
Ils
ne
ont
pas.
Fait du Sean
mais
Maguet.
Si tu peux, pourquoi ne pas?
Il y a du Sean Maguet de faucon. Voilà ce que je voulais que tu prononces. Mais tu l'as pas dit.
Clairement, il y a du Sean Maguet de faucon.
Voilà, merci.
Désolé de t'avoir déçu. Mais du coup, rappelons que la scène d'intro qu'on a eue avec Toranaga dans la série, la toute première fois qu'on a vu Toranaga, c'est
Marie,
quand,
elle est déçue des chips.
Marie, tu as goûté la chips.
C'est des chips au vinaigre, hein. C'est dégueulasse. Hein.
Voilà. D'accord. Super, maintenant on a un paquet de chips.
Oui, mais 1,50€ seulement chez Tankstar.
Mais on va. Justin, tu veux des chips goût Oumé Oumé Agency.
Et Justin, il est au Maroc là.
Ah putain, c'est vrai. Bref, rappelons que la toute première scène d'intro qu'on a eue de Toranaga dans cette série, c'était quand son fils Naga, Rip, lui amenait son faucon. La première scène qu'on a vue, c'était Toranaga qui chassait au faucon.
Oui, tout
et,
à fait.
Et qui discutait de le faucon. Sa grande capacité de chasse, c'est de se camoufler en étant devant le soleil. Et du coup, le soleil est tellement lumineux qu'on le voit plus. Ce qui finalement était peut-être un peu précurseur de ce plan, quoi. Et là, on le voit libérer son faucon, et on l'a quand même pas vu depuis un épisode entier. On sait pas exactement où il va, qu'est-ce qu'il fait. On le voit nager à des moments, on le voit un peu dans la forêt. Enfin, c'est ok, Toranaga, on est en réflexion, méditation. Est-ce que ça t'a évoqué quelque chose, Marie, comment t'interprètes le fait qu'il libère son faucon?
Bah, j'ai tellement pas interprété que j'avais même pas noté dans mon déroulé cette scène. J'étais là vraiment bas les couilles.
Le faucon est coiffé bizarre, mais
oui, c'est vraiment tout ce que je me suis dit. Je me suis dit, ok, il libère son faucon, allez hop.
Ok. Toi, Valentin, tu as une interprétation?
Non, en vrai, pas tellement. Pour moi, il y a un moment, il dit à son faucon, va enfanter. J'étais là, gros, oui. Tu dis à ton faucon, va baiser, quoi. Enfin...
Ah, si, en fait, si, j'ai une interprétation.
Je sais pas, c'est
va
quoi l'interprétation.
Va faire des filles, lui.
Si. Va faire des filles, mais pourquoi? Genre, il peut pas juste déjà. Alors, déjà, tu dis pas à ton faucon. Et si son faucon, il veut faire des garçons?
Bah il décide pas.
Bah, voilà. Et en plus, il est libre de faire ce qu'il veut en tant que faucon.
Mais non, mais tu sais pourquoi il lui dit d'aller faire des filles?
Parce que lui, il voulait avoir une fille.
Ben, en fait, moi, je trouve que cet épisode.
Je sais pas.
Non, mais il y a une scène dont on va parler après, sur laquelle j'ai eu une interprétation, mais ça se trouve, elle est complètement erronée. Mais je pense que c'est complètement lié à la mort de Mariko, parce qu'en fait, il libère l'aigle à ce moment-là, et mm-hmm. il lui dit en plus, va faire des filles. Et pour moi, Mariko était une fille de substitution à Toranaga. C'est
de
la
fou.
Fille qu'il a jamais eue, et elle, pour elle, c'est le père.
Qu'elle n'a plus.
Qu'elle n'a plus.
Oui.
D'autant plus dans la scène de présentation de son nouvel enfant. Je trouve que c'est particulièrement clair, ce truc-là. Il le dit, même en dialogue. Bon, j'en ai perdu un, mais c'est pas grave, j'en ai récupéré un autre.
Oh, ouais, d'accord, perdu, les retrouvé.
C'est quoi, vraiment?
Allez, les fils, ça va, ça se remplace.
Ça va, ça vient, quoi.
Puis bon, on va pas se mentir, il était pas ouf, celui que j'avais, donc c'est pas grave.
Mais oui, pour moi, il y a ça. L'aigle, rendre la liberté à l'aigle, c'est symboliser. Oui, au faucon. Ouais, le rapace, là, le truc
ouais.
qui vole et qui...
Le rapace, ça marche.
Le rapace.
C'est un mot valise.
Le
rapace. Non, on a...
Oh, ah,
non,
oh,
non,
oh,
non, non, bah non. Mais c'est Marie qui a commencé à le faire. Et
ah,
moi,
pardon, on
voilà,
est plus en live
voilà.
du tout. Ah, trop bizarre.
Ah, non. Il y a Monsieur Lours qui dit ça a clairement un super sens avec Mariko, cette scène, je pense. C'était super émouvant. Donc, oui, il y a un côté symbolique, comme tu dis, de... Pour moi, j'ai noté, il libère son faucon parce que Crimson Sky s'est fait. Il libère Mariko aussi, genre tu as accompli, tu as beaucoup chassé pour moi, tu as beaucoup tué pour moi, comme on verra aussi qu'il a libéré Fuji.
Mais
son
est-ce qu'il y a l'âme de Mariko en fait dans le faucon, c'est un truc comme ça.
Je dirais pas que c'est aussi direct, aussi cette idée de réincarnation, transposer. Mais c'est plus, en fait j'ai plein d'armes qui m'ont bien servi et il est temps pour moi de les libérer, que ça soit Mariko qui en est morte, Fujisama qui est libéré de son serment d'allégeance, le faucon qui va pouvoir vivre libre, il y a tout un côté, vous m'avez amené à ce point-là. Et la plupart d'entre vous, je vais vous libérer. Pas Blackthorn néanmoins, qui va rester au Japans.
Bah, on a d'ailleurs parce que Blackthorn, c'est pas un faucon, c'est
In
un
the Japans.
Eh oui, c'est un faisan. Ah, oui.
Bref.
Donc, on a d'ailleurs un nouveau rapide flash forward. On a une nouvelle mini séquence sur vieux Blackthorn avec toujours ses yeux extrêmement bleus qui vibrent. On ne sait toujours pas qu'est-ce qui se passe, mais à ce moment-là, le Blackthorn de nos jours, en tout cas de l'époque de Toranaga, se réveille. Et alors, il a raté l'enterrement de Mariko. On a eu un plan aérien, là.
Le seum de rater l'enterrement de la seule go que t'as serré in the Japans.
Ouais.
La seule go qui parlait ta langue. Et tu rates son enterrement. Je suis désolé, mais là, mais...
Dur.
Dur de fou.
Non, mais attends, moi surtout, je me suis dit, le frérot, il sort d'un coma parce qu'on lui dit, bon, t'as dormi vraiment beaucoup de jours, hein, mon ref, hein, t'as vraiment beaucoup dormi, maintenant, faut payer l'hôtel. Attends, mais on l'expulse en mode trêve hivernale, il a même pas le temps de sortir
et
du coma.
Ils ont pas la carte vitale, hein. Ils ont pas la carte vitale au Japon.
C'est comme les US, tu vois, si t'as pas la mutuelle, tu sors de l'hôpital, monsieur,
ah,
t'as encore ta perf qui pend et tout, ils sont là, casse-toi, hop là.
Eh, le frérot, on aurait dit, c'était le 15 mars, il est sorti direct en mode, il est encore blessé, il a même pas le temps de se remettre, il faut qu'il sorte, quoi. J'étais choquée.
Non, mais en vrai, ouais, c'est brutal. C'est vraiment, je trouve que son réveil est. Et pour moi, ça renforce un peu ce côté de. Je vois l'intérêt qu'elles ont comment dire, dans l'ambiguïté de est-ce que c'est un rêve, est-ce que c'est l'avenir, est-ce que voilà. Mais pour moi, ces scènes ne servent à rien. Et là, je trouve qu'elles m'ont quel est le terme en français? Elles m'ont confus plus qu'autre chose.
Les scènes de Blackthorn vieux.
Le fait que ce soit une transition Blackthorn vieux vers Blackthorn d'aujourd'hui, j'étais là.
Oui, il y a un côté, du coup, c'est lui qui se souvient de ce moment-là.
Ouais, je trouve ça bizarre.
En fait, je pense que je suis contente que ça n'ait pas été un flash-forward, parce que si ça avait été un flash-forward au final.
Mais t'en es pas convaincue?
Si, maintenant c'est bon. Enfin, je l'ai vu jeter le chapelet dans l'eau, bien sûr, j'en suis convaincue que c'était.
Donc ça te suffit, ça te suffit à. D'accord, mais en vrai, c'est intéressant.
Mais est-ce que le rêve d'un rêve qu'on voit, c'est pas ce dont il rêve dans son coma?
Oui, c'est ça. Il y a un peu un côté. Oui, pour moi, c'est ça. C'est un rêve d'un rêve.
Sauf que comme c'est réparti dans l'épisode,
mais
on comprend pas.
Je l'avais pas comme ça. Non, mais ok, mais je l'avais pas comme ça du tout.
Et il me semble qu'à partir du moment où il met le chapelet dans l'eau, il y a plus de. de vieux Black Sand. Il n'y a plus de scène vieux Black Sand parce
dans la zèbrerie.
Que, en gros, il a fermé cette porte.
Ah, tu vous êtes, non, vous êtes dans la zèbrerie.
Il a fermé cette porte.
Non, mais vous êtes. Ouais, ok, d'accord.
He will never
j'avais
leave
pas capté au début.
The Japan.
D'accord, mais moi j'étais resté à. Peut-être c'est pas un flash en one, je suis trop intelligent de fou. Et en fait, genre.
C'est plus un symbole de ce qui aurait pu être et de ce qui
ouais,
ne
donc,
sera
non.
pas. Mais effectivement, alors on le réveille, on lui dit casse-toi, mais pas tant parce que c'est la fin de la trêve hivernale, mais parce que bah il sait très bien que si Toranaga n'est pas vainqueur, lui-même est en danger de mort parce que quand bien même Ichido en aurait potentiellement pas grand-chose à foutre de lui, c'est le seul protestant dans un pays où les seuls chrétiens sont catholiques et où clairement il s'est opposé à eux de multiples fois, donc il sait que c'est chaud pour lui. Et d'ailleurs Alvito vient lui dire voilà Kiyama, donc le régent chrétien catholique, ses hommes vont t'escorter jusqu'à la baie d'Osaka où tu prendras la galère de Toranaga pour rentrer. Lui, là, oui, bien sûr.
Sympa,
bah, arriver à la baie d'Osaka et je vais monter sur une galère. Oui.
Bah, un petit pédibus. On
ouais.
appelle ça un pédibus.
Un petit pédibus avec. C'est juste un bus où les gens y marchent.
Oui.
À Bordeaux, ça s'appelle le bat cube. C'est le quand à Bordeaux quand tu traverses le cours d'eau là, je sais pas c'est quoi le cours d'eau qu'ils ont à Bordeaux.
La Garonne.
Ouais, la Garonne. Quand tu traverses la Garonne, il y a un bateau taxi, il s'appelle le bat cube.
Ah mais non, mais là il y a pas de bateau, ils sont juste à Yep dans
ils
la forêt.
Juste...
Non mais à parler de la galère.
Le
mais...
pédibus c'est juste une rando.
Moi, je parlais du bateau.
Ils prennent peut-être le bat cube. Après ils le prennent.
Mais ils vont jusqu'au bat cube.
Moi je parlais du bateau.
Eh c'est laborieux ce débrief là. OK.
On en est à un quart, je pense.
Ouais, c'est pas grave, on y arrive. Du coup, Alvito, Black Sand,
oui.
les vagues hommes de Kiyama en rouge, dans la forêt, et là, Black Sand, il s'arrête. Il regarde les arbres. Il se dit, tu sais quoi, c'est pas le pire jour pour mourir, mais à mon avis, c'est là que je meurs, on va pas se mentir, je crois pas trop à cette truc de. Oh,
il a bien lu la salle, hein. Il a très bien lu la salle.
Ouais. Il est là. En fait, j'ai lu le livre. Donc, je pense que c'est le moment où. Soit toi, le catholique, tu vas me planter, soit les hommes de Kiyama, le catholique, qui sont des soldats surentraînés, ils vont me planter, soit il y a une flèche qui va sortir d'un arbre et me planter. Bon, je vais me faire planter. Et là, Alvito, il lui dit quoi ?
Ah, mais j'adore sa réponse, elle est incroyable.
Il lui dit, c'est vrai, mon ref, on aurait dû te zigouiller le squeak maintenant.
Oui. C'était ce qu'il y avait sur ma tout
on aurait dû te zigouiller le squeak maintenant, mais...
Regarde, j'ai mis du blanco,
ouais.
Mais tu peux lire encore à travers.
Mais un arrangement a été fait. Et à ce moment-là, Black Thorn, la seule info qu'il a, c'est un arrangement a été fait. Ça peut vouloir tout dire. Ça peut vouloir dire Toranaga il a payé. Ça peut vouloir dire le gars il t'aimait bien. Du coup, il a dit gardez. Ben, on sait pas. On ne sait pas.
Mm-hmm.
Et donc, il lui dit effectivement un arrangement a été fait. Donc, c'est pas ici que tu meurs. Et qu'est-ce qui se passe?
Tu trouves pas qu'il lui dit un petit peu en mode ouais, d'accord, bien deviné.
Mais alors, en vrai, moi, je pense qu'il a le seum, Alvito. Parce que Alvito, enfin, on pourra en reparler, mais le rapport Alvito-Black Thorn dans cet épisode, il est intéressant. Et à la fin, même quand il lui dit je te libère parce que c'est ma promesse que j'ai fait à Mariko, machin et tout.
C'est parce qu'ils aimaient
lui,
les deux
il voulait
la même
pas.
Femme.
Et en vrai, lui, il a un catho, il a un protestant qui arrive et qui lui dit les cathos, vous êtes des connards. Et lui, il est en mode oh, personne m'avait jamais dit ça in the Japans. Et donc, du coup, lui, il voulait. Enfin. Pour moi, Black Thorn, c'est un ennemi de Alvito.
Tu penses qu'Alvito, il a le seum de voir... Ah, ok.
En vrai, je pense qu'Alvito a le seum de laisser Black Thorn en vie. Parce que pour moi, Black Thorn, c'est une menace. Alvito, il sait que c'est une menace. Et... Enfin, je sais pas. Pour moi, Black Thorn devait mourir. Mmh. Les catholiques voulaient que Black Thorn meure. Et le fait que, du coup... En fait... Enfin, moi, je le vois son expression. Enfin, je le perçois dans son expression quand, à la fin, il livre. On va en reparler. Désolé, on spoil beaucoup de scènes qui vont arriver, mais
oui, mais là, ça arrive vite. Hein.
Mais et au moins, il va le relivrer donc sur la jetée là.
De toute façon,
que...
on peut même enchaîner avec. Voilà, il lui dit en effet, tu devais être tué, on va pas tuer. Ils arrivent à la baie d'Osaka et ils montent sur la galère de Toranaga où il y a, enfin, où il y a pas Toranaga, mais où il y a
Bushige
et Black Sword qui. A priori repartent vers Hajiro. Voilà.
Et c'est à ce moment-là
c'est là où Alvito pardon finit sa réflexion auprès de Black Thorn.
Il y a Black Thorn qui lui dit au revoir et après qu'il se soit dit au revoir Alvito. Putain, même les
Fazer Martin.
10 épisodes et je sais toujours pas que c'est Alvito et pas Alviro.
Je crois que c'est Martin Alvito son nom de famille. Mais...
Moi je vais l'appeler Coupe Bizarre.
Et donc, chapeau tuc.
Il y a Coupe Bizarre avec chapeau qui cache la Coupe Bizarre. Il lui dit, bref, quand Black Sand s'en va, il l'interrompt et il lui dit « Ah, en fait, si t'es encore en vie, c'est parce que j'ai fait une promesse à Mariko et c'est sa dernière volonté. » Et moi, dans son expression faciale à ce moment-là, quand il dit « C'est Mariko, enfin c'est la dernière volonté de Mariko et maintenant je l'ai respectée », je sais pas, je vois du seum. Je.
Toi,
je...
tu me vois comment, Marie?
Mais je sais pas, moi je ne vois que de l'amour. Que de l'amour. Dans... Non, mais de l'amour, pas au sens romantique du terme, mais. Je veux croire, mon interprétation optimiste, c'est malgré nos différends.
C'est nos différences, elles sont autant de chance.
Nous avions, wow. nous avons été unis par l'admiration d'une même femme. Et donc,
ouais,
cette
grave.
Même femme nous amène à nous envoyer un respect mutuel, à nous respecter mutuellement. Elle nous a pas laissé le choix. Donc d'un côté, oui, il est bloqué là-dedans, mais en même temps, moi, je lis une forme d'amour humaine, tu vois.
Humaniste, enfin,
ouais, humaniste, ouais.
Ok, ouais.
Mais c'est mon interprétation optimiste,
non, mais c'est intéressant.
Religieuse, tu vois. Mm.
Mais ouais, je...
C'est ton interprétation judéo-chrétienne, voilà.
Mais en tout cas, je m'interrogeais là-dessus et je pense que les deux, ouais, c'est...
Après, ça n'empêche pas qu'il a le seum, c'est sûr.
Mais je sais pas quel est son sentiment à lui et je pense que peut-être la personne de Alvito a du respect pour Blackthorn parce que ils ont traversé les trucs ensemble et voilà. Mais peut-être que lui en tant que cato, enfin je sais pas, je...
Non, c'est plus qu'il a du respect pour Mariko et comme Mariko
oui,
avait du respect pour
ouais.
Ouais, tu vois. Parce que je pense qu'en premier degré, il a pas de respect pour Blackthorn.
Ben je pense qu'il veut le tuer du coup, ouais. Enfin ouais. Ouais. Oui, heureusement que Mariko lui a quand même bien sauvé le cul durant cet épisode à plusieurs reprises. Ouais, hein. Il y a
Écoutez, moi je pense pas que Alvito il veut tuer Blackthorn. Je pense vraiment que comme je l'ai dit dans l'épisode précédent qu'il est plutôt amené par un désir sincère d'évangélisation, certes, de peuplades qui considèrent comme sacrifiées si elles ne sont pas baptisées, tout ça. Ok, c'est discutable, mais bon, ça fait partie de sa religion, quoi. Et je pense que lui, il est moins intéressé. En fait, il comprend l'aspect politique et tout, et il est impliqué dedans, mais c'est pas ce qui le passionne. Et je pense que, comme tu dis, il a un peu la vocation, la vraie, tu vois. Il a vraiment une voie,
un but, je crois.
Que ce but, il y a un peu quelque part de la fraternité, de l'amour dedans. Et je pense que quand il dit. En plus, il dit à Blackthorn. Peut-être qu'un jour nous ne serons pas ennemis. Et c'est Blackthorn qui lui dit, je pense pas que ça va arriver, mais parce qu'il pense qu'il va le buter.
Là, t'as voulu me tuer quand même.
Mais parce qu'il lui dit, parce que je pense que.
Ouais,
mais en plus,
ouais.
C'est jamais Alvito qui décide. Alvito, c'est vraiment un nobody.
C'est un exécutant.
En fait, c'est Kiyama et le chef d'Alvito, là, l'autre Portugais, qui avait décidé de tuer Blackthorn.
Ah,
et c'est Mariko qui a. En fait, Alvito, c'est vraiment juste un intermédiaire. Donc déjà,
c'est le seul mec qui a fait LEC japonais de tout le. C'est tout, quoi. Enfin, c'est.
Bah oui, mais parce qu'aussi, son chef, il pense qu'il est au-dessus de ça, tu vois. Il a pas besoin de parler japonais. Et Kiyama, on sait maintenant qu'il parle anglais. Mais bref, je pense que pour moi, il y a un côté, c'est absurde. Genre, Alvito, je pense qu'il a un côté, on vient de si loin, toi et moi. Genre, déjà, de base.
Oui.
On n'aurait jamais dû se rencontrer. T'es un anglais protestant, je suis un prêtre portugais catholique. On se retrouve à l'autre bout du monde, on est unis par la même incompréhension au début de ce monde bizarre, la même difficulté d'adaptation,
Lost
le même respect
de fou,
le même respect, le même amour pour la même femme,
à la fois
en tant que peut-être que femme et aussi que personne tout court qu'elle était. Donc je pense qu'il y a un côté, et aussi un côté genre, regarde ici à quel point... Au final, nos combats n'ont pas de sens, tu vois. Genre, leur combat ici, c'est Toranaga contre Ishido, machin, de quoi on a l'air avec Noé, la couronne d'Espagne, la couronne d'Angleterre. Enfin, tout le monde s'en fout, tu vois. Pour moi, il y a un côté un peu... C'est fou qu'on se retrouve là, et j'aimerais croire qu'il y a d'autres choses qui nous attendent que d'être ennemis pour des raisons qui nous dépassent, tu vois. Pour moi, Alvito, il a pas du tout le désir de tuer Blackthorn. Ni de tuer grand monde hein, d'ailleurs je pense que
je dis
pas
du
tout
du plaisir tu vois mais
non de
pas.
Désir tu vois je pense je pense qu'il a rien à gagner pour lui je pense que c'est plus de meurtre c'est toujours un net négatif tu vois
ok non mais c'est
mais
vrai.
Moi je crois particulièrement à cette interprétation parce que je pense que le symbole principal de cet épisode c'est la fraternité la fin de l'épisode la scène de fin où Buntaro, il vient fraterniser avec Blackthorn. Le regard que Blackthorn et Toranaga se portent, tout ça, pour moi, c'est autour de... à la fin, est-ce qu'on n'est pas un peu frères, tu vois ? Et du coup, pour moi, cette discussion qu'il a avec le religieux, elle est dans cette même dynamique. Et j'ai l'impression que c'est... la ligne rouge de cet épisode, mais peut-être que j'ai surinterprété.
Comme le dit Monsieur Lours dans le chat, cet épisode, c'est vraiment l'ombre de Mariko, l'apologie du vide qu'aiment tant les Japonais. Et c'est vrai que c'est vraiment en creux. C'est un épisode où quand Mariko est plus là, tu te rends compte de la place qu'elle prenait. Et c'est d'ailleurs la même sensation dans le bouquin, et les showrunners en parlaient donc le Justin Marks et Rachel Kondo que j'ai écouté dans divers podcasts en interview après ce final, disaient en gros c'est au moment où Mariko, enfin notamment Rachel Kondo, disait en fait en lisant le livre j'étais là ok c'est l'histoire de Black Sorn, de cet étranger qui se retrouve en terre japonaise et qui est déraciné. Ah non, en fait, ok, Black Sorn, c'est juste un vaisseau pour arriver à Turanaga, ce seigneur quasi déchu et tout. Et elle dit, ok, jusque-là, du coup, je pensais avoir compris l'histoire. Et la scène de mort de Mariko, elle dit, j'ai jeté le bouquin. Et genre, j'ai jeté le bouquin à travers la pièce et j'ai mis genre une journée à m'en remettre. Et je me suis rendu compte que c'était l'histoire de Mariko quand elle était plus là. C'est quand Mariko, elle meurt, que tu te rends compte qu'il n'y a pas d'histoire sans elle, parce qu'elle fait le lien, parce qu'elle traduit, qu'elle est une multitude et tout. Et du coup, cet épisode, il représente bien ça. Quand il n'y a plus Mariko, Alvito et Black Sorn, ils sont plus unis par leur vécu commun avec elle que opposés par des problématiques qui les dépassent et qui ne tiennent pas vraiment à eux, quoi.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant...
Je voyais ta tête que t'allais dire une bêtise.
Alors, deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes,
et
mais
pourtant pulvérisés sur l'hôtel d'Ishido. Peut-être que c'est le moment, alors je sais que tu tiens à l'aspect, bien sûr, hasard. Je sais aussi que tu as une case poème. On a justement la scène Ochiba poème qui arrive, alors.
Écoute, très bien.
Qu'on fait?
Je reviens dans deux minutes, donc j'arrive.
D'accord.
Je vais
au toilette. Le mec se barre.
Mais je me barre pas, ça va.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Et c'est le retour. Le retour.
Point poisson chat, point poisson chat. Non, il n'y a pas de point poisson chat malgré les réclamations dans le chat. Je n'ai pas de point poisson chat au-delà de juste Yabushige essayer de pêcher un poisson chat invisible et non une carpe invisible. Peut-être que le poisson chat a une symbolique dans le Japon féodal que je ne connais pas. N'hésitez pas à m'éclairer dans le chat si c'est le cas. We are back pour, ma foi, potentiellement être désagréable pour certains, parler de poésie pour d'autres.
Oui.
Nodius. Est-ce le point poète?
Alors, on peut faire un point poésie. Donc, j'avais effectivement mis sur la roue de la fortune du Japon féodal, mais comme on s'apprête à parler de poésie dans le déroulé de l'épisode, et peut-être. Oui. Qu'il est de bon ton de parler de poésie en général au Japon féodal. Moi, ça me saoule depuis le début de cette série. Je suis désolé, c'est encore une take, mais...
Waouh, il est mais agressif, t'as
mais non, mais je suis désolé, mais ce ne sont pas des poèmes. Tu peux pas mettre
des poèmes.
Tu peux pas mettre... Non, attends, mais laisse-moi finir. Tu ne peux pas mettre des mots, les uns après les autres, dire « Toyota, pantoufle, arbre » et dire c'est un poème.
T'es en train d'insulter tout un pan de la culture qui s'appelle la poésie japonaise. Et en disant, comme moi, je ne comprends pas ce n'est pas de
l'art. Attends, mais laisse-moi finir mon narratif. Mon narratif était que, durant toute la série, j'étais là.
Tu as un avis sur son narratif.
Ça me saoule. Vous me saoulez tous avec vos poèmes de mort. Donc j'ai googlé poème Japon, et comme Toubabtou. Et...
comme Toubabtou qui cherche une idée de tatouage, si je peux me permettre.
J'avoue. Comme Toubabtou qui cherche un tatouage à se faire sur le mollet droit. J'ai googlé
poème japonais.
Poème japonais. Et alors en vrai, j'ai changé d'avis. En vrai, il y a plein de trucs intéressants avec.
Tu veux dire que tu t'es renseigné et que t'as compris?
Eh oh, je demande pas à être jugé hein, par mes pairs.
C'est vrai, c'est tout à ton honneur d'avoir fait preuve d'ouverture d'esprit.
Merci.
Tu veux un cookie parce qu'il a googlé avant de juger quoi.
Non mais moi je trouve que ça permet aux gens de s'identifier à lui, aux gens qui ne savent pas, qui pensent que du coup c'est de la merde.
Mais oui, mais
bah oui.
Nous qui sommes cultivés, on sait.
Moi je dis toujours ça pour que les gens puissent.
Mais bien sûr.
Pour que vous puissiez vous aussi, mais c'est de l'humilité, c'est de la modestie.
C'est un personnage,
bien sûr.
Mais c'est pas un personnage, c'est juste de la fantasion honnête et sincère. De l'humanité finalement, je fais caca comme tout le monde.
Marie, donc... elle a repris une chips. Modiste.
Ouais, mais après elle fait ce qu'elle veut, tu vois. Elle.
Et donc, bref, qu'est-ce qui a fait que tu as enfin connecté la poésie japonaise?
C'est super intéressant parce que donc au-delà de les poèmes ne veulent rien dire d'apparence. Déjà, ils veulent pas rien dire. Il y a des moments où dans la série, ils veulent dire des trucs, et c'est toi qui m'en as convaincu au moment où à l'épisode 9, il y a justement cette discussion entre Mariko
Ochiba et Mariko.
Mariko et Ochiba, j'ai dit c'est l'inverse, mais.
T'as dit Mariko et Mariko.
Mais tu vois, tu m'as interrompu. Tu vois, t'as voulu compléter les noms.
On a la barre. Si jamais il faut.
Bon, bref. Cette discussion entre Mariko et Ochiba, qui parle justement de. Ouais, mais donc il y a toute cette métaphore de la feuille qui tombe et de la feuille justement sur l'arbre qui du coup fait écho, si je ne dis pas de bêtises, au nom de Ochiba.
Oui.
Et donc je me suis renseigné et en fait au-delà de ça il y a une utilisation très intéressante du poème dans Shogun qui est qu'à cette époque au Japon et durant tous les modes de gouvernance au Japon depuis que le Japon a eu un gouvernement c'est qu'en fait le poème était une forme d'utilisation de la gouvernance et on éduquait les gouvernants, les futurs Shogun, enfin pas les futurs shoguns mais les futurs futurs gouvernants, on les éduquait
les
à
nobles, quoi.
Utiliser le poème comme représentation de la culture et donc de la noblesse et donc le poème était une forme de culture et donc une forme de, en fait c'est moi qui gouverne, c'est moi qui manie les mots, toi tu ne manies pas les mots. Il n'y avait pas de paysans qui faisaient des poèmes et il y a plein de moments dans la série où on voit les gens du coup de strate sociale moins élevés qui vantent les poèmes de, alors qu'en vrai désolé mais bon c'est des, il y a un moment dans la série, dans cet épisode là où il y a une meuf qui dit à l'épisode d'avant, qui dit à Toranaga ces mots ne sont pas les vôtres et c'est normal, c'est les mots de Mariko.
Non, c'est dans cet épisode là, ouais. C'est ouais. Dans le final, ouais.
Et ben il y a tout ce rapport là au poème et justement à la gouvernance.
C'est Kiri, la femme de Toranaga, ouais.
Et c'est la première personne de toute la série qui dit à un moment à quelqu'un, en vrai le poème il est naze, quoi. Sauf à un moment il y a Bushige qui se moque du poème,
y a Bushige qui se moque du poème de Mariko.
Mais Yabushige il est constamment sous
oui mais enfin Yabushige il respecte la poésie parce qu'un des premiers trucs qu'on le voit faire c'est demander à Omi un poème sur la mort du gars qu'il a mis dans un chaudron. En fait, enfin ça fait voilà. Vraiment partie et... de oui, c'est un art moi, comme c'est... il lui dirait fais-moi une démonstration d'épée, quoi.
J'ai
c'est...
hâte qu'on parle de son poème de mort à Yabushige. Je l'ai noté parce que incroyable.
Il est incre, il est 12 sur 10.
Et mais
Baudelaire, une charognière.
Le poème que Yabushige écrit donc sur la mort machin et tout, pour moi ça rentre dans une forme de dominance et de gouvernance et il y a une forme de manie les mots pour parler de ce truc là et de parler aussi de sa position de supériorité à Yabushige, à lui, et donc tout ça en fait c'est, je trouve, bien utilisé dans la série et tous les poèmes qu'on nous présente dans la série, je les trouve en fait finalement, même s'ils veulent pas dire grand chose sur le moment, assez intéressants d'un point de vue symbolique. Et l'anecdote intéressante de cette portion de la roue de la fortune, c'est que c'est après la fin de la série Shogun, donc à la fin des années 1600, quelques années après le début de l'ère Edo, que finalement a fait parler de lui une personne qui s'appelle Matsuo Basho. Matsuo Basho, qui c'est? C'est l'inventeur du haïku.
Voilà. Amazing.
On est là, voilà.
C'est pour ça que c'est pas des haïkus qu'ils font. C'est pas encore
des haïkus et donc c'est lui en fait qui a popularisé cette forme de poème là et qui est l'un des poètes les plus connus du Japon. Il y a aussi des femmes poètes qui sont très connues. Il y a notamment Koshikibu Nonaishi, qui elle du coup était poète de l'an 999 à 1025. Bon, elle a pas vécu beaucoup, mais qui du coup était elle a pas vécu beaucoup.
Peut-être pour l'époque c'était bien, tu vois. Ouais. 999, je sais pas.
Et donc il y avait d'autres formes de poèmes qui n'étaient pas des haïkus. Et c'est après, à la fin des années 1600, que le haïku s'est développé. De ce que j'en ai compris, encore une fois, peut-être qu'on a un historien ou une historienne du Japon qui vont me dire c'est totalement faux, mais d'après ce que j'ai vu,
pour l'instant ça va. On a juste Goromari qui nous précise du coup que cette histoire du poisson-chat, c'est que selon la mythologie, le Japon est posé sur le dos d'un poisson-chat géant qui cause les tremblements de terre quand il remue. C'est pour ça que Yabushige il fait une évocation. Rien voilà. Sur les poèmes pour l'instant.
C'était le point poème, différents types de poésie. Je pourrais également vous conseiller des ouvrages. Il y a des ouvrages de poésie qui apparemment sont.
Je pourrais vous conseiller des ouvrages qu'il n'a
non,
pas lus.
Non, mais écoutez, il y a des. Non, mais je les ai pas lus, mais il y a des gens qui conseillent des ouvrages de poèmes sur le Japon. Il y a 108 haïkus du Japon médiéval. D'ailleurs, petit nom du Japon féodal, mais bon, je veux pas.
C'est pas la même chose.
Enfin, l'Inalco là d'un coup.
L'Inalco qui est donc une école très connue en région parisienne où il y a des cours de japonais. Voilà. Donc c'est un peu voilà. Les gens qui prennent option japonais.
Non, je peux pas dire ça. Je garde ça pour moi.
On connaît des gens qui ont fait l'INALCO, on les embrasse.
Certains, c'est vrai, c'est pas vrai. J'ai des potes qui ont fait ça. Ouais. Je pense que leur mercredi après-midi, ils le passaient à la bibliothèque dans la section japonaise où ils se lisaient des haïkus.
Et bah pourquoi pas de...
Et bah, oui.
Franchement, à 19 ans, je buvais des bières Lidl en regardant des streamings de Breaking Bad.
Non, je les vois comme ça.
Pourquoi pas lire
ils
de la poésie japonaise.
Ils se lisaient des haïkus de après 1650. Et oui. Puisqu'avant ça n'existait pas.
Ça n'existait pas. Et donc, speaking of poèmes, on arrive dans ce final de Shogun à une scène avec Ochiba et son fils, oui. L'héritier du Taiko. Ochiba est en train de recopier le poème que Mariko a déclaré. Alors, pas son poème de... Qu'est-ce qu'il y a là-bas, ça glousse? Ça glousse?
Parce que cette scène, j'étais là, quoi.
En vrai, je suis d'accord avec Marie, genre, c'est bizarre. Genre, le mec, c'est drama de fou, il est là en mode. Enfin.
Quoi, c'est. Le mec, le gamin, il joue. C'est sa mère qui fait de la calligraphie. Lui, il est en train de.
Je trouve bien voir par rapport à la tension de la situation. On va finir le poème de Tata, hein. Qu'est-ce que tu mettrais après
mais
ça?
Mais en fait, enfin, la temporalité, elle est lente, tu vois. Genre, ils ont attendu des semaines qu'il y ait l'enterrement de Mariko. Là, ils doivent réunir les troupes, etc. Enfin, c'est pas demain on attaque, tu vois. C'est l'ordre de guerre, il est signé. J'sais pas. C'est bon. Maintenant, il faut réunir les troupes. Et ça, pour le coup, c'était courant partout, à des époques plus reculées historiquement. De oui, bah en fait, c'est pas on fait la guerre, du coup, on y va demain, tu vois. C'est déjà pour que nos armées ont l'info qu'on fait la guerre il y a 3 semaines. Donc ouais, en attendant, je vais rester dans mon jardin et m'occuper de mon fils, tu vois. Qu'est-ce que tu veux qu'elle foute?
Et après, je pense qu'il y a aussi une forme de reconnaissance de... Je sais pas si elle aurait fini le poème si Mariko était encore en vie. Là, elle se dit elle est morte, donc on va finir le poème quand même, genre... voilà.
Ouais, enfin, on va finir le poème, elle demande une antisécession. Voilà. Enfin, moi, j'étais là...
Et c'est ça que je trouve bizarre.
Impliquer ton fils dans une œuvre créative et faire le deuil de ta meilleure amie. Toi, t'es là. Non, laquelle a envoyé jouer à Fortnite?
Mais
non,
le gamin, il est en train de jouer au foot et on lui demande « Tu veux finir le poème de ta sœur qu'elle a fait avant de mourir ?»
Moi, j'ai vraiment fait position, elle c'est déjà chez PC, quoi.
Mais enfin, mais ça fait partie de son apprentissage. Le gamin, c'est un noble, évidemment, il apprend à faire de la poésie. Bref, moi, j'aimerais qu'on fasse quand même un petit point sur comment est-ce que Oshiba finit le poème de Mariko et qu'est-ce que ça veut dire. Donc, le poème de Mariko se finissait sur « Les fleurs ne sont des fleurs que parce qu'elles tombent. »« Flowers are only flowers because they fall. » »«
Les roses sont rouges.
» Voilà, Marie. Mariko !
Lady Maria.
Je vais te débrancher. Et Oshiba, elle y rajoute une fin que je trouve très belle, qui est
« Oui.
Heureusement, le vent. »
Alors, en vrai...
J'ai cherché. Je dis pas, je l'ai comprise tout de suite. Je connais rien à la poésie, ni
la
occidentale, ni quoi.
Le vent, oui.
J'ai cherché. La symbolique, c'est que, heureusement, même si les fleurs ont une beauté éphémère et meurent, comme Mariko est morte... Et en fait, ce que Mariko, elle voulait dire, c'est... Ça n'a de sens que si je meurs. Je n'ai d'impact que si je meurs. Ma vie, c'est une suite d'attente de mourir. Et c'est au moment où je meurs que je peux changer les choses. Et c'est vrai, puisque sa mort aura eu un impact considérable.
Oui, non, mais ça, oui.
Et donc, elle dit, en gros, comme les, enfin, je ne suis une fleur que parce que je vais m'éteindre bientôt. Un peu mon amie la rose, Natacha Atlas. Et, Oshiba,
ça va, là, et
du coup, ce qu'elle dit, c'est heureusement le vent, parce que le vent, il prend les fleurs tombées, et il les refait voler, et il en refait quelque chose de nouveau, et il leur redonne vie, tu vois, il donne du sens à leur mort, et j'étais là, c'est trop beau.
Ça m'énerve parce que t'as raison, en fait.
Mais je l'ai pas trouvé toute seule, tu vois, mais je m'y suis intéressée au lieu de dire, on comprend rien, quand même.
Attends, tout à l'heure, dans le chat, il y avait quelqu'un qui disait que Mariko, c'est le vent. Aussi.
Oh, et on a Toranaga qui dit je ne contrôle pas le vent, je sais juste l'écouter. Ah. Cet épisode, on a un peu une thématique du vent, quoi.
Mariko, traduction.
Le vent emporte les fleurs et les empêche de tomber par terre. Ah, il y a Justin qui dit quand même Marie t'a fait L. Mais moi j'étais nulle en analyse de texte aussi en L. Hein. Donc heureusement il y a Internet.
Mais moi c'est pas ça que je dénonce. Moi je dénonce qu'elle utilise son fils en mode ChatGPT. Après je m'en
Mais elle lui demande
Mariko,
de participer.
Mariko en japonais se traduit en français par Mariko.
Mais c'est Marie, on le sait. Non mais voilà. Du coup moi j'ai bien aimé et au final.
On a Google quand même. Hein.
C'est à ce moment là que la série, et c'est peut-être parce qu'on n'a pas la culture nécessaire en poésie japonaise qu'on le comprend pas, c'est à ce moment-là que la série, elle nous dit Oshiba, elle est pas Team Ishido. Oshiba, elle se retire du truc. Oshiba,
pour moi,
la mort de Mariko a changé quelque chose pour Oshiba.
Ouais, grave, mais pour moi, on nous l'avait dit dès le conseil des régents.
Ouais,
scène 2, la meuf, elle est en dissociation, elle regarde personne. Ouais. Elle interrompt juste pour dire Mariko
sera
enterrée.
Quand même, oui, elle dit quand même à Ishido, tu auras les bannières de mon fils, parce que Ishido, il valide avec elle, genre... On est d'accord que nos armées seront sous les bannières de l'héritier et que du coup on aura la supériorité numérique parce qu'il est pas que con, tu vois, il sait aussi qu'au bout d'un moment s'ils ont plus de soldats que nous en face.
Oui, non, mais oui,
et Oshiba lui dit oui. Tu te battras, enfin vous battrez au nom de mon fils, vous aurez les bannières et on apprend bien plus tard que entre-temps elle a décidé de revenir sur cette promesse. Donc elle l'a quand même dit et pour moi là la série elle nous dit non, en fait, c'est pas ce qu'elle va faire. Mais on le comprend pas parce que c'est un poème qui nous paraît un peu...
Ouais, je suis d'accord.
Obscur, quoi. Voilà. C'est ce que je veux dire. Après, est-ce que impliquer son enfant dans
mais c'est bizarre.
La compréhension de la mort
c'est
et de
comme...
l'art,
non, mais...
c'est mal? Peut-être.
C'est
peut-être
bizarre.
C'est de l'exploitation, on ne sait pas.
Demander à ton fils de finir le poème de Tata morte il y a 2 mois, je suis là, hé. Moi, si on m'avait demandé de finir le poème de Tata Muriel qui est mort, enfin, ça aurait été bizarre, tu vois, genre... paix à son âme et tout, mais bizarre. Bon.
Chacun son rapport au décès et ses coutumes funéraires. Blackthorn et Yabushige sont sur un bateau. Yabushige veut sauter à l'eau. Qui reste sur le bateau?
Yabushige veut vraiment sauter à l'eau. Je l'aime trop. Yabushige, donc, désolé, ma star.
Et c'est là où je me suis dit, Yabushige, il fait pas semblant d'être zinzin. Parce qu'il est zinzin alors qu'il est juste avec Blackthorn et tout. Enfin, il y a plus a priori d'ennemis, tu vois. Il pourrait y avoir des espions, mais il continue à vraiment avoir l'air bien zinzin. Et donc, ils sont en route vers Hajiro. Et là, Blackthorn, il voit un truc qui, quand même, ouais, change un peu ses plans.
Ça, c'est un peu contrariant. Ouais. C'est, ouais, c'est pas une bonne journée.
On a défini ça avec Nodus comme sale mardi.
Bah, il a
sale mardi pour Blackthorn.
Il a laissé garer la Clio devant la préfecture. Devant la préfecture.
La bonnier. La bagnole.
Devant
on
garage.
A gagné la coupe.
Il était devant un garage. Et ah là 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 là, bah là c'est compliqué là. Là, bon. La Clio, la Clio, elle a plus de roues. Par exemple, elle a plus de moteur, elle a plus de châssis,
plus trop de vitres.
Bah, désolé,
petite métaphore hein, pour celles et ceux qui nous écoutent en podcast. La Clio, c'est le bateau. Ouais. Blackthorn, je préfère le voilà.
Il n'a jamais eu de roue car c'est un bateau.
Il n'a jamais eu de Clio non plus parce qu'on est en 1600.
Mmh. Ouais. Donc c'est ouais. Bon bah ça agit par, ça dépasse encore un peu de façon, j'ai envie de dire un peu misérable. Le bateau a clairement brûlé.
Ouais.
Hein, il a pas juste coulé, il a brûlé. Comment est-ce qu'un bateau laissé bien accroché dans une crique protégée prend feu? Probablement pas tout seul. Mais pour Blackthorn, c'est tout espoir de rentrer. C'est son rêve.
Bah, en même temps, là,
son rêve, excusez-moi,
non, mais désolé, mais...
d'être vu en Angleterre, son rêve,
oui,
n'est-ce
oui,
pas
oui.
A dream of a dream, qui commence à s'étioler.
Et toi, t'as trop fait la meuf qui a checké les trucs et tout. T'es là en mode première.
Tu crois
là.
J'écoute 8 heures de
son
podcast
rêve,
par épisode
à
de série depuis 10 ans?
Au dream of a dream,
dire,
tu captes les métaphores,
les
tu captes les métaphores dans le titre.
Oui, mais après je lis des gens plus intelligents.
Mais non, mais
moi,
non, mais
moi,
évidemment, mais en vrai c'est super intéressant. Tu m'énerves.
Et donc bon, voilà, c'est potentiellement la fin d'une ère pour Blackthorn et on verra que lui fermer ses possibilités d'avenir, ça va assez vite le mener à des décisions drastiques. Mais d'abord, quand
est-ce
ils
que,
arrivent,
alors, petite oui. question, est-ce que vous pensez qu'il comprend tout de suite? Que c'est pas juste quelqu'un qui a brûlé. Enfin,
oui, parce qu'il dit, il voit son bateau, il dit Mariko.
Ouais, voilà. Est-ce que vous pensez
ah oui,
qu'il
capte, dès qu'il
capte
voit son
tout de
bateau,
suite.
Dès qu'il voit son bateau,
ouais, okay,
il capte
okay.
que c'était ça la monnaie d'échange pour sa survie.
Ok.
C'est vrai, tout à fait.
Non, non, mais c'est intéressant. Et du coup, j'avais pas fait le rapprochement avec le fait qu'il dise Mariko.
Ouais.
Et
ouais,
je me rends pas compte à quel point c'est clair pour l'intégralité du public qui a vraiment un côté genre. C'est un peu comme s'il était perdu sur la lune et qu'il avait plus de vaisseau quoi. Il y a les
imagine
au Japon, il y a pas de bateaux
l'angoisse.
Qui peuvent aller plus loin que genre aller à la limite peut-être qu'ils pourraient rallier une terre pas très très loin, genre la Corée ou la Chine, mais ce serait déjà risqué. Et il y a vraiment pas de bateau assez assez costaud pour le ramener en Angleterre ou en Occident.
C'est minute 21 de Outlanders.
Oui, oui, oui. En fait, t'as ton seul moyen de rentrer à la maison et de retrouver ta vie normale, ta vie d'avant. Qui vient de couler quoi.
Voilà, donc le choc émotionnel, c'est pas juste ah ça fait chier, ça va être long de rebâtir un bateau, c'est a priori, c'est vraiment imaginer un astronaute sur Mars qui est avec les martiens et qui voit la dernière navette qui a explosé quoi, il est là.
Ouais.
Et ben maintenant ça devient pérenne.
C'est t'arrives à Romur, il y a plus de métro quoi. C'est...
t'arrives à Stalingrad, il y a plus de métro frère.
C'est métro. Pas grave, j'aime bien marcher.
Ouais. Mais avant que Blackthorn prenne en compte toutes ces Zumba qui lui sont arrivées récemment, eh bien Yabushige arrive et là il y a Omi qui lui prend ses épées,
ouais.
qui envoie des gardes le prendre et qui lui dit c'est toi Naga qui a dit parce qu'apparemment il y aurait une lettre comme quoi t'as un peu aidé à l'attaque de Mariko et alors là c'est la confrontation Yabushige Toranaga.
Moi c'est mon arc préféré de enfin okay. tout l'arc Yabushige Toranaga de l'épisode, c'est incroyable.
The floor is yours Nodus.
Non mais enfin on parle à trois, moi je me souviens même plus des précisément de donc là en gros à ce moment-là il arrive, effectivement il se fait retirer ses épées et on le conduit face à Toranaga. Et
on passe dans le village, dans les rues
ouais.
où les villageois et les villageoises sont en train de se faire défoncer. Alors là, c'est
oui, j'ai noté ça
jaune,
décapite
hein.
sec à Hajiro.
Ouais, non, mais alors moi j'ai une
bavure.
Ah bah là, il y a de la bavure.
Violence policière.
Vraiment,
là.
On est sur.
Je pense
vraiment...
qu'on est plus à une bavure près. Hein,
oui, là c'est,
ouais.
c'est vraiment grosse alerte quoi. Non, je sais pas si vous saviez ça, mais j'ai lu en faisant quelques recherches moi aussi de mon côté.
Mais tout le monde a ta fait pour ce
les
final.
Les petites têtes exhibées là, hein.
Oui.
Alors oui.
Tu finis ta vie, ouais. c'est ta tête, elle est sur un pic comme ça. Et
ils ont des pics
ex-
exprès. Je sais pas si t'as vu, c'est exprès. Ils ont
ouais.
une commode à tête ou c'est une commode sur laquelle
c'est fait sur mesure.
Ouais,
à la commande.
C'est, ça ouais. C'est pas un truc qui est à de base. Hein. Ça c'est, faut, c'est au moins un cuisiniste qui a fait 700 balles, 700 balles avec les.
Non ouais, ça c'est la pièce unique.
Ouais ouais, ça c'est ouais.
Et ben vous saviez que ces têtes là. Elles étaient préparées souvent par les femmes dans les rites funéraires.
Non.
si c'était un taf qui était.
Tu sais quel sale boulot, désolé. Ouais. Once again. Bah oui, mais parce que, enfin, j'imagine qu'il y a un côté faut les préserver un petit peu ouais, et puis ouais. Que ça.
Bah oui,
dégueule pas du sang partout quoi.
Bah c'est comme enfin encore aujourd'hui de maquiller les corps et tout. Enfin ouais. C'est normal pour préserver un cadavre, sinon il est.
Oui.
Bleu, quoi.
Après ça peut être surprenant quand tu vas l'exposer aux éléments et que, tu vois il y a un côté c'est déshonorant de ouais. Suspendre un.
Bah nous par exemple on n'expose pas nos cadavres en ouais enfin.
Voilà.
A, voilà.
Mais il y avait quand même un équilibre à trouver pour que ça reste présentable, pour qu'il y ait un sentiment de justice et de vengeance et puis que ça affiche, que ça donne la honte aussi à la personne et à sa famille. Et puis qu'elle soit quand même finalement biodégradable.
Ah
on
oui,
est sur du circuit court.
Mais je savais pas que c'était les meufs qui étaient en charge de la gestion des. Alors en vrai, bon, je vais pas non plus trop m'étendre là-dessus parce que c'est un peu deg, mais je m'étais intéressé à. Non mais je m'étais intéressé à la. Parce qu'il y a en vrai tout un truc, c'est con, mais on parle beaucoup dans la série de seppuku, on parle beaucoup de gens qui secondent les seppuku et qui du coup décapitent. Et en vrai.
Bon, t'avais fait un point tête dans les boîtes et tout. Enfin,
tête dans les boîtes, ouais. Mais il y a aussi tout un. Et je vais m'arrêter là, c'est le seul truc que je dirais, mais. Il y a aussi toute une procédure en fait, il y a une méthode à la façon dont ils décapitaient les gens entre telle et telle vertèbre et justement pour que ce soit le moins douloureux et le plus rapide possible et il y a tout un truc où c'est pas fait au hasard quoi. Et même le rite là on va le voir plus tard dans cet épisode
pas comme Toranaga 12 ans.
Pas comme Toranaga 12 ans qui le fait 9 fois quoi. Et il y a tout ce truc où effectivement là on le voit à un moment quand il tue Yabushige, il refait un geste de katana pour enlever le sang dessus, ça pareil c'est pas juste pour le faire parce qu'il y a du sang, c'est dans la procédure.
Et bien sûr.
Bref.
Évidemment que rien n'est laissé au hasard. Donc, bah, en parlant de seppuku, rewind un petit peu avant cette scène, puisque Yabushige et Toranaga se confrontent. Toranaga, du coup, lui explique qu'il sait qu'il a été complice de l'attaque de Mariko, qui a mené à la mort de Mariko. Et il demande à Yabushige, tout simplement, bah, il lui dit voilà, tu es déchu de. Tes titres,
excommunicado
comme dans John Wick, tes terres ne t'appartiennent plus, voilà, tu n'es, voilà, c'est fini, tu es bien viré et licencié pour faute grave, merci de te faire seppuku avant demain soir. J'aime bien toujours ce truc de avant un délai,
mais c'est toujours ça
qui permet d'avoir une
est-ce
scène
que
un
jeudi
peu
13 t'es dispo pour te non, tu peux faire le vendredi 14, non?
Bah, le déjeuner c'est bien ou pas?
Ouais, qu'est-ce non. Que tu préfères pour te
ouais
seppuku,
non, si la crèche est fermée c'est pas simple.
Ouais, bon,
ouais, bah,
bah
ça,
je te laisse déposer Mathéo un matin et après
c'est quoi, on se fait un doodle?
Ouais ouais, grave,
et
grave,
on se redit, on se redit quoi. Donc voilà, là Toranaga lui dit bah écoute, fais-toi seppuku d'ici demain soir, et Yabushige il dit je peux pas avoir une mort plus cool. Genre être bouffé par des chiens.
Non,
ou
mais moi j'ai entendu Yabushige, il a fait je peux pas avoir une mort un peu plus BDSM quoi. Là.
Mais grave.
Non,
tu
mais
vois,
grave.
Non mais c'est ça, il veut faire Yabushige.
Il a pas son petit kink.
Il veut être dans le kiff et il veut être dans le kiff et Toranaga lui fait non.
Oui,
c'est
ça,
il
fait. Ah non, ce sera une mort vanille. Non. Ouais, vanille, hein.
Ouais.
Tu seras mort comme le perso par défaut dans les Sims, quoi. Vraiment, tu vas.
On n'a pas cette relation, mec. Il y aura marqué mort de cause naturelle. Voilà.
Oui, voilà.
Ou de ses poucous, qui à l'époque étaient, je pense, aussi courants les uns que les autres.
Oui.
C'était moitié-moitié des décès à l'époque. Du coup, oui, il lui nie aussi le fait d'avoir une mort spéciale et un destin spécial.
Grave.
Et là, non, frère, tu m'as trahi, tu vas mourir normal. Et bah, là, Torana et Yabushige, il dit, ok, bah, du coup, je veux que ça soit Anjin-sama, mon second. Toranaga, elle lui dit non. Voilà, immédiatement, il est là, c'est refusé.
Non.
Yabushige, il fait.
Bah, du coup, toi, frérot.
Du coup, toi. Et Toranaga, il dit ouais, ok, d'accord, ok.
J'avais
pas pensé, rendez-vous est donné pour le lendemain avant le coucher du soleil.
Et alors, je reviens juste là-dessus, mais on aura l'occasion durant ce podcast de reparler de la peine de mort. Mais en l'occurrence, le seppuku, il y a un. C'est différent de lui dire va crever dans des poissons qui te mangent ou va crever, enfin comme il dit, genre il préfère être mangé par des poissons ou je sais pas quoi. Tu vois, genre c'est différent de le faire mourir d'une mort qui n'est pas un seppuku, parce que le seppuku c'est leur peine de mort, c'est la pendaison, tu vois, c'est l'équivalent de voilà.
Bah je sais pas, pour moi il y a un côté honorable quand même au seppuku,
oui.
Surtout quand c'est Toranaga lui-même qui.
Mais là c'est un seppuku pour trahison. C'est un seppuku qui lui inflige, c'est pas un seppuku que lui
spécial.
Provoque. Il y a le seppuku de la honte, il y a le seppuku de trahison. Enfin, on avait
lui,
j'avais
lui
fait un
ordonné,
point.
Quoi.
Ouais, lui c'est un seppuku de punition, tu vois. Il lui a ordonné et c'est il doit faire seppuku. Et en vrai, ça aurait été différent de l'autoriser à mourir, même d'une façon différente, de aller s'exiler dans la forêt ou se jeter d'une falaise ou quoi. Je pense que c'est pas pareil.
Ah oui, pour moi il le prive d'un traitement de faveur.
Ouais.
Enfin en gros, il lui dit écoute, c'est chelou ce que tu veux, mais comme c'est ce que tu veux, tu l'auras pas toi. Juste ce que je dirais à n'importe qui dans ta position, c'est-à-dire tu n'es plus seigneur. Merci de... Finalement, de, c'est un peu l'équivalent de rends ton flingue et ton badge, mais version Japon féodal, quoi.
Et on en revient à ce rapport à la mort de, enfin, tout ce rapport Kayabushige à la mort. Je pense que lui, il a un peu, à ce moment-là, plus tard dans l'épisode, moins, mais à ce moment-là, le seum de mourir juste par seppuku, quoi. C'est la mort par défaut, c'est la mort bulle bizarre, tu vois.
Et... bah oui!
Non, mais je pense qu'il a, il a un peu le seum.
Comme tu dis, Marie, c'est pas ce qu'il veut en tant qu'esthète. Ouais. Pas, du décès. Et puis je pense que on le verra, mais il a quand même une relation privilégiée avec Toranaga, donc peut-être que quelque part il espère un peu mieux. Et en même temps, pour moi, il y a une forme d'acceptation de il s'en veut tellement. Et il a eu cette genre de révélation avec la mort de Mariko de ouais bah j'ai entre guillemets mal agi, en tout cas j'ai joué, j'ai perdu.
Ouais.
J'ai joué la foi trop contre Toranaga et j'ai pas bien choisi mon camp. Et du coup, il y a une forme d'acceptation. Il négocie pas le fait de mourir ou pas. Il dit pas. Ah, laissez-moi vous servir une dernière fois, vous pourriez m'envoyer à Osaka,
là, je ferais croire des trucs.
Ouais, mais tu vois, je pense que pour refaire la comparaison, dans Game of Thrones, on aurait eu peut-être ça, tu vois, on aurait eu, envoyez-moi espionner une dernière fois pour vous et tout machin, et il est là. Ok, on peut parler des modalités, Toranaga, il a. Non, il fait.
Ouais.
Eh ben d'accord, demain du coup. Super. Et on y reviendra. Est-ce que t'as des choses à dire sur Yabushige, Toranaga, le seppuku?
Non, pas sur cette partie-là.
Très bien. Eh bien, on avance au moment où j'ai été trop triste, parce que Blackthorn, eh ben, il rentre dans sa maison de Hatamoto, où déjà il n'y a plus le vieux jardinier. Il n'y a plus Mariko-sama. Il y a Fuji-sama, ce qui est super, parce qu'on se demandait quand même ce qu'elle foutait.
On l'adore. On l'adore.
Et Fuji-sama. Et bah, ils ont des moments trop mignons parce qu'ils se mettent ensemble à regarder la pluie qui tombe sur le jardin. Et ils sont deux au lieu de trois, mais ils se rappellent ensemble que c'était bien d'être trois. Et je pense qu'ils vivent le deuil de Mariko ensemble. Et après, ils dînent. Qu'est-ce qui se passe, Marie? Moi, je suis très triste.
Elle,
très
lui... elle lui dit bon, mon ref.
J'y vais, hein.
Ouais, j'y go.
Elle fait le truc, tu sais, quand tu tapes sur tes cuisses en fin de soirée en mode.
Bon.
Dernier métro.
T'as bien mangé, t'as fini? Je te mets pas dehors, mais t'as fini là? C'est. Ouais.
Ouais, bah je vais aller m'enfermer avec Dieu. Voilà. Vous voyez tout ce que c'est les
c'est
couilles.
C'est quoi qui t'a traîné avec un gars bizarre? Je vais traîner avec Dieu.
Elle lui dit, je vais devenir nonne. Et donc lui, il est là. Attends, mais. Je suis
pas ton proprio de base?
Non, parce que t'es à moi. En bon mec.
Oui, il le tente, mais on sait que.
Bah alors, en vrai, c'est intéressant
parce
que. Il
le dit avec tendresse, tu vois. Il est là. Ok, bah, je t'endorme de rester. Et elle est là. Non.
Il le dit pas en mode vieux gars, en mode non, tu vas rester machin. Il le dit en mode c'est quoi? Peut-être que dans vos coutumes administratives et tout, si je dis ça, t'es obligé de le. Peut-être si je le dis, je te chabite.
J'ai dit Jacques Adi. Tu dois rester.
Je pense qu'il le dit en mode comme ça.
Elle est là. Non.
Oui, en même temps, elle est là, c'est mignon, mais non. Ça, c'est à la fin. Mon gars, j'ai une vie.
Bah à la fin, c'est toi qui as fait un faisant bizarre, quoi. Donc bon.
Oh ouais, elle avait 2-3 problèmes avant le faisant bizarre quand même. Passer aussi la scène où il l'interroge sur c'est quoi ces boîtes blanches et où elle lui explique que c'est les cendres de son mari et de son fils et que normalement c'est censé être enterré dans le caveau familial mais qu'elle sait pas trop où les mettre et que enfin où en disposer et qu'elle a envie de les garder avec elle qu'elle arrive pas à s'en libérer quoi. Ça reviendra dans l'épisode. Mais j'ai trouvé ça trop. Donc, alors dans le livre, c'est moins positif parce que Toranaga certes autorise Fujisama à être libéré de ses fonctions, mais c'est-à-dire qu'il l'autorise à mourir tout simplement. Il lui dit comme Mariko, elle est là, je peux mourir tous les mardis. Et il est là, non, t'as du taf. Et son taf, c'est notamment d'être consorte de Anjin-sama. Et là, il l'a libéré de ses fonctions, ce qui veut dire tu peux mourir. Par contre, Toranaga lui dit. Juste arrange-toi pour que ça passe pour un accident parce que si Anjin-sama il sait que c'est moi qui t'ai autorisé, il va être chiant. Donc c'est et il peut y avoir l'idée de peut-être qu'elle fait croire à un accident et qu'elle s'enfuit et qu'elle vit sa vie, mais il y a aucune raison vraiment de croire ça. Et j'ai trouvé ça plus joli que là elle est même si on n'a pas trop vu son côté religieux, au final ça lui donne quand même une porte de continuer à vivre et à vivre pour elle. Et je suis pas sûr qu'on ait l'impression que les hommes lui aient fait beaucoup de bien dans sa vie. Donc le fait de devenir nonne et d'interagir plutôt avec des femmes, je suis là, j'ai beau être athée, pourquoi pas. Ça va être peut-être moins pire. Et je trouve que c'est bien de rappeler que pour Blackthorn, c'est une des seules personnes qu'il connaît. Pour elle, c'est genre, mec, je vais pas rester pour toi, quoi.
Oui.
J'ai toute une vie, j'ai toute une. Tout un arc que tu connais pas, quoi.
C'est juste un gars qui est venu
il y a un an max, quoi.
Et je trouve ça intéressant parce que ça aurait été une série complètement différente si elle avait décidé de garder les deux guns. et juste de faire sa propre aventure. Mais il y a plein de points intéressants soulevés dans le chat. Notamment, on nous parle du fait qu'il y a des plans de caméra qui cadrent à la fois donc Blackthorn et Fujisama, et aussi la place de Mariko, qui du coup la évite parce que Mariko, on le rappelle, Lago est dead.
Plus de traductrice.
Lago est dead. Et oui, voilà. Et donc il y a un autre message qui dit plus de traductrice. Et en vrai, il a Duolingo de fou parce que là, il arrive à... Alors, je pense qu'en expression orale, il est 9, 10 sur 20, max.
Ouais.
Mais par contre, en comprendre ce que les gens disent et comprendre les mots, il arrive à comprendre parfois quand Yabushige lui parle, il arrive à comprendre région, il arrive à comprendre tel mot, il arrive à comprendre non. Enfin, il arrive vraiment à comprendre des phrases et il a step up de fou, je trouve, en japonais.
Bah oui, bah comme tu dis, ça fait aussi quasiment... Enfin, ouais, peut-être une année et quelques qu'il est là et bah, il a eu plusieurs raisons de... charbonner le japonais. Comme je l'avais dit dans un autre épisode de ce podcast, dans le bouquin, il y a tout un arc où il récupère un dictionnaire portugais-japonais, qui est un ouvrage qui existe très peu parce qu'il est fait par l'Église catholique et que c'est très rare de faire des dictionnaires voilà, sur deux langues aussi compliquées, donc ça l'aide beaucoup à progresser et tout. Plus il y a Bushige qui le menace de « si t'apprends pas assez vite, je vais sacrifier tout le village » et tout. On en reparlera de cette menace de seppuku de Blackthorn dans le bouquin. Et pour moi, je trouve que c'est assez cohérent pour un perso qu'on sait être à l'aise, un homme qu'on sait être à l'aise avec les langues, d'être à ce niveau-là, je dirais, et c'est ce que je vois aussi avec ma famille marocaine, donc moi je parle pas arabe, mais c'est beaucoup plus facile de comprendre le sujet de la conversation et à peu près quelle position, tu vois, s'il y a deux, trois personnes qui débattent, genre je comprends la thématique et à peu près quelle position tient chacun, mais moi j'ai le vocabulaire pour dire poivron meilleur rouge, tu vois, genre je peux pas aller plus loin. Et comme en fait Anjin il dit Fuji best nun, j'étais là oh non, il lui dit quelle sera la meilleure nun, j'ai envie de canner, et il dit que des trucs hyper simples,
mais
genre,
oui,
plus de mort
mais il arrive par ses expressions et son, il arrive à véhiculer ses émotions, et genre elle le prend jamais mal quand il lui dit reste, je t'impose de rester ou quoi. Elle le prend jamais mal quand il lui dit meilleur non machin. Enfin, ouais, en fait, il arrive à se faire comprendre et il est chou de fou.
Mais oui, il est maxi chou. Moi, j'étais trop triste, franchement. Mais contente que Fuji ne meurt pas.
Mais tu vois, je parlais d'aspect un peu contemplatif et je trouve que dans ces deux passages-là où on les voit, donc après avoir eu cette discussion avec Fujisama, il se pose dans le jardin et il regarde les cailloux. Bon, il retourne regarder les cailloux, ce qui est un truc de contemplation un peu zen, justement. Je me suis dit, le gars devienne maître zen. Elle part faire la nonne, lui, il devienne maître zen.
C'est toute une histoire de porosité, quoi. Oui. Au contact des autres, on devient un peu plus comme eux. Et bah, le duo de showrunner, je crois que c'est dans The Watch, le podcast de Vanity Fair, je crois, qu'ils ont dit que pour eux, ce côté, après toutes ces aventures, on se pose et on regarde les cailloux de notre jardin et la pluie tomber dessus. Pour eux, c'est ça la série Shogun. Et ça explique aussi pourquoi il n'y a pas de grande bagarre, parce qu'en fait, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'on regarde ce qui se passe et les conséquences de ce qui se passe. Et dans le livre, il y a plein de moments où Mariko, elle dit à Blackthorn, tu devrais regarder les pierres pousser. Et il est là, elle me casse les couilles, les pierres, ça pousse pas. Et des fois, vraiment, genre, le perso, il essaye, il regarde un caillou longtemps, il est là, je le vois pas pousser, putain. Et du coup, déjà, c'est un bel hommage qu'il y ait ce plan, mais il y a vraiment un truc philosophique de... C'est ça l'important. C'est le temps qu'on prend à regarder la pluie sur les cailloux. C'est aussi important que les grosses bagarres à coups de canon, quoi.
Mais je crois que est-ce que c'est pas une inspiration de la religion ? Alors, les gens qui écoutent le sauront peut-être. Je crois que cette idée de vie dans les objets, dans la nature, et d'âme même dans les animaux, etc., c'est propre à la religion Shinto.
C'est possible.
Enfin, moi, il me semble avoir lu ça, et du coup, je ressens ça quand tu parles de Mariko qui dit regarde les pierres pousser. C'est en fait techniquement, ça pousse pas une pierre, mais si t'es dans la religion Shinto. Ah ouais.
Pas avec cette attitude. Hein. On ne pousse pas les pierres des gens, Marie.
Non, mais c'est intéressant. Il y a toute une. Bah, même en vrai, c'est con, mais ça peut aussi corroborer la métaphore du faucon et de la personne qu'on trouve dans le faucon. Tu vois, peut-être.
Oui, carrément.
Intéressant.
Fin du dîner, Toranaga a un rendez-vous avec Kiri, du coup sa femme, qui est enfin sortie de Osaka après moult aventures, et qui lui apporte une lettre d'Ochiba qu'il va lire, qui est une longue lettre. Hein. Vraiment, il la déplie.
Alors,
à côté cartoon. Ça m'a fait penser au truc médiéval où tu déroules un parchemin et ça s'arrête pas. Tu sais, genre, ce qui est là, je déplie. Encore. Donc je me dis, bah, on avait des choses à dire au Chiba. Et évidemment, comme c'est fucking Shogun et que la vie serait trop simple si on savait ce qu'il y a dans la tête de Toranaga, on ne lit pas la lettre. On a zéro indication claire à ce moment-là de ce qu'il y a dans la lettre. On a un petit rictus de Toranaga. Et après, il reprend son masque un petit peu neutre, quoi. Et il échange avec sa femme qui lui dit notamment « Oh là là, c'est des vers trop jolis, ça ne peut pas être de toi. » Moi, j'étais très contente de revoir sa femme, que j'aime beaucoup. Et comme je l'avais dit dans le précédent épisode, j'aime beaucoup leur relation et je trouve qu'elle l'humanise. C'est une des rares personnes avec qui Toranaga a l'air humain parce qu'ils se font un peu des vannes, parce que ça se sent qu'ils se connaissent intimement. Un peu comme avec Yabushige, d'ailleurs, Toranaga et Yabushige. Et du coup, j'ai trouvé ça... J'ai trouvé ça hyper intéressant, cette lettre d'Ochiba, mais je me suis dit, ok, à ce moment-là, si t'as pas lu le livre, c'est impossible d'imaginer ce qu'il y a dedans, quoi.
Bah, on le sait plus tard.
On le sait plus tard, oui.
On le sait aussi parce que, et c'est un truc que moi je t'avais dit pendant l'épisode, et moi, à ce moment de l'épisode, je commençais à arriver au point où il y avait plein de trucs que je comprenais, vraiment. Genre, j'avais du mal à comprendre, vas-y, il y a quoi sur la lettre, vas-y, pourquoi, enfin, j'avais du mal à comprendre les événements et ce qui se passe, et le truc, c'est qu'on en revient à une heure, c'est trop court. Il y a, je pense, un moment où l'épisode a voulu tout nous mettre d'un coup et tout nous faire arriver avec des gros sabots. Et on apprend donc ce qui est marqué sur la lettre via un vieux flash, le truc avec les armées là qui n'existe pas et on voit, il nous explique la lettre.
Tu veux dire A Dream of a Dream?
A Dream of a Dream, ouais, d'accord. Désolé, mais c'est la scène où, comment elle s'appelle, la blonde dans Seigneur des Anneaux là, en mode Legolas.
Galadriel.
Ouais, où elle parle en mode Tokyo Hotel, c'est elle est là en mode. Ouais, et ben ouais. On dirait la même scène. Je suis désolé de.
Pas parce que c'est un rêve.
Ouais, mais bon. Et moi, pour moi, on en arrive à. Enfin, le. Vraiment, l'épisode a eu du mal à nous expliquer ces trucs-là. Et la lettre, en fait, moi, j'ai vu Toranaga se lever, croiser les bras et arriver et faire. Je fais, bah gros, dis-nous, il y a quoi sur le papier? Qu'est-ce que tu fais là?
Même il dit à sa femme, est-ce que tu l'as lu? Et sa femme, elle est là.
Oh, quelle idée!
Moi, je te l'ai bien sûr, tu l'as lu, frère, tout le monde, nous-mêmes, on veut la lire! Toi, t'as vu 9 épisodes de Shogun aussi, tu veux savoir ce qui se passe, et peut-être tu meurs, donc c'est intéressant, tu vois, pour ce perso en plus.
Mais ouais.
Alright, on y arrivera à quand Toranaga révèle son plan et sa vision.
Oui.
T'as quelque chose à dire sur cette lettre Ochiba
Non, c'est Toranaga. Juste la scène à laquelle je faisais référence en disant que pour moi c'est le moment où on capte que c'est sa fille par procuration, tu vois, Mariko.
Ouais, Mariko.
Oui, parce que justement il porte son enfant nouvellement né.
Oui, c'est vrai que c'est aussi la scène de rencontre avec son fils nouveau-né. Ouais. Et ce côté, oui, mon fils est mort, mais bon, j'en ai d'autres.
Oui.
Ce qui est genre, bon, quand t'es Naga, t'es là. Bon.
Et moi, je l'ai aussi compris pour Mariko. Tu vois.
Oui, je suis d'accord. J'ai d'autres. Enfin, ma descendance grandit de plein de façons. Il y a à la fois mon fils biologique qui est là, et aussi ma lignée qui s'est transmise aussi via Mariko. Ouais, je vois l'idée, j'aime bien. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on avait. Évoquer pourquoi Ochiba déteste tant Toranaga. Et en fait, dans le livre, il y a une raison supplémentaire qui est donc que Ochiba, comme on le sait, ça a été la seule à donner un héritier au Taiko. Donc, a priori, le Taiko ayant essayé avec beaucoup de femmes, on peut se dire que c'était peut-être lui qui avait un problème de fertilité. Et en fait, dans le livre, Ochiba, en gros, il y a un moment où elle s'en va, je sais pas, dans la forêt, un peu éperdue. Et elle serait tombée sur un bûcheron. Et l'idée, c'est en gros, elle est allée ken quelqu'un pour tomber enceinte et faire croire que c'était le fils du Taiko.
Oui, bon.
Et en revenant, la seule personne qu'elle a croisée, c'est Toranaga qui était à la chasse au faucon. Donc elle est persuadée qu'il sait. Et du coup, elle est persuadée. C'est un peu un move Game of Thrones de Cersei, ses enfants, c'est pas les enfants de Robert Baratheon, tu vois. Si l'héritier il est illégitime, en effet, ça peut être très dangereux pour elle. Mais je suis limite contente qu'il l'ait pas mis dans la série parce que bah, ça aurait peut-être fait trop écho déjà à Game of Thrones.
Ouais,
et c'est un peu cliché le truc
confus,
de ah, en plus elle l'a trompé, l'héritier c'est pas l'héritier. Parce qu'en plus, au final, l'héritier, on le voit genre 4 fois, tout le monde s'en fout quoi. L'idée c'est le symbole plus qu'autre chose. Donc, tant que les gens croient que c'est le fils du Taiko, c'est ça l'important. Et j'ai trouvé ça chouette, cet écho de Toranaga dans plein de personnages qui sont ou pas ses enfants biologiques. Alright! Blackthorn, il va avoir Toranaga. Il dit à Fujisama, tu dis à Toranaga, je veux le voir demain. J'en ai marre de comment les choses sont gérées ici.
Rappelons qu'à ce moment, il faut se mettre un peu dans les bottes de Blackthorn.
Gros mardi,
il n'a plus de traductrice.
Oui.
Lago, qui pensait être sa consort et tout, elle se barre pour être non. Le gars, il a plus personne. Même Yabushige, il va se faire genre Zigwigwig le spook, donc c'est dead, c'est terminé.
Yasson père.
Et là, il va voir Toranaga tout seul. et on lui met qui à la traduction quand il veut parler à Torinaga. On lui met Hakim le fils du forgeron. On est où là? On est où?
Non, mais... Lui il a Duolingo version non, de mais... c'est gratuite, c'est tout.
On lui met un gars, il est pêcheur. Bah alors en vrai c'est intéressant d'un point de vue scénaristique parce qu'on apprend que ce gars parlait portugais depuis le début. Okay. Et moi j'ai.
Et quand... Black Sorn il doit être fatigué. Ouais. Là franchement je me suis.
Vous auriez pu me dire que ce vie... mec là.
La m'avait pissé dessus. Vous m'avez versé des vieux bouts de poisson.
Et lui il parlait anglais.
Vous avez bouilli mon pain.
Non mais attends, en plus c'est pas seulement il parlait anglais, on apprend le gars c'est un samouraï s'il te plaît.
Mais ouais.
Genre il est passé du pêcheur.
Non mais de fou.
En fait je suis un espion, ok.
Et
voilà.
Il est.
Et mais... yes.
Et j'ai trouvé ça super intéressant et en fait même quand il dit qu'il parle pas bien anglais, il y a un moment où il dit donc en gros Blackthorn il parle à Torinaga et tout et donc c'est ce gars-là qui doit il s'appelle comment d'ailleurs tu l'as, toi, tu l'as.
Non je l'ai plus. Ah, Mouji quelque chose. Désolé, pas Mouji mais pas loin. Mais je vais gros, le retrouver. Je lis le chat en même temps, désolé.
Traduire tout ce que Black Sound veut dire. Et à un moment, il dit à Torinaga, peut-être que c'est un peu trop pour un pêcheur comme moi à traduire, c'est un peu compliqué.
Oui, parce que Torinaga lui dit des trucs
anticonstitutionnellement.
Tu lui diras qu'il me refait le même bateau, mais en termes de tonnelage, voilà, un petit peu plus bas en termes de flottaison. Il me fait acajou, attention, pas en noyer, avec de la place pour des rameurs gauchers. Hein, la plupart, tu connais comment ils sont là-bas. Oui, c'est pour un mec qui est censé avoir 4 mots de vocabulaire.
Et en fait, tout ça pour dire que je trouve qu'il se débrouille quand même, même s'il dit qu'il parle pas bien anglais, il se débrouille quand même très bien. Genre, il
de
est
qui
le pêcheur.
Mais bien sûr, mais parce qu'en fait, il parle très bien anglais.
Mais oui, il parle très bien anglais depuis le début de la série, et c'est ça qui est intéressant.
Il a fait semblant. On en revient à Torinaga, c'est un homme du long game. Il a planté ce gars à Hajiro pour espionner Omi, le neveu de Yabushige. Yabushige, jusqu'au début de Shogun, il a jamais été foutre un pied dans ce putain de village dont il est le seigneur. Torinaga, t'inquiète, il avait un espion là-bas. Pour surveiller, c'est qui Omi? Qu'est-ce qu'il fait? Pour surveiller si jamais Yabushige y vient, qu'est-ce qu'il fait? Et oui, bien sûr qu'il avait un gars qui comprend tout ce que dit Black Sorn depuis le début. Mais que même ce gars-là, en fait, tant que Torinaga lui donne pas la permission, même quand il est tout seul avec Black Sorn, il va jamais lui dire « Mec, au fait, je te comprends et tout. » Parce que Torinaga, il veut aussi espionner Black Sorn sans que Black Sorn le sache, évidemment.
Bah, c'est le principe d'un espion, si tu sais qu'on t'espionne, c'est plus de l'espionnage, c'est juste du regardage, quoi.
Oui, voilà, mais tu vois, on aurait pu se dire comme Black Sorn, c'est l'allié de Torinaga, il aurait lui dire « Ah, vas-y, va espionner Yabushige avec mon espion. » Pas du tout. Si tu mens à tout le monde et que tu dis à personne ce qu'il y a dans ton cœur secret, eh bien,
ton jardin.
Personne ne peut, te trahir. Mais qu'est-ce qu'il vient demander, Blackthorn?
Blackthorn, il vient dire, frérot, ça me saoule. Tu vas pas chercher dans le village et faire sacrifier les gens, machin et tout. C'est moi le fautif. C'est moi. C'est pas moi, c'est toi. C'est pas toi, c'est moi. Il lui dit ça. Et il lui dit, c'est moi.
C'est comme pour le faisant.
Ouais,
c'est
exactement. Il lui dit, c'est moi. Le fautif, c'est moi dans l'histoire. C'est moi ton ennemi. Il lui ressort le mot et lui dit, moi. Enfin, parce que c'est les seuls mots japonais qu'il connaît. Il le regarde et il dit, moi, t'es qui? Et c'est le mot qui veut dire ennemi depuis le début de la série.
Il lui dit que c'est Mariko au début. Il lui dit, c'est Mariko qui a fait un pacte avec l'église. Il lui dit ce qu'il a déduit. Mais il dit, c'est pas un espion de l'église dans votre village. C'est Mariko qui a fait un accord avec l'église. Du coup, l'église savait
mais
très bien où
était. Mais ça, Torinaga, il le sait, je pense.
Bah oui, il le sait, mais Black Sorn, il sait pas qu'il le sait.
Ah, yes, ok, ouais, je vois.
Black Sorn, il se dit, Torinaga est en train de retourner le village pour trouver l'espion à la solde de Kiyama. Alors que, en fait, c'est Mariko qui a dit à l'église, voilà où est le bateau. Aller le brûler en échange, gardez-lui la vie sauve. De toute façon, il peut pas rentrer chez lui chercher d'autres protestants, tu vois. Et du coup, Black Sorn dit à Torinaga, arrête de chercher un coupable. C'est Mariko qui leur a dit où il était le bateau et comment le couler sans que personne voit. Et Torinaga, il dit, moi je m'en fous, c'est pas mon problème. Si j'arrête de chercher, ils vont croire que ça y est, on peut me trahir comme ça, naninana.
Ah bah c'est Vin Diesel aussi.
Et c'est là où Black Sorn il part en couille. Il est là, ok, bah du coup c'est de ma faute, c'est moi l'ennemi, c'est qui tu veux, si tu veux, je suis team Ishido. Enfin, on peut dire qu'il a une envie d'en finir.
Il est au bout du Rolls. Et il veut tellement.
Il est en Mariko-sama, il est là, j'aimerais décéder s'il vous plaît.
Il sait plus quoi faire, et j'avais envie de dire, il sait plus quoi faire. Non, elle marchait bien dans ma tête à l'écrit, tu vois, mais pas à l'oral.
Ça
en
va,
vrai.
Toi, ouais.
En vrai, non, elle marche pas. Elle marche à l'oral, elle marche
c'est
pas.
C'est marrant, si j'arrête celui-là, ça fait que, a priori, je sais.
J'adore quand on silencie les hommes dans ce podcast.
Mais donc bref, et donc il va en arriver à effectivement, comme Torinaga ne veut pas le prendre lui comme coupable et qu'il va continuer dans son truc, il dit bah vas-y, tu sais quoi, je me sais beaucoup. Et en vrai, c'est super intéressant d'un point de vue symbolique, je trouve, dans la série, parce que il y a une vraie évolution entre l'épisode 1 ou 2 là, quand il voit Yabushige tomber de la falaise et menacer de se seppuku en mode ça y est, c'est foutu machin. Il y a une vraie une vraie compréhension de, pour moi, à ce moment-là, il a compris tout ce qu'on lui disait depuis le début, ce que Mariko lui disait de « on vit, on meurt, c'est pareil » et tout. Et il comprend aussi l'impact qu'un seppuku ça a, et la symbolique que ça a, c'est pas juste un mec qui va se suicider en s'ouvrant le ventre, c'est en fait, je seppuku pour protester un truc, et...
Pour que ma mort ait du sens.
Pour que ma mort ait du sens. Et elle a tellement de sens qu'il s'enfonce, il va jusqu'à s'enfoncer le couteau.
Il fait le truc.
Pas dans le bide, parce qu'il y a quand même, rappelons-le, 4 couches de kimono. Je pense qu'il va jusqu'à la 3e là.
Bah, il se dessape un peu, non il...
Non, il met le. Ah, ok. Il dessape pas. Okay. Il met dessus. Non, pour le coup, ça plante pas dans le. Non, il met sur le kimono. Et à ce moment-là, c'est là que Torunaga vient et. Wouah ! Iron Man, il lui met un coup de poing.
Ouais, vraiment. Alors là, il a mis bastos et j'étais.
La patate.
Et là, t'es déjà en train de t'éventrer devant un gars. Il arrive, il te cogne. Tu... Oh, je peux mourir tranquille ou tu veux pisser dessus aussi pendant que je m'éventre. C'est bon, voilà.
Un coup de poing, il lui a mis. Il est donc, il lui a dit en fait, vas-y, mais frère, tu as pas de beaucoup pour ça, mon zinc. Un peu comme Ishido, il avait fait avec Mariko en mode, arrête là, eh oh.
Arrête, c'est chiant.
Arrête, c'est chiant pour tout le monde.
Tiens ton permis là.
Et tiens ton permis. Et donc, effectivement, Black Thorn ne se seppuku pas.
T'étais non, mais... pas fâchée que j'en ai parlé, pardon Marie, j'en ai parlé dans l'épisode précédent, du fait que dans le livre, il y a une scène où Black Thorn est prêt à se seppuku pour épargner le village, et j'en parlais en disant, je pense qu'ils vont pas la mettre dans la série, parce que c'est au tout début quand ils arrivent à Jiro.
J'ai oublié que t'avais dit ça dans l'épisode précédent.
Heureusement que ces podcasts sont oubliables. Non, mais en vrai, quand j'ai vu la scène dans l'épisode, je me suis dit, merde, j'en ai parlé dans le dernier podcast en pensant que ça arriverait plus. J'espère que j'ai pas gâché un peu le suspense. Voilà, parce qu'il y a peut-être un côté où ça peut être une fin douce amère, certes, mais poétique, d'avoir Black Thorn qui, au final... ce seppuku pour sauver un village japonais, tu vois, j'en sais rien. Et du coup, j'avais peur d'avoir gâché un petit peu l'intensité du moment en disant, il va pas se seppuku. Enfin, dans cette scène-là, normalement, c'est Yabushige dans le livre qui l'empêche de seppuku, mais ça arrive beaucoup plus tôt. Et d'ailleurs, les showrunners ont dit que pour eux, en fait, ils étaient là, ça aurait dû arriver dans l'épisode 4, du coup, à peu près. Ils étaient là pour nous à l'épisode 4. Ça a aucun sens que Black Thorn soit prêt à seppuku. C'est pas sa culture, il est vraiment encore beaucoup trop britannique, beaucoup trop chrétien, beaucoup trop loin de ça. Maintenant. Et ils étaient en mode, on n'était pas sûr de la mettre. Ouais. On écrit, on va voir. Et au final, cet épisode 10 où il y a, en plus pour de vrai, vraiment les gens du village qui sont en train de se faire assassiner parce qu'on est en train de chercher un espion alors que Torunaga, il sait très bien qu'il n'y en a pas. Et ils se sont dit, là, ça colle. Et s'il y a bien un moment où Black Thorn y comprend l'importance du seppuku et sa symbolique, c'est après le sacrifice de Mariko et tout.
Donc, et on en revient à, selon moi, je suis désolé, le déguisement Père Fouras, il a encore moins de sens. En fait, le seppuku perd en impact. Si on a vu au début de l'épisode, si on nous fait croire depuis le début de l'épisode
ça,
c'est un flash forward, et j'étais là, frérot, on a vu que t'es en vie et que t'as Diego et Matteo là.
Dites-moi Enzo là.
Mais non, mais en fait, moi je savais très bien qu'il allait pas se seppuku et ça perd. Je trouve que ça perd en suspense, en impact. Et bon, après, on comprend que c'est peut-être un rêve et tout machin, mais sur le moment, le seppuku, j'y croyais zéro. Alors que celui de Mariko, j'étais au bout du bout, elle va le faire.
Il n'y a pas la même symbolique. Après, moi, pendant toute la scène, je me suis dit, mais du coup, les refs dans le village, là, ils sont dead pour rien. Vraiment? On a tué des gars random dans le village.
Ils sont dead pour le bluff, quoi. Pour le long game.
Mais en plus, juste après, donc, on les voit retourner, il y a un plan où on revoit la rue du village. Où on décroche
la rue des têtes.
Oui, on décroche les têtes une par une en mode on n'en reparlera pas.
Oui, c'est bon, vous avez tous compris.
C'est terminé. Voilà.
On met ça sous le tapis. Hein.
Bon. Ça, on va
ça
oublier.
Reste entre
hein.
nous.
Ouais. Non, il y a eu peut-être excès de zèle. Il y a eu mise à pied, bien sûr, avec salaire.
Mais attends, les villageois, à la fin, eux, ils ont entendu quoi? Ils ont simplement été persécutés pendant des semaines en mode qu'est-ce qui a cramé le bateau? Il y a des frérots, ils sont dead. Et du jour au lendemain, d'un coup, ça s'arrête. Est-ce qu'on leur a seulement fait un communiqué? Est-ce qu'il y a une petite...
Mais les gars, épisode 1, il y a des Anglais qui viennent chez eux. Il y a Bushige, il arrive. Dans la rue, il y a un gars, il marche trop lentement, il lui coupe la tête.
Ils n'ont pas eu de réunion Zoom. Hein,
leur vie, c'est... On vit, on meurt, c'est pareil. Hein.
D'ailleurs, on a dans le chat, on a Maria Tixu qui nous dit effectivement, quand Black Thorn menace de seppuku et qu'il commence à planter le couteau dans l'un de ses 14 kimonos, il y a un flashback. Et il y a un flashback, enfin un flash forward, pardon. Ce qu'on pense être un flash forward, effectivement, c'est le dernier de l'épisode. Il y en a plus après ça.
Parce qu'après, il va.
Et ben en fait, parce qu'à ce moment-là, selon moi, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, pour moi, c'est le moment où il décide que en fait, il va pas rentrer et du coup, ce flash forward n'existe plus parce qu'il décide de rester là et de pas. Enfin bref.
pas pour moi, il y a aussi, et après on va dire que je vais trop loin à symbolique et tout, mais guess what, c'est mon travail. Pour moi, il tue un peu cette partie de lui, tu vois.
Il tue le lui anglais.
Ouais, il tue le lui qui en tout cas pourrait revenir et s'épanouir en Angleterre. Ça veut pas dire qu'il pourrait jamais y revenir ou quoi, mais ou qu'il est pas originaire de là-bas, mais il est déraciné, ça y est quoi. Il peut plus être bien là-bas et du coup il ferme cette porte et symboliquement, oui, il tue le Black Sword qui aurait pu.
C'est comme les gens qui vont en Thaïlande.
Les Japonais de barbares.
Ils vont en Thaïlande 3 mois et après ils reviennent plus quoi.
Voilà. Pour ceux qui reviennent.
À Bali.
À Bali aussi, ouais, de fou.
Et Toranaga lui dit bon, t'es chiant. Voilà, merci de ne pas. C'est quoi? T'inquiète, tu vas me le reconstruire ton bateau. Puis tu vas m'en faire d'autres. Puis tu prends le tien, tu rentres, puis tu m'en fais d'autres.
Et il lui met une petite tape sur l'épaule, vraiment en mode.
Sachant qu'il vient lui mettre une patate. Hein,
ouais, tu vas me faire un petit bateau là et tu vas me mettre ta gueule aussi. Hein.
C'est comme ça qu'on fait des pep talks à l'époque de Toranaga. C'est l'heure maintenant pour Yabushige d'aller échanger ma foi ses dernières volontés personnelles avec Toranaga. Marie Kigaï, est-ce que tu veux bien, parce qu'on t'entend plus là.
J'ai hurlé de rire.
Est-ce que tu veux bien nous narrer ce qui se passe dans cette séquence?
Qui se fait accompagner vers sa belle mort.
Ah oui. En tout cas, c'est la seule à laquelle il a le droit. Il aurait aimé plus festif.
C'est juste la mort.
Sa mort vanille, donc. Sa mort vanille.
Sa mort missionnaire dans le noir.
Par son neveu, à qui il souhaite léguer Baharien, hein, finalement, parce que de toute façon, il ne possède plus rien, puisque c'est à Toranaga. Hein.
Oui, mais il essaye quand même. Hein. Il dit, je fais de Omi mon héritier. Oui. Toranaga, il est là. T'es viré en fait.
Mais non, mais son neveu, il est déjà millionnaire sur Roblox. Il s'en fout. Enfin, désolé. Il en a rien à foutre, son neveu. Elle est en mode. Papy, qu'est-ce que tu racontes? Enfin, t'es déjà dead. Enfin, pour moi, bref, pardon. Mais.
Donc, il arrive. Désolé. Et il lui donne deux choses, un poème et c'est sorte de.
Son testament. Son dernier testament. Il le fait plusieurs fois dans la série. Dès qu'il sent que c'est un peu chaud, il est là. Toi là, viens, on va refaire un testament.
Oui, c'est l'assurance. En fait, il y a
les mots finaux qui sont le poème final, qui est genre les derniers mots que tu veux qu'on se remémore que t'as dit avant de mourir.
Ouais, ouais.
Et le testament. Voilà. Et il lui donne les deux, genre back to back.
Alors, le poème de mort, je trouve que c'est un des plus philosophiques, spirituels qu'il nous soit donné. Mais alors moi, il m'a touché. Je l'ai mis en comparaison avec celui de Mariko.
Ah mais ouais.
Et je me suis dit, mais quel
il traite de thèmes lourds.
Incompris. Ouais.
De thèmes lourds et importants. C'est vraiment c'est profond.
Vous n'avez aucune sensibilité artistique
sur la société japonaise aussi. C'est important, je trouve, Marie. Je sais pas ce que t'en.
Déjà lu Baudelaire, enfin.
Je sais pas ce que t'en penses, mais ouais, c'est.
Ah non, mais c'est du Boris Vian.
Ah oui, non, mais ouais.
C'est j'irai cracher sur vos tombes.
Mais moi j'adore son poème.
Moi j'ai lu funéraire. Du Boris Vian. Mais non, mais en fait, je dis ça, mais j'ai l'air de rigoler. Est-ce que j'ai l'air de rigoler? Moi je rigole pas. J'adore ce poème.
Moi je suis entourée de deux personnes qui se foutent de ma gueule. C'est ça qui se passe.
Mais non, on se fout de ta gueule.
Elle mange mes kefta, elle se fout de ma gueule.
Elle se fout. Pourquoi tu parles au pluriel?
Deux personnes, si vous voulez.
Majorité.
Deux
personnes. Ouais. Majorité féminine.
Mais non, mais genre, tu dis ça comme si moi j'avais pas mangé tes kefta. Et du coup, moi j'ai mangé tes kefta aussi. Mais...
Oui, et tu te fous de ma gueule aussi.
Oui, non, mais du coup, j'ai compris. Que
tu es inclus dans le else.
Mon corps, virgule, ne l'enterrez pas.
Bah, jusqu'ici, c'est clair. Ça rime pas, mais c'est clair. Ça rime.
Jetez-le dans un champ à des chiens affamés.
Ouais, en vrai, franchement, il a l'utile à l'agréable. Ouais. Il y a un chien, il va être content. Ouais. Franchement.
Oui, en vrai. En la vrai, symbolique. Désolé. Il y a plein de symboles. Bien sûr, il y a plein
bien
de symboles.
Bien sûr qu'il y a de la symbolique.
Yabushige, c'était un homme, au final, très terre à terre. Mais aussi, est fasciné par la chose la plus terre à terre qui soit. La seule chose qui nous met tous à égalité, c'est la mort. Il a dit à un moment, concernant la mort de Naga, que sa mort était genre moins honorable qu'un super seppuku, mais toujours moins pire que d'être bouffé par des chiens errants. Donc il y avait déjà ce truc d'être bouffé par des chiens, mais là il veut pas être bouffé vivant par des chiens, il veut que son corps nourrisse un chien qui a faim. C'est ça en anglais, c'est let the hungry dog feed from me, enfin from it from my body. Et il y a un côté en fait, enfin pour moi il y a un côté vraiment tout est éphémère en fait. Je compte pas plus que ça. Oui, je vais mourir. Et mon corps, il va servir à nourrir des choses.
Tu es poussière, tu redeviendras poussière.
Et ça va avec son côté, pour moi, cynique. Et c'est pour ça qu'il est aussi joueur. C'est que je sais pas vraiment où elles sont ses valeurs, tu vois. Pour lui, il y a un côté, genre, c'est limite dans sa tête, il est mort il y a déjà 30 ans, le gars, tu vois. Il est juste en sursis de « je devrais déjà être mort » et du coup, je trahis, je change et tout. Il y a un côté à la fois pour le, un peu peut-être pour le fun et l'adrénaline. Et aussi parce que tout ça n'a pas de sens. Du coup, à la fin... Faites de mon corps ce que j'ai été, c'est-à-dire juste un truc, juste un truc vivant. Genre, tout ça, vous êtes tous là à vous prendre la tête avec des enjeux et des destinées formidables.
Des naninana et gros, ça y est.
On est juste des gars, tu vois.
Ouais,
on veut, c'est vrai, c'est vrai. On s'interroge sur pourquoi la mort, on aime bien les belles courtisanes, et à la fin, on sera juste de la bouffe pour des chiens, quoi. Je trouve que c'est puissant. Voilà.
Non, mais en vrai oui, c'est puissant. Et ça s'inscrit aussi dans la démarche du personnage de ça peut être pris au second degré comme au premier degré. Ça peut être du troll Yabushige, comme ça peut être effectivement la symbolique de mon corps va fertiliser, mon corps va nourrir la nature et je redeviens la nature.
Et il dit que pour lui, c'est son meilleur.
Ouais, meilleur bon, après je sais pas où est la, je sais pas où se trouve aussi la barre de base, tu vois, de ses poèmes.
Bah après, si c'est ton premier, c'est sûr que ça peut être ton meilleur.
C'est aussi son dernier. Donc,
alors, pour des
sa
gens...
carrière a pas duré longtemps de fou.
Pour des gens qui ont détesté la conclusion d'Ochiba au poème de Mariko, je trouve que vous êtes bien audacieux sur juger les œuvres des autres.
Avec Yabushige, j'ai des attentes. Tu peux pas avoir un drip comme ça en plume de faisan et c'est faire vrai des poèmes où c'est caca, pipi, prout. Désolé.
C'est vrai.
Donc, quoi qu'il en soit, Yabushige, voilà, seppuku. Mais, des choses intéressantes à dire sur le seppuku, je pense.
Bah, avant, disons qu'entre le début et la fin du seppuku, Yabushige dit à Tohanaga...
Ah oui, c'est vrai.
Quand même, explique-moi ton plan. Genre, dis-moi, c'est bon, je vais mourir. Genre, dis-moi ce que t'allais faire. Et c'est vraiment smart, parce que dans le bouquin, c'est pas Tohanaga qui seconde Yabushige quand il meurt. Okay. Et dans le bouquin, le moment où on a le plan de Tohanaga, c'est un des rares chapitres qui est dans la tête de Tohanaga, où on est dans sa psyché, il s'adresse directement au lecteur, et dans la série, tu vas pas d'un coup faire une voix off de Tohanaga qui est là en mode « Eh oui, c'est moi ».
Vous demandez sûrement comment je suis arrivé là.
On s'est retrouvé dans
ça,
cette situation.
Ça, c'est moi.
Ce serait quand même assez grossier. Et du coup, bah, ils ont trouvé ce truc qui marche très bien. En fait, c'est très cohérent qu'ils secondent Yabushige, on sait qu'ils se connaissent depuis très longtemps et tout, et que Tohanaga, il respecte la tradition. Et c'est très cohérent qu'ils disent à Yabushige son plan, parce que Yabushige, il va mourir et qu'il y a un côté, du coup, tu le dis à un homme mort, quoi. Donc, ça risque rien. Il va pas le répéter. Donc, ça marche très bien pour que Tohanaga lui explique. Voilà son plan. Ce qui veut pas dire, voilà que ce qui va se passer de façon sûre, mais voilà son plan.
Attends, après, il le fait d'une certaine façon. Moi, ça m'a fait marrer parce que il est vraiment en mode, il est assis, il regarde la mer comme ça, il est là. Ah là là, si seulement je pouvais survivre pour voir à quoi ton plan va ressembler. Mmh. Ah là là, si j'avais du temps en plus pour vivre.
Mais c'est Yabushige, on l'adore, il est là.
Si je pouvais vivre une journée de plus pour par exemple voir oh là 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 là.
Ce qui est bien, c'est que si je savais ton plan, je pourrais vraiment le dire à personne vu que je vais mourir environ là.
Mais
l'attitude.
Et Tohanaga lui répond un truc super encore une fois symbolique et intéressant. Il lui dit pourquoi dire l'avenir à une personne qui va mourir. Et c'est un écho aussi à un épisode d'avant où justement il y avait
dire à un homme mort le futur. Oui. C'est une réplique qui est déjà arrivée dans Shogun,
qui est déjà arrivée quand Yabushige disait à Omi qu'il voulait comploter avec les canons machin et tout.
Yes.
Et il y avait ce truc là et c'est un écho à ça. Et il y a un sourire que moi j'ai trouvé vraiment trop cool à regarder et à étudier, qui est pendant tout l'épisode je me suis posé la question de est-ce que Yabushige il est vraiment Zanzibar, est-ce qu'il est vraiment Maboule, est-ce qu'il fait semblant et tout, et quand il a le sourire face à Tohanaga et qu'il le regarde dans son sourire, j'ai vu genre il y a plein de trucs. Il y a Yabushige qui est content d'avoir servi à ses côtés. Il y a Yabushige qui est convaincu que Tohanaga, même en le secondant dans sa mort et en le décapitant, même ça, ça a du sens dans son plan à Tohanaga. Et Yabushige, il est quelque part reconnaissant d'être là. Genre, enfin, au début, je pense que le seppuku pour lui, c'était une mort un peu, c'est la chouma de fou, tu vois. C'est pas la mort qu'il voulait, mais en fait, il est content d'être là parce qu'il sait qu'il a sa place dans le plan de Tohanaga, et le sourire qu'il lui fait, je l'ai trouvé trop bien. Genre, vraiment, en termes d'acting, je l'ai trouvé trop cool. Voilà.
Bah, c'est le truc le plus rare, probablement, que Tohanaga peut offrir à quelqu'un. Il lui offre parce qu'il va le tuer juste après, c'est de lui dire son plan. Donc, c'est aussi une vraie marque de respect. Et en même temps, y a un côté, je sais pas comment dire, mais c'est rassurant pour Yabushige, tu vois. Ok, je me suis pas fourvoyé en suivant un mec qui avait pas de plan. Genre, oui, il a un plan, tu vois. Il y a un côté genre, ouais, ça donne du sens aussi.
Je suis pas juste teubé, quoi.
Ouais. Et en même temps, un côté genre, ah putain, si j'y avais cru, si je l'avais pas trahi, en vrai, ouais, ça aurait pu marcher, tu vois. Il y a ce truc de fatalité de je me suis fait avoir par mes propres faiblesses et en fait, j'aurais dû avoir, comme dit Black Sand, avoir la foi. Puisque il y a une scène où le traducteur, du coup, l'espion, le faux pêcheur, Ed Black Sand a parlé à Tohanaga et Black Sand lui dit je suis désolé d'avoir douté de vous, j'avais perdu.
Oui.
et il hésite entre enfin le mec lui dit est-ce que c'est l'espoir ou la foi, et Black Sun il dit au point où on en est franchement, au point où j'en suis c'est pareil. Et il y a de ça, je pense que Yabushiki il a vraiment une vraie foi en croire que Toranaga a toujours des coups d'avance, croire qu'il a un plan, croire que tout ça était pas vain, et du coup bah c'est un bel honneur qu'il lui fait quoi, Toranaga,
ouais,
en lui dévoilant du coup son plan
avant de le décapitax.
Attends Mariko, c'est quoi le plan de Toranaga?
Waouh, moi j'ai juste noté Crimson Sky, en fait c'était Mariko.
Eh oui,
oui.
Crimson Sky, c'était Mariko. J'ai envoyé une femme faire ce qu'une armée n'aurait jamais pu accomplir.
Ouais, moi c'est ça. J'ai noté pas de boum boum, la guerre pour Nodus, il va être triste. Voilà.
Mais moi je suis triste, mais je vous laisse. Moi je suis triste depuis hier. J'ai vu l'épisode hier, je suis triste.
Ah non. Non, en fait, là, le ref, il arrive et il explique que quand on est stratégique, finalement, on n'a pas besoin d'une armée
mais
pour
en vrai,
faire
il a trop
la
raison.
Guerre.
Oui, parce que là, il est en infériorité numérique, ouais, par rapport aux troupes combinées des régents sous la bannière de l'héritier du Taiko. Ouais. C'est important, pas juste les troupes d'Ishido. Et ce qu'on apprend quand même, le point qu'on n'avait pas de façon précise, c'est que la lettre d'Oshiba lui dit en secret que elle ne va pas envoyer les bannières du fils du Taiko, ouais, et que du coup ce sera les armées d'Ishido contre les armées de Toranaga contre les armées de Kiyama, enfin ça va faire exploser cette unité là. Alors dans la réalité, cette bataille qui est teasée dans la série dans une vision de Toranaga, elle a vraiment eu lieu, il y a quand même eu, parce que Toranaga dit la bataille sera finie avant que la moindre épée n'ait été tirée.
C'est
en
pas
vrai,
vrai,
il y a eu minimum 12 000 morts, hein, donc
oui, en vrai c'est quand même PIB,
très enfin, grosse ouais, bataille, ouais, voilà, oui, c'est quand même la guerre, parce que quand bien même le fils du Taiko, en tout cas l'héritier, ne cautionne pas, bah t'as quand même des armées de 5 régents différents qui sont là et qui se tapent sur la gueule. Donc il y a eu évidemment une victoire moins sanglante que prévu pour l'équivalent historique de Toranaga, mais c'est la vision qu'il a de peut-être c'est le seul chemin où ça peut marcher quoi. Mmh. C'est, avec tout ça il y a encore une voie où si tout s'emboîte bien ça peut encore marcher, et on est à quelques étapes que ça s'emboîte bien. Donc oui, il avait un plan, et le seul moyen que son plan il fonctionne, c'était de le dire à personne, quoi. Je pense qu'on a eu assez d'éléments qui montrent l'omniprésence de l'espionnage, et c'est lui le premier qui a dit... Non, c'est Rodriguez qui l'avait... Attends, il me manque Rodriguez. Qui l'avait dit...
Il est pas resté longtemps.
Bah non, moi, mais dans le livre non plus. C'est Rodriguez qui avait dit, je crois, à Anjin-sama, qu'en gros, il y a trois cœurs. Il y a le cœur qu'on a dans la bouche, qu'on montre aux gens, le cœur qu'on a dans la poitrine, et le vrai cœur qui est caché. Et chaque homme a un cœur caché qui montre à personne. Et le cœur caché de Toranaga, c'est qu'il veut être shogun. Et en même temps, que être shogun, ça va avec un prix d'être toujours seul. Il peut jamais parler de ça à personne, à part à Yabushige, parce qu'il va mourir juste là.
Oui,
et
oui,
en fait,
oui,
il peut jamais être transparent avec personne, parce que son plan, il marche que si tout le monde doute du fait qu'il a un plan, quoi. Même ouais, ses plus proches alliés, même Yabushige qui finit par se retourner. En vrai, ça marche bien, non?
Ah ben ouais, si, en vrai, moi je trouve
si,
ça
si, marrant. C'est grave crédible.
Ok. Ouais. Moi j'étais pas trop surprise du coup qu'il y ait pas de grosse bagarre, parce que dans le bouquin c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'une fois, après la mort de Mariko, la fin arrive de façon assez rapide. Et on n'a pas de grosse bataille. Il y a vraiment un genre de chapitre en mode... Et après une grosse bataille, Toranaga a gagné, il a repris Osaka.
Ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants.
C'est bien parce que c'est From le Seigneur des Anneaux, où t'as un tome entier de la guerre.
Non mais
et sa bataille, tu sais, pendant le film, c'est deux heures de gouffre de elle, mais t'es là. On a compris, ils se foutent sur la gueule.
Frodon, c'est bon.
Le premier, c'est deux heures de rando, il se passe rien. Le deuxième, c'est deux heures de bagarre, on se fait chier. Bon bah vous voulez quoi, merde alors.
Mais moi j'aime pas les scènes de bataille, du coup j'étais trop contente qu'il y en ait pas. Et je me suis dit, oh, dis donc, pour une série ou un film, c'est quand même pratique qu'il n'y en ait pas, parce que ça coûte cher à produire.
Ah bah, oui, oui.
Oui, il y a clairement aussi une réalité financière, mais c'est encore une fois un choix tout à fait assumé.
Ouais.
Et pas, on n'avait pas l'argent de le faire. Mmh. Et c'est vraiment, ça vient directement du bouquin. Et je pense qu'il y a... C'est intéressant, il y a une idée que j'ai entendue dans les analyses que j'ai écoutées. C'est aussi une attente de public occidental et... qui est habitué au storytelling occidental et notamment à la quête du héros,
ouais,
il y a un peu un côté genre j'ai tenu jusqu'ici, du coup on me doit une bataille cool, tu vois, j'ai regardé 9 épisodes qui me promettent une guerre, au 10e on me doit du sang, on me doit une bagarre, ouais, rangée, et en fait non, et c'est peut-être aussi des habitudes de récits et de scénarios auxquels un public japonais serait plus habitué, que la résolution ça soit pas forcément une grande bataille épique, mais bah, des personnages qui se parlent et qui se regardent et qui font du qui suent ensemble en essayant de tirer une épave hors de l'eau quoi. Et
on appelle
coup,
ça le,
mais
on,
sur le,
on,
quand je lisais
on
le bouquin
ça le carénage, c'est le carénage, le fait de tirer les
quand je lisais le bouquin ça m'a surprise d'autant plus que comme je lisais en Kindle je savais pas que c'était bientôt, enfin je me doutais que c'était bientôt la fin mais je savais pas exactement quand la fin allait arriver et j'étais vraiment en mode
oui je comprends ouais.
OK parce que moi aussi je m'attendais à la grande
c'est
bagarre
déjà terminé,
moi
oui.
aussi j'étais quand même hypée et au final je comprends pourquoi elle est pas là. Je comprends pourquoi dans la série ça aurait été d'autant plus compliqué niveau budget. Et ouais, pour moi, le plan de Toranaga et cette façon de le présenter, je vois pas trop comment ils auraient pu faire autrement.
Non,
je dis pas
non,
que c'est parfait,
mais
c'est
vrai,
moins pire qu'une voix off.
En vrai, c'est bien fait, je trouve. Enfin, c'est le problème, moi, que
ouais,
j'ai, c'est
pratique
que...
pour les gens qui ont rien compris, quoi. Au
ouais,
moins,
voilà, c'est très pratique pour les gens qui ont rien compris et c'est très pratique quand t'as qu'une heure max, quoi. Mais. Sinon oui c'est bien à tomber que Yabushi Gamer, bien à tomber que c'est Toranaga qui doit le seconder, bien à tomber que Toranaga ce matin
mais tout ça c'est pas un hasard, c'est Toranaga qui décide qu'il meurt et c'est Toranaga qui décide de le seconder, tu vois.
Oui mais enfin du coup en termes d'objet
c'est pas bien tombé parce que
mais si je prends juste l'épisode final en tant qu'objet série et tout, je trouve qu'on nous dit beaucoup trop de trucs dans un épisode et que l'exposition arrive de façon un peu crado, tu vois.
J'entends qu'en termes de rythme, oui, ça peut être un peu brutal. En plus, on n'a pas vu du tout Toranaga dans tout l'épisode précédent.
Ouais.
Qu'il arrive et qu'il soit là. Ok, Yabushige, je vais te dire.
Voilà
pas
mon plan, et je suis là, gros.
Mais il faut bien y aller, c'est le dernier épisode, comme tu dis. J'entends que c'est peut-être pas le plus subtil. Et, si je peux permettre, c'est le deuxième Dream of a Dream. C'est pour moi la deuxième symbolique du titre. C'est que Toranaga aussi, il suit un rêve, une vision. Il est pas sûr que ça va arriver. Et d'ailleurs, on sait qu'il aura tort, entre guillemets, puisque cette vision d'une bagarre qui n'a même pas lieu, parce que avant même qu'il y ait du sang versé, le Japon se rallie à sa cause, ça ne va pas arriver. Et que, évidemment, que ce qu'il voit, ce qu'il perçoit, enfin, ce qu'il projette lui-même comme chemin, ça va pas être exactement ça. Parce qu'à la fin, ça aussi, c'est un peu un rêve. Et, du coup, pour moi, ça marche, cette idée que c'est ces deux hommes qui rêvent et qui finissent par se retrouver dans la même réalité, quoi. À la fin.
Ah bah oui.
Voilà. Rip Yabushige.
Rip,
qui est
rip.
Bien mort, hein,
bah
est
là,
tombé
là,
dans
là.
L'eau, donc il nourrira peut-être plutôt les lamantins que les chiens.
Et je crois, mais alors ça, j'ai pas vérifié, j'ai pas eu le temps de vérifier. Peut-être que le chat le sait. Est-ce que c'est pas la même falaise dans laquelle il est tombé? Elle ressemble beaucoup.
Je pense pas parce que
non,
je pense pas que c'était à côté d'Ajiro.
Okay.
Parce qu'ils étaient, ils ont galéré à y aller alors que ça avait été à deux pas de son village, tu vois. Ça
oui,
aurait
okay,
été plus simple. Mais en tout cas, c'est un écho. Clairement, c'est un épisode où il y a un milliard d'échos à tout ce qui, plein de choses qui se sont passées dans la saison, donc ça marche bien. Et d'ailleurs, c'est la scène avec Blackthorn et Fuji sur un bateau.
Tout
donc
à
on
fait.
On arrive à la fin de l'épisode, hein, c'est l'avant-dernière scène. Puisque Fuji et Blackthorn, donc Blackthorn demande à Fuji maladroitement avec son vocabulaire limité de le suivre. Et elle est là, mais en fait, enfin, je suis obligée de t'obéir, je vais partir au couvent là après-demain. Je pense qu'il y a un peu un côté genre, qu'est-ce qu'il va faire encore là? Est-ce qu'il veut suicider le gadjo? Qu'est-ce qui se passe? Et elle a peut-être eu vent, qu'il a failli se faire ses poucou il y a pas longtemps. Et en fait, il a décidé de lui offrir un bout de sa culture à lui, en lui montrant la façon dont lui, il considère le deuil, c'est-à-dire que pour lui, c'est la mer et l'océan, évidemment, en tant que marin, qui est un peu porteur d'une forme d'éternité, puisqu'il dit, pour moi, quand on va à la mer, ils sont toujours ensemble, quoi. Mmh. Et du coup, il propose à Fujisama d'inhumer dans la mer, du coup, le corps de les cendres de son bébé et de son fils. Ce qui est, du coup, pas dans le bouquin, parce que Fujisama, elle va se suicider discrètement, mais absolument très chou, je trouve. C'est vraiment trop touchant, je trouve, comme scène de... Peu importe, finalement, les différences culturelles, à la fin, on est juste des humains, tu vois, et on traverse les mêmes émotions,
mais
même
ça...
à des milliers de kilomètres de distance et des vies qui n'ont rien à voir.
Mais quoi. T'as pas surprise, toi, que Fujisama, elle accepte de faire cette libération là des cendres de cette façon là moi je me suis dit, pour une personne qui suit autant tous les rituels et les traditions, de céder au rituel du gars qui
depuis le début
est désigné comme le barbare et dont la culture est désignée comme barbare
et qui a fait pourrir un oiseau
en plus autour de ce qu'il reste de ton ancien mari et de ton enfant. Je me disais, en fait, c'est... à la fois, oui, on pourrait se dire, bah, c'est la symbolique de ah, mais ils ont créé un lien maintenant qui est tellement fort que elle est prête à mettre de côté la tradition de mettre dans le caveau familial, etc., pour suivre sa tradition à lui. Et d'un autre côté, je me disais, eh, franchement, elle accepte vite, hein, parce que
oui, c'était un peu rapide. Ouais. J'ai eu aussi ce moment de. Ça doit pas être une tradition très importante, du coup, ouais, des cendres. Ouais. Et en même temps, elle a déjà, mais c'est rapide, hein, et je pense à rejoindre ce que tu disais, Val, sur. Ça fait beaucoup pour un dernier épisode d'une heure.
Oui.
Mais elle a une phrase où elle mentionne plutôt qu'elle est. En fait, ses cendres sont déjà censées depuis longtemps être dans le caveau familial, et du coup, elle enfreint déjà sa propre tradition depuis un moment, parce qu'elle sait pas quoi en faire. Ouais. Du coup, pour moi, ça, voilà, ça rejoint aussi cette symbolique de. Bah, tout comme Black Thorn, il se libère de ses idées reçues pour se rendre compte qu'il y a d'autres façons de faire les choses. Elle se libère aussi de ses idées reçues de comment bien faire le deuil, en acceptant une façon hybride, une façon nouvelle. Et en plus, elle va devenir nonne, donc je sais pas exactement c'est quoi sa religion, mais comme beaucoup de personnages de Shogun, j'imagine qu'elle est à la fois, qu'elle a une foi, mais aussi ses valeurs, son passé, son formation de samouraï, elle a, voilà, tous ces trucs qui cohabitent. Et bah du coup tu vois, même si par exemple elle est chrétienne, bah on pourrait se dire pourquoi elle les enterre pas, c'est important de les mettre dans une terre consacrée, genre elle va devenir nonne et tout, et elle le fait pas non plus, donc je sais pas.
Mais moi,
j'ai l'impression qu'il y a une forme de l'importance et le symbole et le partage de ce moment, mais j'entends que c'est pas forcément le truc le plus crédible.
Mais non, mais c'est surtout qu'elle est tellement réfractaire au début au fait de monter sur la barque, elle est en mode mais qu'est-ce qui me veut encore le frérot, pourquoi il veut qu'on aille faire un tour en barque, et du coup que elle, enfin tu vois, je enfin oui, ok. Enfin, peut-être que j'étais pas connectée émotionnellement à cette scène. J'ai pas.
Alors, il y a un truc.
Le mec est sur Reddit.
Non, mais enfin, c'est une vraie anecdote que j'ai vue, qu'il y a un mec qui a traduit depuis le. Et c'est celle que je voulais vous lire. Bon, normalement, c'était dans la roue de la fortune. Mais bon, là, il commence à être tard. Je vais pas vous faire la roue de la fortune à chaque fois. L'anecdote triste de la roue de la fortune du Japon féodal, c'était que cette scène où donc on a Fujisama et Black Thorn qui jettent les cendres par le bateau. Il faut savoir que Michaela Clavel, la fille de James Clavel qui a écrit la nouvelle Shogun, était investie pas mal avec sa famille dans la production de la série. Et durant cet épisode, il tourne dans une baie, qui est la baie dans laquelle Michaela Clavel a grandi, et aussi la baie où les cendres de James Clavel ont été jetées. Et donc il rejette les cendres du bébé de Fujisama et de son homme dans la vraie baie où ils ont jeté les cendres de James Clavel.
Ok, c'est chou, j'ai pas
pris. Et en vrai,
c'était genre, en vrai, les cendres qu'on voit dans la série, c'est les vraies cendres de James Clavel.
Non, ça aurait
genre,
été chelou, ça aurait été chelou.
Je sais pas.
Mais, et
James
du coup, Clavel, et du coup,
l'auteur du livre.
Et du coup, Michaela Clavel, donc la fille de James Clavel, dit qu'en matant cette scène, genre, tout le monde était ému dans la famille et tout le monde, et en vrai, c'est un vrai full circle moment de, en fait, le mec qui a écrit, enfin, mon père qui a écrit la nouvelle, enfin, qui a écrit Shogun, sur lequel on a fait cette série machin et tout, on va rejeter les enfin c'est ultra symbolique, je trouve ça trop cool.
Ah grave, c'est hyper touchant.
Et dans le podcast, c'était trop bien qu'elle dise ça, et du coup voilà, je voulais en parler. Voilà.
Trop mime. Merci. OK, dernière scène. Et bien finalement, Black Thorn accepte la proposition de Toranaga de ne pas se sépouquer, et on le voit motiver tout le village à essayer de aller ce qui reste de son bateau hors de l'eau pour quand même le reconstruire en partant pas de zéro. Et on a donc une double petite scène. On a Buntaro qui arrive et qui, sans adresser un mot à Black Thorn, se met à l'aider à tirer. Et du coup, Black Thorn, ça le remotive et il remotive tout le monde dans un moment de camaraderie.
Mais c'est grâce à la puissance de la fraternité, je vous l'ai dit, c'est le fil rouge de l'épisode.
Vous remarquerez qu'on est que entre couilles hein, sur cette fin de Shogun. Il y a plus Fujisama, il y a plus Mariko-sama,
en même temps,
mais les meufs, pour leur dire il faut se laver.
De merde, elle déclenche des guerres. Hein. J'ai pas raison de
la voilà.
Et surtout, je trouve qu'on a tendance à beaucoup vouloir me faire oublier que Buntaro, c'est quand même, encore une fois, désolé, mais un gros fils d'up depuis le début de la série.
Oui. Mais les gens ont des couches comme les oignons.
Non mais d'accord, mais je sais que les gens ont des couches et tout, mais j'aurais préféré que Buntaro il meure quoi, plutôt que Mariko. Voilà.
Oui.
S'il fallait être tout à fait honnête, en termes de
retourne regarder des Disney et des Marvel.
En termes de
personnagerie,
moi j'aurais préféré que Buntaro il ne tire pas le bateau, que ce soit Mariko qui le fasse.
Avec ses petits bras. Bref. Et on a donc à la fois un regard, ma foi, peut-être d'entente, de compréhension entre Buntaro et Black Thorn. On parlera de peut-être comment vous l'avez interprété. Mm-hmm. Et un dernier regard entre Toranaga et Black Thorn, suivi d'un ultime plan sur, évidemment, Toranaga, futur shogun, qui regarde au loin l'étendue des rêves qui lui reste à atteindre, finalement.
Le rêve d'un rêve. A dream of a dream.
Shogun, saison 1, c'est fini. Qu'est-ce qu'on en dit, Mariko Sama?
C'est très bon. Mariko Gai.
Ah, Mariko Gai.
Elle t'a mariqué là, elle t'a mariqué la tronche.
On va faire une conclue pas trop longue parce que je pense qu'on est tous et toutes un peu au bout du Rolls et on travaille demain. Mais qu'est-ce que t'en dis de... Quelles sont tes dernières bafouilles sur Shogun? Et pareil dans le chat, hein, allez-y si vous avez des dernières questions.
Allez-y.
Dernières.
Hein.
Ah, pendant que tu réfléchis, on a eu dans le chat un rappel que j'avais totalement oublié, qui est Mariachu. Est-ce que dans son rêve de la bataille, Toranaga porte l'armure qu'il avait rêvée? C'est vrai que Blackthorn, il avait vu une armure trop cool et on lui avait dit « Ah ouais, c'est Toranaga, il l'a vu en rêve et il se l'était fait fabriquer. » Et toi et moi, premier épisode, on était là. Trop hâte de voir l'armure, c'était grave une préparation paiement, c'est sûr on va le voir se battre avec l'armure. Et après on l'a oublié. Oui. Donc je ne sais pas si c'est l'armure qu'il porte.
Dans tous les cas, il se bat pas, donc il peut pas se battre avec. Donc
Bah dans tous les cas, il se bat pas dans cette vision. Mais j'ai envie de dire, j'y crois. J'ai envie de dire bien sûr que c'est cette armure-là, parce que tant qu'à rêver de la victoire, la plus grande victoire et bien sûr la bataille qu'on n'a pas eu à mener, autant t'imaginer le faire dans l'armure que t'as rêvé pour toi-même, tel un chevalier du Zodiac.
Bah, moi, si demain je dois me battre et faire une guerre, je le fais en chemise à flammes, tu vois.
Que t'as rêvé toi-même.
Que j'ai rêvé hier. Hier soir, j'ai chemise à flammes.
Hâte que tu lances ta marque de micro fashion.
Ça s'appellera Yabou.
Yabou stylé et.
Yabou stylé.
Yeah, waouh.
Du coup, Marie, est-ce que t'as à dire en conclusion peut-être sur Shogun? Il y a jamais eu la bagarre, c'est décevant. Fabrice Florent, un peu de subtilité, s'il te plaît. Pas que la castagne dans la vie. Regarde, dans Game of Thrones, il y avait plein de bagarres, et ben c'était décevant quand même.
Je sais pas quoi dire en vrai en conclusion de la série.
Est-ce que t'aurais envie de voir une suite?
Je voyais des gens sur Reddit qui disaient que qu'ils craignaient que s'il y avait une suite, ça les décevrait parce qu'en fait cet arc il est tellement bien construit et bien écrit que de recréer quelque chose autour de ça, ça pourrait appauvrir.
Est-ce que tu veux dire que il s'agirait de, contrairement à Buntaro, ne pas tirer sur la corde.
N'est-ce pas? Non, je trouve que c'est, franchement, tel que c'est là, c'est assez bien écrit. Par contre, c'est vrai que moi, le dernier épisode, il m'a donné l'impression vraiment d'être rushé. Il se passe énormément de choses qui sont très intenses. Et c'est normal parce que c'est l'épisode final, donc c'est censé monter crescendo. Mais je trouve que le fait qu'il se passe énormément de choses, ça ne permet pas de se connecter vraiment. Enfin, moi, ça m'a pas permis de me connecter émotionnellement à ce qui se passait. Et j'ai pas le temps de pleurer Mariko.
J'ai pas le temps de pleurer Mazouz. J'ai pas le temps de pleurer Yabushige.
Oui, j'ai pas le temps de pleurer le fait que Blackthorn et Fujisama, et ben ils se verront plus jamais. Ils feront même pas de petite prière ensemble. Enfin, trop triste quoi. Tu vois.
Ouais, après, ils ont bien pris la nuit, la nuit avant qu'elle meure, ils ont quand même bien.
Non, Fujisama. Fuji.
Ah non.
Nous sommes respectent Fujisama.
Ils ont pas prié, pardon.
Oui, c'est pas prié, cette façon-là.
Fujisama, elle a juste appris à tenir des calibres. Et
ouais.
C'est tout.
Ouais.
C'est déjà pas mal.
Non, après, je trouve que c'est la bonne. En même temps, tu vois, je trouve que c'est la bonne durée de série.
Ouais.
Voilà.
Oui, c'est plus en termes peut-être de répartition. Il y a eu beaucoup de choses. Parce que je pense qu'il y avait aussi une envie de montrer plein de facettes du Japon. Mais notamment, au final, est-ce que l'arc avec la courtisane, tu vois, le monde des saules. En vrai,
mais en fait c'est ça j'ai moi c'est... moi
au final il a pas d'impact.
Ouais, en fait moi c'est du coup il y a plein d'arcs qui sont ouverts et qui ne connaissent pas de conclusion et je suis là bah attends juste moi je voulais la voir l'église à côté du quartier des plaisirs. Qu'est-ce qui
Shogun 2 du rififi dans le voisinage.
Non mais ça je vois, enfin je crois que c'est un truc laissé pour l'avenir, un peu genre une blague pour le enfin je pense, je sais pas.
Bah, c'est une façon de montrer que Toranaga a toujours un tour dans son sac et qu'il est pas si vaincu que ça puisqu'il continue à préparer des petits pièges pour l'avenir. Et aussi je pense qu'il y a un côté, alors il y a peut-être un côté, encore une fois on est habitué à un storytelling à une construction d'histoire qui respecte certaines règles, c'est possible. Et il y a peut-être aussi un truc de bah comme Blackthorn on est propulsé, en fait oui dans la vie il se passe des trucs qui ont pas toujours de résolution et des fois, on nous présente des trucs comme hyper importants et après, c'est plus le problème du jour et on en reparle jamais. Et comme Blackthorn, on est vraiment propulsé dans ce monde où il découvre plein de facettes les unes à la suite des autres et du coup, ça fait beaucoup. Mais en termes de construction de série, peut-être qu'on aurait pu élaguer un peu certains arcs qui donnent finalement rien de très pérenne pour se concentrer sur voilà l'impact émotionnel de en tout cas au niveau de la fin de certains trucs ou même apprendre. Moi j'aime beaucoup certains personnages. Moi
on
connaît très peu les autres gens. Moi j'aime beaucoup le personnage d'Omi qu'on n'a pas tellement vu. Enfin voilà, il y avait des choses, pas pour réinventer l'eau chaude, c'est pas notre métier, mais il y avait des choses perfectibles. Valanta. Faudra que tu nous fasses le point menstruel.
Le point Ragnout. Oh oui. On le veut.
Déjà, as-tu des choses que tu avais recherchées que tu n'as pas pu glisser?
Ouais, je vais les faire très vite. Ouais. Vous vous demandez sûrement, donc, dans cette scène finale, moi, c'est la question qui m'a marqué et qui, je pense, le peuple français au global est marqué par cette question. Mm. Peut-on vraiment tirer un bateau avec 15 personnes et 3 cordes?
Non, mais t'es fou, c'est...
Eh bien, j'ai fait des recherches. Ça s'appelle le carénage. Et le carénage, c'est une technique, effectivement, qui était utilisée déjà à l'époque pour sortir des bateaux lorsqu'ils étaient pas trop loin. Parce qu'en fait, il y a deux possibilités. Soit votre bateau, c'est le Costa Concordia ou le Titanic. Et en fait, s'il coule, on le laisse là, parce que juste, il est un peu lourd. Ouais. Ou alors, c'est un bateau de semi-pêcheur ou un hors-bord ou un truc comme ça. Et là, on peut le sortir de l'eau. Mmh. Et donc, on a le carénage manuel qui se fait donc avec des cordes et qui, à l'époque, se faisait avec littéralement des gens qui tiraient ou des attelages de chevaux ou d'ânes, etc. ou de bétail. Et maintenant, on a inventé des techniques de carénage mécanisé, comme par exemple des bateaux.
Pourquoi on parle de carénage mécanisé là?
Des techniques de carénage mécanisé, comme par exemple des bateaux, avec sur eux montés des porte-bateaux. Et j'ai vu des images, je trouve ça incroyable. C'est un bateau, il prend le large, et tu sais qu'il revient avec derrière lui un autre bateau. C'est... Bref. Donc ça, c'était le point carénage. J'avais pas d'autre point dans la roue. Qu'est-ce que j'avais d'autre dans la roue? J'avais.
Il y avait la peine de mort.
La peine de mort.
Si c'est pour des méthodes dégueulasses.
En vrai, non, c'est quoi là? Non, la peine de mort, on va pas le faire. La peine de mort,
voilà, je vous irai googler de votre côté.
On va pas le faire, la peine de mort.
Mais on a une question de Steve Marty. Oshiba voulait viscéralement que Tora Naga meure. Ça m'a étonné qu'elle change d'avis. Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment juste la mort de Mariko et la bêtise d'Ishido? Elle savait déjà qu'il était pas le plus futé. Oui, je pense qu'il y a vraiment, ça a été le fait qu'Ishido, et elle sans doute, ordonne le kidnapping raté de Mariko qui a mené à sa mort. Ça a été, je pense, un truc décisif de « Ok, je peux pas travailler avec lui, quoi, il est vraiment trop con. Il prend vraiment des décisions trop bêtes. Plus, il a tué ma seule pote. » Et si j'ai bien compris, l'équivalent historique de Ichido, qui s'appelait « I shit you not, Ichida », il a vraiment perdu toute crédibilité au moment où il a emprisonné les familles nobles dans son château d'Osaka et où ça a mené à la mort d'une noble qui du coup est devenue Lady Mariko. Donc il y a aussi un précédent historique de oui à ce moment-là, c'est quand il a fait ça que tout le monde s'est rendu compte qu'il était en train de vriller et qu'il pourrait pas gagner au long terme quoi. Donc fallait bien qu'elle percute à un moment qu'il fallait changer de camp et pas envoyer les troupes de son fils et mettre en danger potentiellement son fils en misant sur le mauvais cheval. Donc il fallait
cheval qui d'ailleurs portait des umawaraji, des sandales en corde tressée pour chevaux.
Point menstru, Marie.
Attends, mais j'ai même pas dit ce que j'en pensais.
Pardon.
Tu m'as silencé parce que je suis un homme. Mais ça, vous voyez le chat, c'est fou ça. Mais bon.
C'est fou. Hein.
De toute façon, en plus, je suis un homme parce que j'allais dire que c'était bien. Mais
bien sûr, c'est bien. C'est
non, alors en vrai, enfin, je trouve ça intéressant et c'est une série que sincèrement, moi, j'aurais pas maté si tu m'avais pas conseillé de la mater. Ouais, si on avait pas fait un. Non, on n'a pas. Enfin.
Pareil.
En vrai, j'aurais pas maté et clairement le fait qu'on ait un podcast dessus et que tu mets, enfin moi il y a trop de costumes, tu vois, de base. Je vois une série avec
du japonais sous-titré,
du japonais sous-titré. Je suis là en mode
allez,
non.
Allez bébé, je vais jouer à Helldivers.
Et en vrai, je trouve ça vraiment chouette qu'on ait une série comme ça et c'est une série qui prend pas les gens pour des cons, mais pas en mode hautain, en mode ouais mais c'est trop bien, c'est trop Gaspard Noé. Non, c'est juste que
Rick
c'est.
Rick and Morty, faut vraiment avoir un gros QI pour prendre.
Non mais grave. Il y a des moments dans la série, comme le dernier épisode, où il y a je pense, les travers du format série qui les rattrape, genre, on a une heure et on doit, vous mettre tout ça et on va vous mettre tout ça. Mais au-delà de ça, c'est une série qui part quand même du principe que il y a plein de trucs que tu vas pas comprendre si tu réfléchis pas. Et je trouve ça, en vrai, chouette de devoir faire des recherches et de devoir s'intéresser à, ok, peut-être que j'ai mal perçu ça, peut-être qu'il y a de là, il y avait de l'ambiguïté. La place des costumes, la place de la traduction dans la série, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Donc ça j'ai aimé, je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas eu de bataille, mais ça c'est parce que je suis un mec basique, j'aime Fast and Furious et, et la Corona, donc moi j'ai envie qu'il y ait une bataille, c'est normal, et surtout il y a un truc un peu de le point canon, en vrai je le comprends mais au-delà de ça, je vois pas la place qu'ont les canons dans la série.
Bah à la fin, Tora Naga il garde Black Sword en partie pour qu'il lui fasse une flotte de canonniers. Tu vois.
Oui, non, mais au début.
Mais oui, c'est tellement dilué dans un milliard de trucs.
C'est comme un sort de dragon, c'est de la maison des dragons. Là, normalement, c'est des canons et des. Bref, là, on n'a pas eu les canons.
Ça s'appelle pas Shogun and Boulet, quoi.
Ouais, on n'a pas eu les canons. Bref. Mais sinon, non, c'est. Je trouve très bien qu'on ait eu ça. C'est une série qui va pas parler à beaucoup de monde, je pense. Il y a beaucoup de gens qui sont peut-être intimidés par le côté double langue et le côté.
Ça performe bien, ça. Il y a quand même un bon gros vieux worship.
Mais enfin, je sais que moi j'en ai parlé hier. Cet après-midi, je sais plus. Je parlais du live qu'on allait faire ce soir et du coup, il y a des gens qui nous demandaient c'est quoi Shogun. Et du coup, je leur pitchais un peu. Et en fait, c'est un truc qui. si tu dis pas aux gens, genre si tu fais pas ce travail de lobbying de dire que c'est bien, oui. Et en fait faut regarder un peu le House of Cards derrière le derrière la série. C'est un peu particulier, mais non, en vrai trop bien, très content et pas déçu. Je pense pas que j'ai envie de voir une suite perso moi. Je sais pas comment tu racontes une suite à partir de ça. Je pense que c'est un arc qui se termine bien. Mm-hmm. Et s'ils me font un peu comme Valider saison 2, mais si Valider saison 2 c'était bien, tu vois, genre
tu un veux truc... dire une série d'anthologie plutôt.
Non mais s'ils me font genre Shogun saison 2 avec d'autres persos, peut-être des clins d'œil vis-à-vis.
Oui, voilà,
mais...
en soi, tu peux faire Shogun saison 2.
Mais de la qualité, de la même qualité que
après,
Shogun 1.
C'est ça. Moi, et c'est peut-être non. un peu la seule vraie bonne raison d'y aller, c'est il y a tellement de gens passionnés et talentueux qui bossent sur cette série que, ouais, j'ai envie de dire, let them cook, tu vois. Redonnez-leur beaucoup de budget du Japon féodal à créer parce qu'ils le font bien et après, il faut avoir la bonne histoire à raconter dedans, ce qui est plus compliqué, mais tu peux faire une série qui se passe dans le Japon de 1700. Je pense que c'est 100 ans après, donc c'est pas du tout la même histoire. Nous, ça nous fascinera autant, tu vois. Et ce sera
bah, puis s'ils ont besoin d'un consultant en termes de tout ce qui est recherche sur les Uma Waraji, les types de Sean Maguey, les... moi, je suis là.
Mais après,
là.
Moi, tu sais, je me disais justement, tu disais, oui, ça peut être une série où ça donne de la profondeur de faire des recherches pour essayer de comprendre les trucs, parce que sinon, tu peux passer à côté de plein de trucs. Moi, je me disais, je pense qu'il y a des... La majorité des gens ne font pas de recherche et passent justement.
Ils écoutent des podcasts.
Ou alors il y a quand même
pas la majorité.
Oui, je parle pas de.
Faites de la propagande.
Les gens qui écoutaient le podcast, mais en vrai, je pense qu'il y a plein d'interprétations que tu peux prendre avec un regard occidental, moderne, premier degré, et te dire oh, les Japonais, ils sont comme ci, ils sont comme ça, tu vois. Et je trouve que justement, c'est ça qui permet de prendre un autre point de vue. Et je enfin, je pense que ça va bien faire la transition avec ce que je vais vous dire sur les menstruations.
Les menstrues. Les menstrues.
Moi, j'aimerais servir un verre pour les menstrues. Hein. Je...
Let's go. Est-ce on a donc le point Ranyanea dans le Japon féodal.
Je vais raconter pendant que tu
veux. Moi, vas-y, je t'écoute.
Alors, juste avant, on a un très bon point de Marie qui l'amène sur le chat. Go Marie qui dit « J'ai bien aimé qu'il y ait une place importante de la traduction dans l'intrigue sur le fond et sur la forme. » Tout à fait. Ouais. Je pense que c'est rare... Alors, il y a eu, bien sûr, Premier Contact Arrival de Denis Villeneuve, un film de SF qui a des héros linguistes et une héroïne, notamment, chercheuse en linguistique et qui réfléchit beaucoup à la traduction et le rôle de la traduction et l'impact même du langage sur la pensée et tout. Mais la plupart du temps, la personne qui traduit dans une œuvre, c'est ce qu'on veut éliminer le plus vite possible, quoi. Très vite, on essaye de la squeezer et de juste faire machin parle, truc répond, on va dire qu'ils se comprennent. Et puis voilà, vous avez compris, quelqu'un traduit. Et là, ça a une vraie place et c'est devenu même le running gag de plein d'épisodes de voir si Mariko, elle traduit bien ce qui est dit ou bien ce qui l'arrange. Donc effectivement, big up pour ça. Et The Mood nous dit, en tant que future traductrice, je suis d'accord de fou. Big up les traductrices et les traducteurs. Les ragnoutes au Japon féodal.
Et tu sais, j'ai vraiment galéré à trouver à de fou parce que autant
parce que le patriarcat,
le rapport des Japonais et des Japonaises aux règles aujourd'hui, c'est quelque chose que tu peux trouver, notamment parce que au XXe siècle, ils ont été parmi les premiers à instaurer un congé menstruel.
Oh,
je vais vous en parler. Ouais, je vais vous en parler un petit peu. 1947. Oh. Mais vous allez voir pourquoi c'est précis.
Ah.
Et pour autant, trouver des informations sur comment est-ce que les meufs géraient leurs règles avant.
Ouais, c'est compliqué.
Ultra chaud. Et je suis tombée donc sur le mémoire d'une personne au Québec qui s'appelle Noriko Shibano.
Noriko.
Qui a fait son mémoire SOAL. Hein. Elle a fait son mémoire en québécois du coup, alors qu'elle est japonaise à la base.
Waouh.
Et son mémoire.
Wow.
Sur la transformation d'un tabou de point, la menstruation dans la société japonaise.
Let's go!
Incroyable thème de
quel
mémoire.
Girl boss!
Donc, je lis des mémoires hein, à mes heures perdues, apparemment,
pour venir faire des podcasts.
Et dedans, elle développe beaucoup la notion de kegare, en fait, qui est justement la notion d'impureté qu'on retrouve parfois liée à la figure féminine au Japon.
Original.
Et donc, en fait, c'est pas mal en lien avec la culture shintoïste, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais les femmes dans cette culture sont, sous certains aspects, considérées comme impures en raison de leur menstruation. Et donc, ça crée pas mal d'espaces dans lesquels elles n'ont pas accès. Mm-hmm. pendant leurs règles. Donc par exemple, elles n'ont pas le droit d'approcher du dojo. Dans cette culture-là aussi, c'est une des raisons, mais alors là c'est un peu plus compliqué, mais c'est une des raisons pour lesquelles dans les combats de sumo, elles ne peuvent pas monter sur le ring. Et il y a eu un cas particulier il y a quelques mois ou quelques années où deux femmes urgentistes sont montées sur le dojo parce que le maire qui était en train de faire une annonce sur le ring des sumo a fait un malaise. Ça a créé une polémique énorme au Japon parce que normalement les femmes ne sont pas censées monter et le commentateur au micro leur a demandé de descendre.
Non mais le gars fait un malaise là.
Il y a non assistance à personne en danger, c'est leur travail quand même.
Commenté, mais alors le débat est passionnant.
Peut-on voir la professionnelle de santé avant de voir un vagin, s'il vous plaît ?
Mais le débat il est passionnant et donc il y avait justement quelqu'un qui était un peu fort en analyse double culture qui disait attention à ne pas calquer justement notre regard occidental féministe sur cet événement-là et c'était
Oui et puis en soi tu vois si demain le pape là il fait un arrêt cardiaque et qu'il y a une femme qui lui fait du bouche à bouche, je pense que ça va être scandale de fou aussi, tu vois.
Je pense.
Il y aura aussi un côté à quel point on doit violer les traditions au nom de sauver une vie. À mon avis, on devrait, mais bon. Qui suis-je pour juger ?
Donc traditionnellement au Japon, les femmes en période de menstruation ou sur le point d'accoucher s'isolaient dans des cabanes appelées des ubuya.
En vrai, alors...
pardon, peut-on avoir le nom des cabanes ?
Les ubuya.
D'accord. J'ai entendu les ubiga, j'étais là, en plus c'est insultant. T'es là, t'es à ça d'accoucher, tu dois aller dans une cabane.
Est-ce qu'il lui laissait genre un Uno ou une PSP, tu vois,
non,
genre
bah non, c'est un Sudoku peut-être. C'est chaud. Et franchement, c'était chaud pour elle parce que donc je lisais là en me renseignant sur ça, je me disais mais elle devait se faire chier et tout. Je lisais même que elles étaient considérées comme tellement malheureusement tellement impures qu'elles ne pouvaient même pas récupérer de la nourriture chaude dans la maison. Il y avait tout un process pour la sortie des menstruations. En fait, ça, elles devaient faire ça, aller dans ces cabanes appelées les ubuya entre le 8e siècle et jusqu'au début du 20e siècle. Donc, on trouve
c'est
des
long.
Traces jusqu'en 1910 de ces cabanes-là.
Et ça existe encore de nos jours dans d'autres pays, notamment au Népal. C'est un vrai problème dans certaines communautés pour les femmes et les filles. Donc, c'est malheureusement pas encore tout à fait obsolète partout dans le monde.
Ouais, exactement. Ça fait encore beaucoup débat aujourd'hui. Alors, elles n'avaient pas le droit d'avoir de la nourriture chauffée par le feu, car elles risquaient de rendre le feu impur.
Bah oui.
Ensuite, il fallait qu'elles aillent faire un bain de rivière pour se laver le corps, les cheveux et les vêtements, qu'elles fassent sécher leurs vêtements de règles uniquement dans l'ubuya. Et avant de pouvoir rentrer chez elles, il fallait qu'elles se fassent servir une tasse de thé chez quelqu'un d'autre.
Voilà. Pour quelle raison c'est
vraiment tout le monde est au courant que t'as tes règles en plus. Hein.
On va le gérer dormir chez vous, mais j'aimerais le quoi.
Bah pour finir de te laver peut-être l'impureté quoi.
Donc c'était très tabou au point que dans la culture Shinto il y a un sutra sur la menstruation. Si j'ai bien compris, et n'hésitez pas à me corriger par rapport à ça. C'est une sorte de prière quoi. Mm-hmm. C'est un texte bouddhiste qui enseigne que les péchés des femmes viennent de l'impureté de leur sang et qu'elles doivent aller en enfer à cause de leurs péchés. Et donc, afin d'être sauvées...
Eh, mais c'est tout le temps, nous, notre péché, l'impureté, là.
Oui, bah, avec vos trucs qui sortent de votre vagin, là, hein, ça va.
Il y a Zmut qui dit, c'est ça le girl power, finalement, pouvoir rendre le feu impur avec
incroyable,
ses règles.
Incroyable, truc de sorcière.
C'est vrai qu'on dirait un truc de X-Men, mais ça avait l'air moins fun pour elle.
J'avoue, le pouvoir très localisé de...
Le pouvoir du feu.
Ah, cette semaine, attends, cette semaine, j'ai mon pouvoir. Cette semaine, je peux... C'est bon, j'arrive en expédition avec vous.
Et non contente de se retrouver, donc, isolée parce qu'elles étaient impures.
À bouffer froid et à se laver dans la rivière.
Voilà, afin d'être sauvée, elle devait lire, vénérer et recopier ce sutra qui dit littéralement que elles sont impures et qu'elles doivent aller en enfer.
Mais c'est Bart Simpson dans le générique des Simpsons qui doit recopier sur le tableau quoi. C'est j'ai mes règles genre. Mais attends, mais c'est, et donc ça c'est un... alors je... encore une fois il y a dans mon expression il y a aucun mépris de culture et je veux pas, mais donc c'est un truc qui existe encore dans la culture donc genre
bah,
et
notamment
au
Népal où il y a aussi la religion bouddhiste qui est très présente et puis en fait il y a beaucoup de cultures qui par la religion, par des croyances médicales parfois erronées, ont trouvé des façons d'éloigner les femmes, notamment les femmes en période de menstruation, de la vie sociale, de l'espace commun, de l'espace courant, par une peur et un dégoût de cette fonction corporelle. Donc oui, ça existe parmi d'autres façon qui existe de mettre au rebut les femmes pendant leur période de menstruation, d'une façon, en tout cas de les considérer comme impures, et même d'une façon peut-être moins brutale, mais dans l'islam, quand tu fais le ramadan, si tu as tes règles pendant le ramadan, tu dois arrêter de jeûner, parce que tu n'es plus pure aux yeux de Dieu, et tu rattrapes ces jours-là après la fin du... Enfin, tu rattrapes du coup en plus les jours que t'as ratés. Donc voilà, il y a encore beaucoup de cultures et de religions dans lesquelles une femme menstruée, en période de menstruation encore plus, est moins propre, moins pure. Ça m'étonne un peu pour les femmes sur le point d'accoucher, parce que je veux bien qu'il y a des fluides, mais je me dis... Enfin, c'est risqué, c'est
le
tu
sang...
vois.
Non, mais c'est ce sang souillé.
Ouais, je comprends. Enfin, je vois bien le lien, tu vois. Ouais. Ça reste du sang qui sort du vagin, mais je me dis, en termes de mortalité, enfin... L'accouchement, c'est déjà tellement risqué. Si en plus tu dois être déplacé, il n'y a pas de chauffage, tu vois, j'imagine,
ah non,
dans les cabanes.
De la terre, c'était de la terre par terre. Et
oui, voilà, c'est pas tout confort, quoi. Non, donc,
oui, parce que j'allais te demander, est-ce que c'est plutôt un T2, un T3? Enfin, c'est comment la cabane?
On est sur un studio. On est sur un studio dans des combles 7 mètres carrés. Hein.
Ah ouais, ok, bon. Ouais. Ok.
Pourquoi je vous raconte ça? Parce que en fait aujourd'hui encore c'est cette une partie de cette culture là qui a construit le tabou qui existe encore dans la société japonaise par rapport aux règles. Alors à l'époque elles utilisaient ce qu'on appelle un fundoshi. Fundoshi, c'est une sorte de pagne qui servait à maintenir en place un morceau de coton pendant les menstruations. Donc c'est le fundoshi, c'est la même chose que portent les sumo en fait aujourd'hui.
Yes.
C'est le même terme, sauf que elle devait le restreindre vraiment dans la cabane. C'était la cabane des règles. C'était obligé de le faire sécher là-dedans, sinon elle risquait de tout rendre impur, quoi. Donc elles traitaient leur menstruation avec des mesures temporaires, par exemple en mettant un papier, une pièce d'étoffe ou un coton hydrophile dans leur vagin. Ça c'est plutôt au 20e siècle.
Mm-hmm. Bah, du coup j'imagine c'est l'ancêtre du tampon.
C'est un petit peu ça, mais je disais que elles ont eu accès aux produits hygiéniques états-uniens seulement après-guerre. Justement elles ont commencé à avoir accès à ça, et la première marque de produits hygiéniques japonais, ça date de la fin des années 60. Okay. Et je regardais, en France c'est un peu équivalent en réalité.
Ouais, ça m'étonne.
Mais en fait
fait pas si longtemps qu'on a des protections jetables disponibles facilement, quoi.
Mais il y a un vrai truc de dérivé de la... Pardon, désolé, mais il me semble, je crois que c'est toi qui me disais ça, mais il y a pas un vrai truc de... l'utilisation du tampon, c'est pas un truc de dérivé de la guerre, en fait, c'est utilisé.
Oui, le tampon à la base, il avait été inventé, si je ne me trompe pas, pour des fins militaires.
Pour les trous de. Enfin, littéralement,
pour les combats,
impacts de balles.
Oui, voilà.
C'est quand même.
Parce que c'est hyper absorbant, ça absorbe beaucoup de sang et ça colmate en même temps la brèche. Donc oui, il me semble que ça avait été inventé pour ça à la base, mais il y avait aussi les serviettes hygiéniques et tout. Mais oui, ça fait pas 100 ans, je pense, que les femmes en France ont accès à des protections hygiéniques. Je pense pas que ma grand-mère, elle a grandi avec des serviettes jetables, tu vois, clairement.
Et du coup, t'as des femmes qui sont encore en vie aujourd'hui qui peuvent témoigner du changement de société par rapport à ça, mais il y a le changement de mentalité, lui, il est beaucoup plus compliqué.
Ouais, le tabou, il peut toujours exister. Hein,
le tabou existe toujours, même si, comme je vous le disais, du coup, depuis 1947, il y a le Seiri Kiyu Kiyuka, le congé menstruel, qui est exprimé au sein du Code du travail nippon, qui a pour exception de ne pas s'adresser aux collégiennes, lycéennes, étudiantes. C'est vraiment quand tu travailles. Et donc, ça a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale pour remettre un peu les meufs au taf. Donc, à la fois, on leur a donné accès à des produits hygiéniques états-uniens pour qu'elles puissent travailler plus efficacement. Mmh. Et en même temps, on a instauré ce congé menstruel. Et ce congé menstruel, il a été beaucoup plus utilisé au début de cette autorisation qu'aujourd'hui, où il est à peine pris par 1% des femmes japonaises. À l'époque, il pouvait être payé par l'employeur, et aujourd'hui, globalement, on demande de poser toi un congé payé.
Ah
si
oui,
tu
bah d'accord.
Prendre, autant dire que c'est pas un congé menstruel.
Dans un pays où il y a très peu de congés payés, oui, tu vas pas en cramer à chaque fois que t'as une crampe de règles, parce que ça peut vite chiffrer, quoi.
Mais quand même, ça précise que les employeurs doivent accepter les demandes de congés pour cause de règles extrêmement douloureuses qui rendent le travail difficile. Hein. Donc,
et je suis sûre qu'ils l'acceptent sans problème, dans une démarche d'égalité et d'empathie, bien sûr. Hein.
Et je lisais qu'il y a dans les traditions qui sont liées...
C'est ta voix de mort, là. T'es là, dans une démarche d'égalité et d'empathie, bien sûr. Tu m'énerves.
Non, les sondages disent que globalement, les employeurs ne comprennent pas à quoi cette règle sert, parce que les bonnes femmes, finalement, vous voyez bien qu'elles ne les prennent pas. Hein. Bah oui, en fait, elles douillent. Quand tu les interroges, les meufs à côté
sont pas payées, donc voilà, ça explique.
Et les mecs qui sont là-bas, non, elles ont pas mal regardé.
Vous
voyez des femmes qui ont mal.
Regarde, t'as pas mal, Monique, ça va là. Ah, le patriarcat. Et je lisais, au-delà des frontières et des cultures, et ça, c'est beau.
Ah, c'est beau. Vraiment magnifique. Mais par contre, je disais que dans les traditions qui perdurent aujourd'hui, quand une jeune fille a ses premières règles, ce qui est vécu comme parfois une panique de fou, parce que selon que tu aies eu de l'éducation sexuelle ou pas par rapport à ça, c'est plus ou moins la honte d'en parler à tes parents. Une jeune fille qui a ses premières règles, souvent elle se voit proposer le sekihan, qui est un plat salé composé de riz glutineux cuit avec des haricots rouges. Et en fait, le sekihan, on le sert en général à l'occasion d'un événement heureux. Et parfois, c'est ta mère qui va cuisiner ce sekihan, mais il y a beaucoup de jeunes filles qui ont leurs règles pour leur première fois et qui disent « Non, mais donne-moi discrètement parce que je veux pas que papa ou mon frère ou mes sœurs sachent que j'ai mes premières règles. » Et donc, le tabou des règles au Japon, il persiste encore, mais comme en France aujourd'hui aussi.
Oui, hein,
franchement,
je ne pouvais pas dire à mon père « Est-ce que tu peux m'acheter une boîte de tampons ?» Ce n'était pas une discussion que je dis mon père parce que c'était le seul homme de ma famille. Ça est toujours, j'ai que des sœurs. Donc oui, c'est clairement... Encore une fois, ça ne dépend pas que des pays et des cultures, quoi. Ah, ça a plusieurs visages, le tabou des règles et le patriarcat, mais c'est partout.
Mais du coup, j'imagine qu'en 1600, ils utilisaient donc les washi, ces papiers traditionnels, pour, et qui mettaient du coup les cabanes de règles au bord d'une rivière, comme ils faisaient pour les maisons en caca.
Bah ouais, j'espère qu'elles n'allaient pas au moins pas marcher, quoi. Mais bon, pas d'eau chaude, quoi.
Moi,
quand t'es en novembre, c'est chiant.
Mais je suis tombée sur une représentation des boîtes.
C'est chelou, hein.
Avec le kimono qui est surélevé à l'arrière, et j'étais là. Et il y avait deux boîtes différentes, une pour le pipi.
Mais ouais, j'ai vu des images même du. Mais bref.
Nani.
Moi, j'ai vu
vous laissera aller
des...
sur Google Images et chercher tout ce qui est en termes de toilettes féodales au Japon. Car je ne vais pas
pour
le faire
nobles,
pour vous.
Là, c'était pour les nobles uniquement quand ils portaient
bien
des
sûr, les
grands
pauvres.
Kimonos.
Mais parce que les pas nobles, ils s'essuyaient avec un bâton, ils avaient une baguette de bref.
On en a déjà parlé, c'est la fin, je pense. Il est minuit 4, écoutez, je pense qu'il reste 3 personnes sur ce live. C'est la fin de ce débrief de Shogun, épisode final, et de toute la saison. Merci, toute la série. Merci beaucoup, Marie, d'avoir été là.
Merci pour l'invitation.
Est-ce que tu veux faire une petite promo, une petite actu, un petit rendez-vous à donner aux gens?
Oui, moi, vous pouvez me retrouver en général tous les mardis et jeudis en Marie qui graille de midi à 15h. On regarde un truc qui nous émeut globalement. Mm-hmm. Ça peut nous indigner, nous énerver ou nous rendre trop fiers ou nous enthousiasmer. C'est souvent sur des sujets de société et d'actualité. Voilà.
Et on mange aussi.
Et on mange.
Bah oui,
Le format s'appelle Marie qui graille sur ma chaîne Marie qui gaille.
Tout à fait.
Marie qui gaille. Hein.
Abonnez-vous. De ton côté, Nodius, what's up?
En vrai, pas grand chose. Hein. Là, cette semaine, il s'est pas passé.
Abonnez-vous à la chaîne Twitch de Nodius tous les lundis à 8h30.
Toujours sur Twitch. On est sur Stardew Valley. J'ai installé 92 mods. Les gens ont l'air de kiffer les 92 mods. Voilà.
Oui, et Nodius vous donne rendez-vous tous les lundis à 8h30.
Tous les lundis, effectivement.
Pour vous rappeler qu'on déteste le lundi, mais que c'est mieux ensemble et avec un café. Moi, je vous donne rendez-vous sur cette chaîne mardi prochain pour le book club numéro 3. On va parler de Sur ma peau, alias Sharp Objects, par l'autrice Gillian Flynn, à qui on doit aller Gone Girl, avec cette bonne Kalindi Rampfel. Ça va être super. Et je pense qu'on a fini. Merci beaucoup à vous deux. Merci d'avoir été là sur le chat. Et merci aux auditeurs et auditrices de la version podcast. On se revoit très bientôt pour parler de Fallout. Et en juin, rappelons-le, The Bear, House of the Dragon et The Boys qui reviennent.
T'es sûr, hein. Tiercé gagnant, toi. The Bear, The Boys,
We Will Eat.
The Dragon,
The Tout à fait. Des bisous, portez-vous bien. À bientôt.
Bisous.
Des bisous, le chat. C'est l'heure de la pause.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée. Vous pouvez retrouver le reste de mes contenus audio sur le flux Mimi Hegel, mais en podcast, m'écouter avec la créatrice de contenu Marie Kigaï chaque mardi dans le podcast BFF, et me retrouver tous les dimanches en compagnie de Fabrice Florent dans notre podcast cinéma Le Film Club. Pour les récaps rigolos de séries, ça se passe sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite une très belle journée et un grand merci à Valentin Nortier pour le générique.